Presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio.
Club Poker Radio, la radio du poker avec Comanche et Chichi. Club Poker Radio, la radio du poker.
Eh bien, salut à toutes, salut à tous, c'est Comanche sur Club Poker Radio, comme toutes les semaines, en direct et en compagnie de Chichi. Coucou Chichi.
Coucou Comanche.
Alors, aujourd'hui était un jour très grave, puisque c'était...
Un jour triste.
Un jour triste à marquer d'une pierre noire.
Exactement, mais comme on dit, la fin d'une histoire, c'est le début d'une nouvelle aventure qui commence.
C'est vrai, c'est le chômage. Oui, c'était la dernière du bar des sports.
La dernière du BDS, ouais, mais bon, c'est comme ça, on a fait une bonne émission, franchement c'était cool. En
plus, c'est cool d'attendre la dernière.
On a attendu la dernière, on était rodé, tu vois, pas de problème de jingle, rien, que dalle, c'était au top. On a un super ingé son, bravo Clément, je te mets la pression pour celle-là comme ça. Et non, écoute, ouais, c'est une aventure qui se termine, mais après le forum et le site ne sont pas à l'arrêt, vont continuer, et puis il y a des projets qui vont arriver incessamment sous peu pour 2018, donc
ça devrait bouger. On vous souhaite pleine de réussite.
Mais pareil, je me souhaite plein de réussites.
Voilà. Et puis, en parlant des réussites, on reçoit un couple qui a réussi. Voilà, c'est un enchaînement. J'ai pas la suite de cette phrase.
Démerde-toi pour les transitions.
Monsieur et Madame Réard, bonsoir.
Salut.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça fait bizarre ou pas? Ça commence à rentrer, le monsieur et Madame Réard, ou pas?
Ouais, là, ça fait quoi? Ça fait un an et demi maintenant.
C'est une noce de platine ou je sais pas quoi là.
Non, mais ouais, le Réard commence à rentrer, mais c'est vrai.
Fait bizarre. Non, t'as connu Kélin, tu vois, c'est.
Ouais.
Bon, bah.
J'utilise encore.
Tu es toujours Kélin Réard sur un Dunmob.
Ouais, alors ils m'ont cumulé les deux sans que
tu demandes. C'était pas un choix.
Ouais. En fait, j'avais pour objectif de garder mon nouveau Dunmob Réard. Effacer
l'ancien. Un nouveau départ, comme un nouveau pseudo.
Ouais,
un peu,
ça,
tu vois, un peu,
si j'arrive comme sur Shardscope. Voilà, à me dire peut-être qu'avec mon nouveau nom Réard, j'arriverai à faire que des TF. Bon, bien sûr, on a le droit de rêver, mais.
Attends, t'as déjà 250 000 dollars de gains, je crois, sur Random Mob. Pourquoi?
Mais j'aurais pu essayer de faire mieux avec mon nouveau.
On commence pas de zéro.
J'aimerais bien 250 balles déjà.
File-le nous, tu vois, genre comme ça. Moi aussi, je
serais content. On serait content.
Pas mal. J'ai 700 balles.
Bravo.
En
10 ans de poker.
Bon, on va tout de suite attaquer par le vif du sujet. Cet été, boum, direct, le mec, c'est l'été de rêve. Tranquille, 1 milliard,
un milliard de dirhams.
Non, il faut qu'on va parler un petit peu de cet été de Vegas. Toi, il s'est passé une tonne de choses depuis cet été. On va commencer par Vegas. C'est quoi, 5e Vegas?
Ça doit être le 4e Vegas.
4e Vegas.
Clairement, bon, bien sûr, le meilleur, ça c'est une certitude. La première fois, quand on va à Vegas, on n'est pas assez briefé. En tout cas, même si on est briefé, on pense toujours se dire oui, on sait ce qu'on va faire, etc. Puis au final, sur place, c'est complètement différent, quoi, clairement. Donc là, je pense qu'il y a l'expérience de Vegas qui a joué aussi. Il y a le fait de savoir comment je voulais me préparer par rapport au tournoi, le fait de savoir que je voulais pas aller à l'hôtel, que je voulais aller en villa avec les personnes avec qui je voulais aller, vraiment faire la part des choses entre le poker et les à côté de Vegas, etc.
C'est la première fois où t'es en villa?
C'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. J'avais déjà beaucoup beaucoup apprécié la première fois.
Et là t'es vraiment avec des gens que t'aimes bien cette fois.
C'est ça, enfin les deux. Non, mais ça a été les mêmes en plus pour la villa d'avant. En partie, ça a été les mêmes par rapport à la première villa. Mais donc voilà, très bien entouré. J'ai fait deux villas différentes aussi, donc avec des personnes différentes, etc. Et puis ça, avec la confiance, la chance et tout ce qui s'ensuit, ça a permis.
Et l'amour.
Ça a permis d'avoir un bon Vegas.
Tu t'étais mis beaucoup de pression sur ce Vegas. Est-ce que t'attendais beaucoup? Enfin, est-ce que par exemple, quand on avait reçu Paula, qui nous avait dit, il savait que cette année-là, mentalement, il s'était préparé à fond et tout. Est-ce que t'as fait une préparation mentale comme ça, ou toi, c'était vraiment plus te cadrer au niveau de ton rythme de vie et que le reste allait suivre.
Ça va avec, hein, clairement, le rythme de vie, le mental, etc. Ça va avec. On est, moi, je sais que depuis le début de l'année, j'ai beaucoup travaillé sur le mental. Sur la préparation, etc.
Quand tu dis beaucoup travailler, c'est-à-dire t'as pris quelqu'un?
Pas encore, mais je vais en prendre un là pour justement repasser, essayer de repasser encore un cap supérieur. Mais j'ai commencé déjà par apprendre ce que je pouvais apprendre de moi-même dans un premier temps. Donc c'est ce que j'ai fait en début d'année. Et puis, à Vegas, c'est un truc aussi qui est très important, je pense, comme dans tous les tournois d'ailleurs, on le voit online, etc. C'est tout ce qui est structure des tournois, quoi. Et le fait de connaître les structures, de savoir à quel moment, plus ou moins, on est ITM, le nombre de personnes qui s'écrèment, etc. Ça permet d'avoir vraiment un relâchement aussi au niveau mental qui aide dans notre jeu et de pas sentir tout ce... Moi, j'avais un petit problème, on va dire, c'est quand j'arrivais sur des énormes fields, moi j'avais l'habitude de jouer à l'aviation, sur des petits fields, etc. Là, j'arrivais sur des gros fields, t'as l'impression que les tournois vont durer une semaine à chaque fois et que c'est infini.
C'est ça. Ouais. Alors qu'en fait, tu vois pas le bout et c'est limite déprimant au début d'un tournoi. Tu te dis, je vais jamais le gagner.
Voilà, t'as tout de suite envie d'aller à la fin et tu déjoues un peu, tu surjoues peut-être un petit peu aussi, etc. Et quand tu t'apprends à connaître cette structure et à voir qu'en fait le field il s'écrème assez rapidement et tout, bah tu prends juste confiance à te dire bah on va jouer, on sait qu'on est là pour 10 heures, on joue 10 heures et puis le demain on sera là encore pour autant d'heures et puis t'as un rythme qui est clair, qui est précis et tu joues au poker tout simplement.
Alors ça fait combien de tournois?
J'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait je suis arrivé presque au début, j'ai dû rester un mois et demi.
Ouais, t'es resté jusqu'à presque à la fin.
T'es arrivé tous les deux en même temps?
Non. Moi j'ai fait 2 semaines avant avec la villa, avec la plupart des joueurs Winamax, quoi, à l'exception de Louis, il y avait Louis qui était avec moi et tout le reste, c'était Winamax. Et ensuite on a changé de villa et au moment où on a changé de villa, donc Aurélie qui est venue avec, donc il y avait Tapi, Anthony Picot, Rémi Castagnon, enfin voilà, il y avait aussi Olivier Dex, etc. Il y avait une petite équipe sympa aussi.
Combien de tournois
j'ai joué une vingtaine de tournois grand max, quoi, vraiment grand max.
Ouais, je crois que t'en avais joué 15.
Non, ouais, mais c'est vraiment, c'est pour ça que je te dis grand max, donc entre 15 et 20. Quoi.
Tu t'es calé ton programme déjà, tu savais directement ce que t'allais jouer ou t'as un peu vu au fur et à mesure des perfs et du run
Non, je savais ce que j'allais jouer. Je crois pas avoir joué d'autres tournois que ce que j'avais prévu. Ça, c'est aussi une des nouvelles. Règle entre guillemets que je me suis fixé.
Ah, en même temps, t'as dit prenne pas mal des tours. Enfin, t'as été loin dans les tournois que t'avais fixés dans un programme, donc c'est pour ça aussi que t'as pas été en dehors.
Ouais, j'ai fait
ça. Par rapport aux autres années, quoi.
J'ai fait quand même. J'ai dû faire genre au moins 3 D3, ce qui est quand même pas mal, quoi, je pense.
Ouais,
hein.
Ok.
Donc.
D3, c'est ITM à chaque fois?
Ouais.
Il y en a
bien qui était très long, où on était quand même ITM, mais qui était long. C'était le. Si vous en faites sûr, je me souviens plus. Le marathon, qui avait une structure.
Le marathon, c'est celui où il n'y a pas de pause, non, c'est pas ça?
Non, ça c'est le. Comment
ah, c'est le Iron Man.
C'était le mini-main event, le marathon.
Ouais, c'était un mini-main event, c'est un nouveau tournoi que j'avais fait. Il devait y avoir 30 000 jetons et des rounds d'une heure et demie, donc 90 minutes de level, donc c'était vraiment top. Mais donc celui-là, j'ai fait.
Tu veux dire, t'as pas fait genre je bosse, je me réinscris direct d'un tournoi, comme tu pouvais le faire avant?
Comme je l'ai fait avant, ouais. Le premier Vegas, je pense que ça a dû m'arriver de faire 3 ou 4 tournois dans la journée, quoi, le truc qui est improbable.
Ah ouais.
Et je commençais genre, je sais pas. 5 000 euros, 1 000 euros, 500 euros et 100 euros à la fin, tu vois. Enfin, ça a aucun sens.
C'est avec des mecs qui jouent du crack.
Prenez ton mois qu'elle est où. Ça jouait
dans la rue
tout, quoi.
Ça a aucun sens. Et le premier gars que j'ai fait un ITM et c'était sur
un $25.
Bah presque, quoi. C'était genre le 100 balles du Planet Hollywood où j'ai dû finir à 6h30 du mat pour $180, quoi. Vraiment, c'était l'enfer. Et j'avais joué pour 10 000, enfin n'importe quoi, vraiment n'importe quoi.
Et en plus, t'avais vendu 50%.
Ouais. Là, n'exagérons pas.
Tes autres Vegas, donc le premier, forcément, c'était compliqué. Les autres Vegas qui ont suivi avant celui-là, est-ce que t'as fait des Vegas positifs déjà avant?
Alors, j'ai fait.
C'est rare, mine de rien.
Les deux premiers, j'ai perdu, voilà. Sur le premier, j'étais énormément stacké parce que c'était par procuration. En fait, j'avais un pote qui voulait vibrer par procuration, etc. Donc on s'était arrangé.
C'est comme Polak qui a fait vibrer son pote sur le main event. Il y a un mec qui a pas pu venir à Vegas et Polak lui a proposé de lui vendre.
Ouais, c'est toujours cool. Hein, c'est
je crois qu'il a vu. Il a vendu
1%.
Il a vendu un peu plus.
Je crois que c'était pas beaucoup, mais.
Enfin, pas beaucoup, mais bon, le mec.
Ça reste le main. Quoi.
Il a pas beaucoup de 4 millions. C'est pas mal.
C'est bien. C'est plaisir.
Et après les autres, j'ai dû faire even et positif, quoi. Donc parce qu'en
déjà,
fait,
even à Vegas, t'as l'impression que c'est une semi-victoire, quoi.
Bah
avec les frais, tu comptes les frais à la totale.
Mais bon, on avait, enfin avec Aurélie l'année dernière, on a ITM le main event ensemble. Mais dès que t'as item le main event, quand tu vas un peu plus loin, c'était quoi, des 3 ou des 4, je sais plus. Des 4,
tu fais quoi, 480ème, c'est ça, un truc comme ça, Aurélie?
On se suit en fait, ouais, on fait, je sais pas, faudra vérifier, mais.
Je crois que tu fais 483, Aurélie.
On a sorti, on est sorti.
Qui c'est qui est sorti en premier?
C'est moi.
C'est Alex.
Donc bah, toi tu fais 483, toi tu devais faire 480.
C'est ça, 10 minutes d'intervalle, quoi, c'est
assez drôle.
Et donc quand tu fais ITM dans la Omen, si t'as pas fait non plus des tournois très très chers, ça sauve un peu les meubles, si t'as fait ITM dans un ou deux autres tournois, etc. Bon, t'arrives quand même even, quoi.
Mais... Bon, on arrive gentiment. Alors Aurélie, toi t'es arrivé à quel moment à Vegas?
Moi je suis arrivé le 19 juin.
19 juin, ouais, c'est fin de Vegas quand même. Non, c'est milieu. Attends, ouais, le main,
maintenant, ça finit genre vers le
7 juillet.
Ouais, le 8 juillet,
ça finit très tard maintenant.
Ouais, ça finit tard.
En plus, t'as le main qui est tout.
Ah non, oui, c'est 8 juillet le main.
Le main démarrait, je crois, aux alentours du 7 ou 8 juillet,
je crois.
19, c'est la moitié, je pense, quoi, en gros, quoi.
D'accord.
Le 19, c'est mon début. Je suis tout le temps arrivé à Vegas aux alentours d'entre le 15 et le 20.
Comme ça, déjà, t'es tranquille à la maison, sans lui, un peu, tu peux kiffer.
Non, mais là, c'est la première année que lui partait avant, vraiment, quoi. Parce que d'habitude, c'est vraiment...
Toi, tu vas kiffer à Vegas, d'abord.
C'est vraiment la zone dans laquelle on arrive, parce que moi, je me fixe par rapport aux ladies du Venetian ou certains tournois que j'apprécie, et c'est souvent dans cette zone-là, et puis il y a le ladies aussi, WSOP. Mais cette année, Alex avait dans ses objectifs de partir beaucoup plus tôt à Vegas, genre limite fin mai, quoi. Il m'avait dit, moi, mon objectif cette année, c'est si ça se passe
Vegas,
bien,
ouais.
Parce que c'est des objectifs qu'on se fixe annuellement, donc on sait pas encore si c'est réalisable ou pas, mais il m'avait prévenu qu'un de ses objectifs serait d'arriver très tôt pour Vegas, donc fin mai, vraiment début juin. Et donc bah, ce qui est cool, c'est qu'il a réussi à
toi,
sa bonne année, il l'a fait, et donc il a pu démarrer tôt. Moi, déjà, Vegas, c'est pas une ville
que t'apprécies,
que j'affectionne énormément.
T'en as fait combien de Vegas?
J'en ai fait 4, pareil qu'Alex.
Enfin, okay, je reviens un peu là-dessus parce qu'elle arrête pas de dire ça chaque année, mais de plus en plus c'est kiff, et
de plus en plus j'apprécie.
Donc,
mais
en même temps, si à chaque fois tu ramènes un demi-million chaque année,
forcément c'est les premières embrouilles de couple. Chaque fois qu'il y aurait une embrouille de couple, je mettrai la musique.
J'aime de plus en plus. Ça, c'est les embrouilles de couple.
Chaque fois qu'il y a des embrouilles de couple, je mets ça. Et ça, c'est. C'est quand Laurent Polito gagne un WPT.
Ouais, il y en a beaucoup.
Chaque fois qu'il y aura ça dans l'émission, c'est que
tu
gagne un WPT.
Gagné, hein.
Là, il en a pas gagné pour l'instant.
Dans 2000.
Ça peut tomber à n'importe quel moment. Donc,
non, mais c'est une ville que voilà, j'apprends à apprécier de plus en plus, disons. Non. Mais c'est pas voilà, la première année, j'ai été extrêmement déçue parce que je me faisais quelque chose de Vegas et du coup, j'ai pas aimé cette ville. Quoi.
C'est quel côté qui t'a déçu?
Et pourtant, la première année, ça a été ma meilleure année en termes de gains. Enfin,
ouais, que ça fait avec les paillettes, ouais. Que ça fait trop quoi. C'est pas une vraie ville quoi.
Ouais, c'est ça. Il y a trop un écart entre la richesse et la pauvreté. Là-bas qui saute aux yeux en fait, enfin je sais pas moi, ça me, ouais, c'est trop paillette, c'est trop faux, c'est trop falche, je sais pas. C'est après, oui, pour le poker c'est bien, il y a de la demande partout, dès que tu bustes tôt tu peux aller être rentré en tournoi, il y a tout le temps du live partout, tu peux jouer, etc. Mais en termes de ville en soi, en plus, enfin, ça n'existe pas une ville comme ça. Il fait 50 degrés dehors, tu crèves de chaud, tu rentres dans un casino,
tu crèves de froid,
t'étais malade tout de suite. Enfin, non, mais là, je fais un peu ma relou, mais il y a plein de petits trucs comme ça qui font que, ouais, c'est pas la ville au tout début où j'ai kiffé. Et tous les ans, j'apprends un petit peu plus à apprécier.
Qu'est-ce que, du coup, c'est quand on connaît un peu plus Vegas qu'on apprécie, c'est-à-dire des petits coins ou des trucs qui sont un peu moins connus.
T'as tes habitudes.
Ouais, j'ai des restos qui sont assez loin. D'ailleurs, dans la villa, on a une anecdote, mais avec certaines personnes de la villa, je leur ai dit, ouais, j'ai un Jap à vous faire test et tout, il est trop bon. Bref, on a fait le tour de Vegas, je les ai conduits genre pendant une heure de route.
C'était pourri.
Je me suis perdue et tout, enfin, c'était rigolo.
Enfin, toi,
mais je l'ai retrouvé. Et je l'ai retrouvé et il y avait genre une heure et demie d'attente, donc du coup, on a décidé de ne pas bouffer là.
Et est-ce que le fait justement de maintenant être en villa et plus en hôtel, ça a changé votre Vegas, vraiment votre vision de la ville, quoi?
Bah moi déjà parce que je trouve que c'est beaucoup plus agréable quand t'es à l'hôtel, que tu sors. Alors si tu restes une semaine, j'irai à l'hôtel clairement, mais quand tu restes longtemps, un mois au moins ou même 2-3 semaines, le fait de tout le temps sortir, tu rôdes en fait, au final tu rôdes dans les casinos, tu vas aller jouer, même si t'es pas trop joueur, tu vas aller jouer un peu
obligé,
à gauche et à droite,
tu vas
faire des restos, ça va te coûter très cher, tu vas aller jouer en fait. T'es pas dans le mode de vouloir aller jouer.
Ouais, t'es frais, explose, en fait.
Tu
veux juste passer le temps.
Déjà,
et puis
tu te laisses porter en plus par le fait d'aller jouer. Ok, tu vas jouer, mais t'étais avant dans une autre atmosphère qui t'a pas mis dans les conditions pour aller jouer, quoi. Moi, là, le fait d'arriver vraiment tôt, d'être en villa, c'était vraiment sympa dans le sens où tu te réveilles, tu prends ton petit déjeuner, Ok, aujourd'hui j'ai envie de jouer, j'ai pas envie de jouer. Comme tu restes longtemps, t'es pas pressé par le temps de vouloir tout jouer aussi. Parce que quand t'es là deux semaines, tu dis ouais, faut que je joue. Là, t'as le temps, t'as pas envie de jouer, tu joues pas. Tu vas jouer en cash game un petit peu, 2-3 heures, tac, t'arrêtes, tu vas jouer autre chose. Enfin, c'est vraiment un rythme de vie qui est complètement différent. Et moi, en tout cas, qui me correspond plus clairement et qui est beaucoup plus sympa. T'entrepotes, tu fais des barbecues, tu fais des jeux de société, voilà. Tu sors vraiment du truc.
Des cache-cache.
Quoi,
vous avez fait des
loups-garous.
Alors,
j'ai joué au loups-garous.
Alors, il y a une question sur de tapis volant qui demandait s'il y avait une stratégie optimale au loup-garou, ou c'était quoi tes qualités les qualités de joueur de poker pour le loup-garou.
Bon, après on va parler des tels, hein, ça va évident, mais bon ça reste encore.
C'est quoi ton personnage préféré au loup-garou?
Au loup-garou, loup-garou, hein. Clairement, quoi.
Moi, vous parlez chinois, je ne connais pas ce jeu.
Je connaissais pas non plus.
Je connais deux noms, mais je ne connais pas ce jeu.
C'est très drôle. Quand on t'explique les règles, tu dis ah ouais, c'est vraiment drôle ça et tout. Et en fait, quand tu t'y mets, c'est pas mal.
Et en plus, si t'as picolé un tout petit peu, c'est vraiment très, très, très drôle.
Ouais,
ça devrait être drôle souvent alors.
Puisque t'es alcoolique, c'est ça?
C'est vrai, je le deviens.
Toi, Aurélie, tu t'étais fait un petit programme? Parce que t'as vendu pas mal de parts pour.
Ouais, j'avais vendu sur PA, donc sur Poker et Associé, sur la plateforme. Donc j'avais fait.
Alors juste, Poker et Associé, c'est quelque chose où tu peux proposer, toi, de vendre des parts ou c'est... Parce que alors, toi, t'avais un contrat avec.
Alors on était l'année dernière un peu plus, mais cette année on était deux teams pro, entre guillemets.
D'accord.
Voilà, avec Louis et moi. Où en gros on a un contrat sur des events où ils nous payent les frais, les buy-in, etc. Et en contrepartie, ils vendent 35% de notre
de votre action sur les tournois.
25, exactement, 25% de
tous les tournois, du coup c'est un 25? Package quoi.
Ah, des tournois qui nous stack, hein.
Ah ok, c'est pas tous les tournois. Nôtres, hein. Des fois vous
nos persos, c'est nos persos.
Vous allez faire des tournois
ceux qui nous stack, on met en vente.
T'as dit 25 ou 35?
C'est 25, après il y a 10% pour autre chose, mais c'est 25 à la vente en tout cas.
Et donc toi Aurélie, quand t'as proposé en fait un package, c'est ça?
Bah en fait, donc il y a les deux, comme il y a Louis et Alex. Bon, Alex est parti chez Unibet, mais faut savoir que chez Poker Associé, il y a aussi la team pro Unibet.
Tu peux y aller.
Et Team Pro Poker Associé, qui sont en fait les amis PA avec.
C'est là où il y a Louis, du coup. Non, il y avait qui dans la team? C'était Louis et toi dans la team?
Cette année, c'était Louis et moi.
Okay.
Avant, il y en avait plus. Et là, maintenant, c'est Aurélie. Vas-y, je te laisse.
Non, vas-y.
Aurélie, Saber.
Saber, ouais, je sais qu'il y a Saber.
Il y a Jonathan Terme. Jesse, qui est un peu plus en retrait, mais il y avait Jesse Mario aussi.
Jesse Mario.
Et je m'optimise. Et c'était vraiment une super équipe dans tout. Et bon, après, je te laisse expliquer.
Et donc, nous, en fait, on met en vente des parts sur des tournois, sur des packages, etc. qu'on souhaite. Donc, on met le montant qu'on souhaite. Donc, moi, pour Vegas, j'avais mis en vente, si je dis pas de bêtises, 15%, 10 ou 15%. Ah, j'avais vendu différent. J'avais fait trois packages. J'avais fait un package avec tous les petits de Vegas. Donc, des $500 au Golden Nugget, au PH, des beaux tournois avec des belles structures dans les 500, $600. Donc, j'en avais beaucoup. J'en avais 7, je crois. J'avais fait un package avec juste trois gros. Il y avait le Monster Stack à $1,500 de WSOP, le 1008 PH Main Event et un autre 1006, le 1006 du Win. Donc ça, c'était les trois gros.
T'avais fait un beau truc sur Excel. Et
voilà,
tout.
T'as vu?
Ouais, il était beau, t'avais des couleurs et tout.
Alors que
nous, on aurait été là, on aurait fait une photo, tu sais, du papier. On l'aurait écrit sur un papier, on aurait fait une photo. Je vends VAN, voilà, c'est tout.
Et en troisième pack, j'avais le Ladies, que j'avais laissé seul. Et voilà, et j'avais vendu des parts différentes sur les trois. En fait.
Mais tu vendais 15% max.
Max, ouais.
D'accord. Parce que ça faisait un total, ça faisait un
donc
gros...
J'avais peut-être vendu 20 sur le Ladies, je me rappelle plus trop en fait. J'avais plus vendu sur le Ladies, et c'est pour ça que j'avais séparé, parce que je voulais plus vendre sur le Ladies que sur les autres.
Et sur le Main, t'avais pareil, vendu des parts? Ou c'était hors...
Sur le Main...
T'as joué le Main, ça?
Ouais, mais c'était pas du tout prévu. C'est-à-dire que c'était pas du tout, hormis une perf. Si je perfais sur mon programme, je jouais le Main. Et c'était pas prévu du tout.
T'as pas prévu de faire des sats?
Mais comme
plus, ou quoi?
Si, j'avais un ou deux sats.
Okay.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas pu jouer les sats, etc. Et comme beaucoup de personnes sur place...
Tu t'es chauffé.
On se gratte. En voyant le Main arriver, on se dit, putain, c'est quand même dommage, etc. Et
il y a un montage qui a été fait pour qu'elle puisse jouer.
Avec des amis et tout. Il y a un montage qui a été fait pour...
En quoi?
Un truc au Panama, des montages...
Non, c'est qu'on a quand même des connaissances et amis de longue date qui sont
blindés,
qui sont les entrames, qui sont pas les personnes, etc.
Ouais, puis qu'on n'a pas la chance aussi, eux, d'aller à Vegas. Et encore une fois, on parle
de
certains qui n'étaient pas voilà, à Vegas. Donc, et puis voilà, et qui voulaient mettre dans mes mains. Et qui. Et voilà, en envoyant différents messages, on a réussi à monter ça grâce à un ami petit à petit. Et donc ça s'est fait très rapidement d'ailleurs, parce que j'y croyais pas beaucoup, mais que ça se monte, et ça s'est monté. Et, donc j'ai...
et ton main event, ça s'est passé comment ?
J'ai pas fait ITM, et ça s'est pas super bien passé. Mais j'ai été contente parce que, en fait, il fallait que je travaille mon mental par rapport au fait des bustos ou des coups durs que tu peux prendre et où j'ai envie de rester 20 minutes toute seule, limite à aller m'enfermer dans les toilettes pour soit arracher le papier par des toilettes, soit crier, soit pleurer, etc.
Peu importe la façon dont tu bustes ou juste quand tu prends une horreur, quoi. Parce que c'est pas la même chose. Quand on prend une erreur, qu'on se sent impacté, c'est dur.
Je veux dire en général. C'est-à-dire
même quand tu bustes, avant, t'étais impacté, peu importe.
Non, il y a des fois où, bien sûr, ça, je suis pas tout le temps comme ça.
C'est rare.
Je veux dire, là, je te parle du main event, quoi.
Non, mais des fois, tu peux buzz sur un coup standard, un flip.
Ouais,
ça arrive souvent, un flip.
Non, en fait, ça va plus.
T'es pas content, mais c'est pas une erreur, entre guillemets.
Ça va plus dépendre du tournoi aussi, tu vois. Je joue beaucoup de live, donc sur tous les tournois que je joue, bien sûr, tu sautes sur un flip, même sur un 80-20, même sur un one-outer, bon, t'es sorti. Mais là, on parle du main event, un tournoi où il y a des gens qui ont mis dans mes mains, donc c'est pas mon. Enfin, c'est pas. J'avais mis.
Bon,
20%, je crois. Bref, mais en tout cas, j'avais. Mais il y a des gens qui ont misé sur toi et qui ont compté sur toi.
Tu bosses pas que pour toi.
Tu bosses pas pour toi, voilà. Tu bosses sur tous les gens qui ont investi sur toi.
Alors, ils connaissent les règles.
Toi aussi, du coup, t'as été stacké et tout ça. Est-ce que quand on joue des tournois où on est stacké, alors après, forcément, ça va dépendre un peu de la part du stacking, ça change un petit peu notre jeu. On va avoir peut-être peur de prendre moins de risques à des moments parce qu'on se dit qu'il y a des gens derrière.
Il y a des gens qui vont réagir déjà différemment que ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire, moi, je suis stacké, j'ai pas mis d'argent, j'en ai rien à faire, je veux gambler, je m'en fous de faire ITM, je veux gagner, etc. Il y a des gens qui, au contraire, ils vont avoir peur de sauter, de dire comment est-ce que je vais raconter que j'ai fait ça. Moi, je me fais stacker de façon générale que par des potes, voilà, des gens
ils
que
connaissent
je kiffe,
pour
pas qu'il y ait de problème.
Déjà, parce que quand je leur donne l'argent, ça me fait plaisir déjà. Ouais. Je pense que c'est déjà quelque chose d'important. Ensuite, deuxièmement, ils ont confiance en mon jeu. Ils savent que s'il doit se passer quelque chose, c'est qu'au moment précis, je pensais que c'était la bonne chose, même si ça peut m'arriver de faire de la merde, enfin, clairement, mais ça fait partie du jeu. Donc j'ai pas à m'en vouloir de la façon
dont
ça m'est déjà
derrière.
Arrivé ça m'est ouais. déjà arrivé dans des périodes où ça a été un peu long, par exemple en termes de résultats, où j'étais stacké par certaines personnes qui n'ont pas eu des retours forcément tout de suite, etc. Là ça devient un peu chiant, quoi, parce que t'as l'impression de devoir de l'argent au final, parce que tu perds, tu donnes pas d'argent, tu dis qu'il y a un petit souci, mais au final sur le long terme tu t'aperçois que ça normalement ça devrait rééquilibrer.
Toi Aurélie, ça t'a mis une pression ou tu joues ton jeu, il n'y avait pas de problème pareil parce que tu connaissais les gens qui te stackaient
ça... Bah en fait ça met une pression, ce serait de mentir de dire que ça te met, c'est que enfin forcément il y a une pression parce que t'as envie, comme je t'ai dit tout à l'heure, t'as envie de leur faire plaisir, t'as envie de leur prouver qu'ils ont eu raison d'investir sur toi et que voilà tu vas faire ton maximum et tout, même s'ils le savent, quoi. Mais du coup pour répondre à ta question, ça change pas ton jeu, parce qu'à partir du moment où t'es assis, c'est et que t'as ça, les cartes devant toi, tu oublies complètement ce facteur-là. T'es dans ton jeu, ton objectif c'est de faire le minimum d'erreurs, et en tout cas de jouer le mieux possible, tu vois, et de réfléchir à chaque coup, et de gagner chaque main, etc. Enfin, tu
c'est
vois.
Après en fait.
Mais c'est après, c'est une fois que tu bustes, tu
parce
vois.
Final,
mais
quand tu joues au poker, c'est jouer au poker.
Voilà, une fois que t'es assis, t'oublies ce
facteur-là.
Tu surjoues pas.
À partir du moment où t'as compris ça au poker, je pense qu'on a compris beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y en a des gens qui vont dire, ouais, mais là, on joue pas pour être. Souvent, on entend ça. Moi, je joue pas pour être ITM, je joue pour la gagne. Ça a pas de sens, quoi. Au final, si tu dis ça, ça veut dire que t'as un leak déjà dans ton jeu.
Tu vas pas jouer de la même façon à certains moments.
C'est vrai que je le rejoins là-dessus.
Moi, j'ai eu ce discours-là avant, voilà, en tant que live star. Tu dis ce discours. Tu dis ouais, je joue pas pour tu vas prendre des risques inconsidérés à tel moment, etc. Mais au final,
attends,
tu te rends compte que quand tu joues au poker, l'ITM est une partie du tournoi.
C'est une étape.
C'est une étape et tu dois la jouer du mieux possible. Si à la bulle t'es short, voilà, ça fait partie du jeu,
ça,
tu dois pas exploiter.
C'est des situations que tu vas rencontrer où tu seras obligé de jouer que l'ITM.
C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, tu feras une erreur.
Pas tout le temps chip leader à la bulle.
Exactement. Donc quand tu, il y avait une phrase de David qui m'avait marqué, que je trouvais très bien. Il disait si j'ai en gros.
Il attend avant de la dire ou pas?
Non, il n'a pas tant qu'elle était speed. Si t'as genre moins de 10 blindes à la bulle, je ferai jamais la bulle, il dit en gros. Il dit par contre, si j'en ai 40, je peux faire la bulle. Et ça veut tout dire. Enfin, c'est la phrase, elle reflète exactement la même chose. C'est ton premier, quand t'as 10 blindes, c'est de faire l'argent. Et ensuite, tu verras ce qui se passe. Et
c'est
voilà,
l'ICM, quoi.
C'est l'ICM, tout simplement. Et l'ICM, c'est quelque chose que les joueurs de tournoi, pour qui les joueurs de tournoi, elle doit être très important. Et en fait, il y a très peu de joueurs de tournoi, voire personne clairement qui maîtrise totalement
l'ITM. En fait, ça fait partie de l'arsenal quoi. comme exactement, ça va jouer post-flop.
Exactement. Parce que ça, l'ITM, on en entend tout le temps parler. Et c'est vrai que nous, on est des joueurs de cash game, par exemple, on comprend pas forcément l'ITM.
Je comprends rien, mais justement, c'est là je reviens sur les qualités des joueurs de tournoi. Enfin, c'est autre chose, mais c'est des trucs où tu vois qu'ils ont bossé.
Bien sûr.
Et que si tu l'as pas bossé, tu peux pas le maîtriser.
Les tableaux qu'on voit de Snapshot et tout, à 20 blindes, 25. Tout ça ne prend pas en compte l'ICM. Donc ces tableaux sont faux déjà.
C'est juste.
Parce que vous, en cachet, vous n'allez jamais les utiliser.
Ils sont purement mathématiques, mais il n'y a pas toute la.
Mais du coup, ils sont pas optimales.
C'est optimal sans ICM.
Mais ça le devient plus.
Bah en fait, le but c'est de connaître la théorie, mais d'en dévier quand à ces moments-là justement d'ICM.
Quand t'as des moves, parce qu'eux ils mettent les ranges, mais ils mettent pas à combien c'est ok. Mais si par exemple
combien il y a dans les blindes.
Non, c'est même pas ça. Si, parce que ça tu le calcules. Mais à combien c'est EV entre guillemets, genre chauffe deux as, ça va être EV, je sais pas combien, tu vois, ça va être énorme. Chauffe paire de deux UTG. 10 BB, bah ça va peut-être être V0,3, j'en sais rien, okay. ça il te l'indique pas. Et si c'est 0,3 et que t'as un moment du tournoi où il y a de l'ICM et tout ce qui s'ensuit,
c'est négatif,
ça devient plus bon quoi. Ouais. Du coup ça devient plus EV, donc c'est ce que je te dis, c'est pour ça que je te dis bah non, c'est pas forcément optimal quoi. Ça va être c'est mathématiquement c'est bon sans ICM, sans rien. Je pense qu'on peut faire confiance aux gens qui ont fait les calculs, donc mais par contre si on rajoute l'ICM et un co,
quand il y a pas vraiment d'ICM et que c'est close, tu peux te rabattre là-dessus
et après pour en revenir encore à ce tableau-là, ça revient toujours au fait de dire c'est si tout le monde joue les tableaux, etc., etc. Donc pour les ranges de chauve ça sera toujours bon, par contre pour les ranges de call ça va être différent quoi.
Tu les as bossé quand même un peu?
Ouais, t'es obligé en tant que je pense que quand je dis t'es obligé en tant que joueur de tournoi, c'est une arme quand même qu'il faut connaître. Là, tu feras
pas, si t'as ton téléphone tu peux regarder.
Vous utilisez ça justement parce que on en voit maintenant, enfin quand on fait des lives, des joueurs comme ça qui sortent leur téléphone, qui regardent un petit peu Snapshot ou pas. Est-ce que vous l'utilisez et globalement vous pensez quoi de ça? Est-ce que c'est bon pour le poker ou pas au final d'utiliser ce genre de logiciel comme ça quand on est en live?
Pendant qu'on joue, tu veux dire?
Ouais, ben on voit pas mal de joueurs pas dans le coup parce qu'on n'a pas le droit, mais qui par exemple bon ils vont folder leur main, ils savent que voilà ils ont 17 blindes, ils vont regarder un peu la situation sur leur téléphone et.
Moi je me pose pas trop la question. Enfin honnêtement je me suis pas posé la question de savoir ce que j'en pensais. Je veux dire ils ont cette arme là, ils ont le droit au téléphone, on peut pas les interdire, de toute façon on pourra rien y faire, donc on a une possibilité d'edge, autant l'utiliser quoi, je veux dire ça fait partie du jeu. Mais ouais, il y avait eu une histoire, c'était pas c'est un EPT ou au main event l'année dernière peut-être, où il y avait quelqu'un qui avait sorti son tableau sur la table.
Ah ouais,
on parle pas ça.
Il y en a un qui avait des je sais que
je crois que c'est Kenny Alert qui lui avait dit mais qu'est-ce que tu fais,
il y avait des fiches,
je révise, c'est exactement ça.
Il révise quoi, il a ça,
exactement ça.
Gars sérieux, putain, il a préparé son petit calepin.
Moi je le fais plus trop, mais c'est vrai que à l'époque où j'ai installé,
toi t'as mis ton PC, c'était gênant sur la table.
Attends, bouge pas, je lance le solver.
Vous avez un câble électrique?
Non mais à l'époque où l'appli est sortie, etc. Bah du coup pendant les tournois entre les mains, je regardais de temps en temps, etc. Quoi. Enfin quand j'étais dans des zones hors confort et tout.
Ouais, pourquoi pas, bien sûr.
Et puis après aussi des fois, je sais pas, tu te couches et puis ça te fait du bien mentalement de voir si t'as pris la bonne décision.
Ouais, ça te rassure.
Alors après coup, oui, beaucoup aussi, tu vois. Après coup, tu regardes si du coup, tu viens de bust, tu fais. Attends, c'était bon quand même. Tu sais, t'as un petit check.
De toute façon, si tu veux te rassurer, si tu trompes, tu dis bah mais non, mais dans ce cas-là, c'était bon parce que.
Mais si j'ai chauffé valet 7, mais c'était valet 8, on est pas loin, tu vois.
Parce que lui, il est plus tight. Ouais, c'est bon, ça passe. C'est bon. T'inquiète, on fait la même chose en cash game.
On se rassure, on va voir tous les moyens. Mais ça change pas de.
Tu sais, quand il y a plus ce genre, le truc, il fait ça 1% du temps. Bah ouais, mais c'était là. C'était ce pourcent-là. C'était mon pourcent. Okay. Bon, et le main event, bon alors on va revenir sur ton main event à toi. C'est genre ça s'est déroulé comme dans un rêve, non?
Alors, comme dans un rêve, oui et non. C'est-à-dire que j'ai commencé le D1.
La fin, c'est pas un rêve, mais c'est pas mal.
Ouais, la fin, franchement, c'est ce que je disais, j'ai pas de regrets. C'est bizarre de dire ça.
Mais c'est pas un rêve sur le moment, mais quand il repasse après,
va rêver que tu finisses 16e dans main event.
Non, c'est le
jeu. Tu t'es quand même content,
c'est un rêve de merde.
C'est un beau rêve.
Excuse-moi, si je rêve, je rêve pas, je fais 16e. Imagine, tu fais les championnats du monde d'athlétisme, je finis 3e. Toi, c'est trop beau rêve. Non, tu finis 1er. C'est un vrai rêve.
Très vite, j'ai déjà fait un cauchemar, sinon. Je fais 3e, putain, la misère. Non, j'ai fait un D1 où je suis monté vraiment, je pense, chip leader, genre au bout de. J'étais vraiment, vraiment très haut au niveau du. Il y a quoi? On joue 3 ou 4 niveaux? Non, je ne sais plus combien. C'est des niveaux de 2 heures, donc on joue à. Merde, je ne sais plus. 5 niveaux,
on
c'est ça?
On va demander à tapis volant.
Ne regarde pas, nous, le main event
à tapis volant.
Au bout du 3ème ou 4ème niveau, j'étais clairement, je pense, chip leader. Et là, en fait, j'ai perdu un coup assez marrant parce que on est parti, je ne sais plus, en 6 bet light, tu vois, où le mec m'a 7 bet et m'a laissé une cote de fou avec. Genre, je me retrouve à call un 7 bet en position avec As 5 suité, tu vois, dans un pot, machin.
C'est un autre monde, le MTT, quand même.
Cette bête. Parce que tu click back.
Ça, c'est des tout petits bêtes, quoi. En plus, c'est des relances américaines.
Pas forcément, en plus. Parce que là, sur le troisième niveau, ça fait quoi, les blindes? Ça fait, ça doit faire, je sais pas, 200, 400, peut-être.
Et à ce moment-là,
moi, j'avais 150 000 et lui, il en avait 100, tu vois. Donc, on était quand même
assez. Vous avez 250
000
quoi.
Ouais.
Et
je vois pas comment 7 bêtes quand même c'est même
bah ça fait open, enfin je me souviens plus de saisine, mais à l'époque je te dis c'était okay. On avait parlé avec les gens, tu vois, il y avait pas de, mais juste par contre lui quand il avait justement fait son 7 bêtes, justement, enfin son 6 bêtes plutôt, genre je me retrouvais à call avec fallait que je sois bon peut-être je sais pas 15% du temps, donc lui avec kickback hors position,
oui,
en fait, tu vois,
okay.
Et du coup je peux plus fold à 5 suites, en plus c'est trop bien,
tu vois, c'est trop fort
ouais. Tu vois, c'est genre impossible, donc je suis hyper call. Et puis ça vient à 6-5, tu vois. Et là, le mec me dit « all in », genre, mais direct, quoi. Et je me dis « bon, bah, payé ». Et il me montre un As-Valet qui a aucun sens, tu vois.
T'as peur de la doublette, là.
Et ça fait doublette 6.
Ah, ça fait doublette 6. Il a pas peur, lui.
En plus, en l'occurrence, pourquoi pas, après, il a...
Pourquoi faire tapis ? Pourquoi faire tapis, ça fait aucun sens.
C'est ça qui a aucun sens, tu vois. Qu'il mette tout au milieu, après, quand il a 6 bêtes et que le pot est au milieu et qu'il estime que j'en sais rien, why not. Mais de fait, de chauffe sur ce bord-là, ça a aucun sens.
Il est payé, il a perdu.
Bah, c'était le cas, sauf qu'il a fait turn 6, tu vois, et du coup, je me retrouve à genre 40K, alors que j'en avais 150 pour passer à 240, donc mentalement c'est dur quand même, alors que c'est le plus beau tournoi.
Mais t'as encore 120, mais c'est dur parce que tu perds un énorme coup, c'est ça qui est fou en tournoi.
Et puis maintenant tu te retrouves avec, parce que on parle de blind, c'est une chose, mais on a quand même les stacks en face qui font qu'ils peuvent profiter,
t'as la gestion des masses pour bouger ta table.
Différent.
Et tout ça,
ok, les blinds c'est intéressant et tout, on est d'accord, mais y a pas que ça, quoi, quand t'as une moyenne à 300 bébés,
surtout
que t'en as 50,
sur un tournoi où les mecs sont scared en général et que ton stack c'est vraiment une force,
ça allait aussi dans l'autre sens, parce que du coup ils veulent pas bust non plus, quoi. Enfin, si toi t'as pas peur de bust, entre guillemets.
Ouais, mais je veux dire, là où justement tu peux mettre vraiment beaucoup de pression.
Ouais, j'aurais été vraiment à l'aise sur ce coup-là, quoi.
Mais bon, je suis sûr qu'il a bust avant toi et qu'il...
J'en sais rien, on a cassé de table.
On
a cassé de table. Je finis la journée avec 35 000, quoi.
Donc tu passes ta journée à pédaler, quoi, en gros. Ça monte, ça descend.
Non, mais là, je suis à la fin.
Ouais,
je suis à la fin, je remonte à 80 et je reprends deux rois, deux dames dans un spot avec un mec. Pareil, je repère, j'ai deux dames, je perds le coup, je redescends à 35, je finis la journée à 35 000.
Et stack de départ, quasiment, t'es bien.
Stack de départ, sauf que vers la fin du tournoi, j'étais en train de chauffer, quoi. Je bouillais, je suis en train de me dire, ah, putain, c'est pas possible, j'avais 150 000 et tout. Et presque, j'avais pas envie de boss, mais j'avais envie d'en foutre partout, vraiment, quoi. Et je me retrouve à.
C'est comme quoi, tu vois. Il faut le garder en tête, tu vois.
Hashtag mental.
J'avais bien bossé mon mental. Je suis arrivé à Vegas, j'ai bien bossé mon mental.
J'avais envie, mais je l'ai pas
pris une villa.
Et le lendemain.
Non, parce qu'il y a le coach mental ici, si tu veux. Donc, les
mais du coup, toi, pour l'instant, t'es encore. Tu finis le D1 ou pas? T'es encore dedans là?
Ouais.
Donc pour l'instant, tu ne vois pas un peu tilter à la table?
Non, mais on s'envoie des textos et tout. Enfin, on est sur les groupes WhatsApp.
Putain, j'ai un gros connard et tout, à gauche.
On discute. Donc, moi, mon rôle, c'est de t'inquiète pas.
Calm down.
Tout est normal. Tout se passe comme il faut.
Et le lendemain, il y avait donc le D2 A et B là, enfin, qui se joue. Donc nous, on joue pas. Je suis dans la piscine. Et je me dis, moi, je suis quand même content d'être au D2 finalement, quoi. Enfin, j'ai bien fait de pas avoir mis tout au milieu. Et je passe un début de D2 très compliqué où pareil, je passe mon temps à fold, aéro fold des spots. Je fais un 3 barrel bluff qui passe, mais je me maintiens toujours à 40-50, les blindes qui montent.
Tu décolles pas.
Ouais, je décolle pas et je passe à. Je pense que je passe à 50 blindes et j'arrive à fold genre deux rois préflop dans un spot où je perds pas beaucoup d'argent au final. Je sais pas si c'est bon. Voilà, aujourd'hui, je sais toujours pas si c'est bon, mais je sais qu'en tout cas, le mec, moi, c'est un flip de range et en gros, il m'aurait montré genre, tu vois, soit deux as, je crois même pas deux dames, mais soit deux as, deux dames, on va dire. Et du coup, je me dis bon, le tournoi est profond, je viens de me remettre bien dans le tournoi. À quoi sert, enfin, de prendre ce spot variance, enfin, tu vois, c'est pas grave, passe.
S'il y a bien un tournant où on peut faire ça, c'est le minimum.
Exactement.
Ouais. Et puis tu sais que t'as un edge post flop sur ta table aussi, sur les autres joueurs, je pense.
Ouais, c'est un tournoi long en tout cas. T'auras peut-être.
T'avais une table. Parce que ça change quand même. Si t'as une table difficile, tu prendras plus le spot que si t'as une table facile et comme dit Aurélie, et que tu peux quand même.
Ouais, mais pareil.
Cette table était pas facile. En fait, ce qui est drôle, c'est que donc ça fait. Je raconte vite fait le spot, mais ça fait open d'un mec en MP. Trois bêtes au cutoff d'un mec. Le mec à open était tight. Moi, je call au bouton de roi. Et là, en fait, en blind, il y a un mec avec qui j'avais joué la veille, qui m'avait vu 6 bêtes, le A5 suité. Quand je suis arrivé, il m'a dit, ah, c'est toi le A5 suité, qui m'a réchauffé un petit peu.
Il t'a reconnu, tu vois.
Il reprend le spot de squeeze. Et là, j'étais tellement content de tout mettre, quoi. Je me suis dit, ah, ça va être, lui, il va jamais fold et tout, c'est trop bien, quoi.
Et t'as UTG qui chauffe.
Et là, non, pas UTG, mais le premier qui avait relancé MP, qui lui chauffe, par contre, tu vois. Et l'autre passe. Et là, je suis entre les deux.
Et il te couvre.
Je sais vraiment pas quoi faire. Hein?
Il te couvre.
Ouais, il me couvre. On a le même stack, quoi. Carrément. Et je sais vraiment pas quoi faire. Et vraiment, je prends la décision. Je dis, bah, allez, c'est un peu weak, mais vraiment, qu'est-ce qui va soit chaud ici. Enfin, tu vois, genre peut-être des fois les As-Rois, ça va être, c'est encore, franchement, faut vraiment qu'il soit chaud. C'est deux As, même deux Dames, t'as pas envie, quoi. Enfin, je sais pas, tu vois, en plus sur le main event de Vegas, encore une fois, c'est important de prendre ses comptes. Comme tu dis, les gens sont quand même scarred, ils ont quand même pas envie de buzz. Tous ces paramètres-là,
ouais, plein d'autres tournois longs. Snap call,
bien sûr, bien sûr.
Celui-là, il y a vraiment trop de paramètres. C'était un jeune ou c'était un.
C'était un mec tight. Il était pas vieux, mais okay. Il était tight, tu vois. Donc j'avais pas envie, quoi, clairement. Et donc je finis par fold. L'autre fold face-up commit As-Roi, tu vois. Genre il fold face-up. Mais ce tournoi-là, c'est trop drôle parce que t'as des gens qui vont. C'est vraiment un des seuls tournois où tu vas avoir des 3 bêtes et 4 bêtes avec As-Roi qui vont snap fold dans la vitesse lumière sur d'autres moves, quoi. Ça leur pose pas de soucis. Et ouais, pourquoi pas, en fait. Enfin, c'est des erreurs. Mais je veux dire, tu sais juste que tu value des fois.
Tu restes pour value et puis en fait, au final, tu sais que l'autre va jamais bluff.
C'est que les ranges de shove, voilà, c'est ça. Elle est tellement tight que.
Alors c'est. T'as pas l'habitude de voir ça, mais sur ce tournoi-là, t'as envie de te dire pourquoi pas, quoi. Et bon, donc du coup, je passe ce spot et puis finalement, ça se passe bien et je sais même plus après combien j'ai fini les journées. Ce qui est sûr, c'est que les deux derniers jours, voire les deux jours et demi, parce qu'au final j'ai le bust au D7, je crois, à la moitié du D7, c'est drôle ce que je vais dire, mais j'ai pas eu de jeu du tout. J'étais vraiment, à partir de ce moment là, card dead.
Donc par c'est contre, que des spots, c'est que
non,
des...
Non. Par contre, justement, j'avais la chance pendant genre deux trois fois d'affilée, mais c'était vraiment tous les jours la même chose. C'est à dire que pendant 5 minutes, 10 minutes, j'avais un setup en ma faveur, quoi.
Ça suffit. En fait, c'est exactement ce que nous disait Paul, en gros, il suffit d'un setup par jour.
Mais c'était ça, à peu près. Ouais. Et donc, du coup, je doublais parce qu'en plus, les mecs, enfin, franchement, sont pas forts, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas le tournoi le plus dur du monde, en termes de niveau technique. Faut pas se leurrer. Ça a rien à voir. Par contre, c'est un tournoi qui est dur en termes de
mentalité,
en termes de mental, en termes de physique, etc. Mais par contre, techniquement, les mecs sont pas bons. Enfin, on le voit à la TF, hein, on le voit sur la TF. Hein, je veux dire, le meilleur, c'était Polak, qui est de loin, quoi. Il y avait même pas,
t'as pas été en table télé une seule fois, toi, je crois.
Si, mais rapide. Bah, j'ai bossé en table télé, en fait. Mais, j'ai joué un petit peu, j'ai joué
ouais,
avec.
C'est vrai, à la fin, quand il y a deux tables, ouais.
Comment il s'appelle, notre ami,
qui gagne? Ah non, le vieux.
Non, Karel. J'ai joué avec Karel.
Ah oui, vous avez pas vu la phase?
Non.
Où Alex est en train d'écouter de la zik, enfin les écouteurs et tout, et Karel s'installe juste à la gauche d'Alex. Et genre au moment où il s'assoit et tout, il dit ah et tout, qu'est-ce que t'écoutes? C'est ça, hein?
Elle me demande ce que j'écoute, donc j'ai fait écouter. Il me dit ah, c'est bien et tout, mais c'est du rap français. Non, c'est quoi? Il m'a dit, j'ai du rap français, ah ok. Moi je pense qu'il aimait pas du tout, mais. Et il m'a dit, c'est. Et puis,
ouais, ça tombe bien, tu pourras le bâcher.
Il lui a dit ah, mais c'est agressif ça, tu dois être un joueur agressif.
Il y a une main de Karel dans la partie technique,
non, mais
tu pourras le
défoncer. Le truc, c'est que la musique que j'écoutais.
Mais c'est très space, hein. Alors, enfin, il y en a pas. C'était pas sur 100K, non?
Non, c'est une main, on en parlera, c'est une main online, mais.
Et.
La musique que t'écoutais à ce moment-là, c'était Donne-moi tout.
Ouais, c'était Donne-moi tout.
Et au moment où Karel lui disait fais voir, écouter et tout, et ben c'était Donne-moi tout.
mais bon, enfin, donc voilà, mais c'était vraiment très sympa comme expérience, j'ai kiffé et tout. Après, il y a autre chose, c'est que si je fais, c'est pour ça que je suis pas très frustré. Ça va faire un peu prétentieux ce que je vais dire, mais c'est vrai. Si j'ai 30 ans ou même 26 ans, je fais la finale de la Coupe du Monde de foot, que je perds en finale, je vais pleurer, je vais être triste, je serai complètement au fond. Là, je fais un tournoi que j'espère avoir la chance de le faire encore pendant des années, une fois par an, ok. En termes de ratio, en termes de tout ce qu'on veut, c'est pas beaucoup, ok. Mais en tout cas, ça existe.
Et tu sais qu'Antoine Saoud t'a prouvé que c'était possible. De
bah,
le refaire.
Lui l'a fait, il y en a qui l'ont fait. Et j'en parlais avec Romain Lewis, et c'est vrai qu'il a raison. Ceux qui vont loin ont déjà un edge par rapport aux autres. Parce qu'ils connaissent justement
tous le tournoi, les moments de pression, comme tu l'as dit, la structure.
Et vraiment. Et du coup, ouais, moi, je suis carrément chaud pour y retourner. Et j'ai confiance d'y retourner.
Qu'est-ce que t'as pensé, toi, du coup, parce que t'as dit prune, donc t'as été un petit peu confronté au truc du changement de la fin des November 9, du fait que maintenant tout soit joué en juillet et qu'il y ait plus de pause.
Alors moi, ça m'a rendu triste parce qu'en fait, c'est mon plus gros regret en fait. J'avais prévu, j'envoyais des messages à mes potes qui jouent pas au poker, vraiment ceux qui jouent pas au poker et qui me suivaient, etc. Je leur disais bon les gars, alors je voulais pas me jinxer, mais en même temps, fallait que je prévoie le truc parce que je savais qu'il y avait même pas une semaine pour faire venir les gens et tout. Donc j'en disais prévoyez vos passeports. Si jamais
faites un Insta au cas où.
Si voilà, enfin moi c'est
préparer les papiers quoi.
C'est en mode vous venez, c'est parti, mes meilleurs potes qui jouent pas au poker, bien sûr que je voulais
qu'ils soient
là.
C'est pour moi.
Mon frère qui me suivait aussi, mes parents s'ils avaient voulu venir, je sais pas si ça aurait été le cas, mais s'ils avaient voulu venir, pareil. Voilà, je voulais que ces personnes qui me sont chères soient là. Et du coup, il fallait un
plus
peu.
Plus les 30 personnes que moi je mettais sur.
Il fallait un peu en
plus. J'imagine un an après le mariage, ils vont refaire une liste. Alors attends, il y a les miens, puis il y a les miens. Mais il faut inviter mes parents, attends, c'est évident.
Et le plan de table, pas de bêtises, le plan de table, c'est important, le plan de table.
Donc ça, c'est pas cool, et j'en ai parlé un peu avec. Avec, enfin, je suis pas le seul d'ailleurs.
Jacques Eiffel.
Non, non. Grégory, c'est déjà bien.
Ah, j'adore Chauchon. J'adore Grégory
Chauchon. Et en lui disant, ouais, c'est peut-être un peu court, une semaine, c'est peut-être bien, mais là, c'était quoi, trois jours, je sais plus,
deux jours, ouais.
Deux jours, c'est juste. Et c'est dommage, parce que c'est quand même un événement, quoi. Donc, t'as envie que ces personnes-là soient là. Donc, ça, c'est un peu dommage. Maintenant, ce qui est bien pour les bons joueurs, c'est qu'ils vont conserver leur edge.
Ah ouais, clair. Il n'y a pas le mec qui se fait coacher, il n'y a pas le temps d'être coaché, pas trop d'investigation sur les joueurs.
Ça reste le tournoi dans sa continuité, clairement.
Et puis, tu restes dans le flow aussi, non? C'est ça, t'as pas de trou.
Attends, je t'ai coupé là, mais genre,
il m'a fait frapper.
Je pensais qu'il y avait une réponse.
Bonjour Gaël.
Et Gaël, mais Gaël, c'est pas maintenant?
Si. Ben oui, mais alors
c'est. Mais attends,
mais
comment ça se fait? Est-ce que tu te serais pas trompé? Tu aurais pas dit.
C'est ma faute, je suis désolée. Parce qu'on interview Kara Scott ce soir, et donc quand je lui ai dit l'interview, je lui ai dit 21h40. Je me suis trompée, alors finalement c'est 22h40. Donc elle s'est organisée pour 21h40.
C'est pas la première émission que tu niques.
Tu vas bientôt partir, tu flingues des émissions.
Je suis désolée.
Non, mais c'est pas la première.
C'est ma faute, je suis désolée.
Mais tu sais quoi, mais de toute façon, ça nous fait un petit break, on a plein de questions à leur poser encore. Donc
voilà.
Allez. Allez.
Donc tout de suite, on va voir Kara Scott.
Allez, alors Polito qui a gagné de
l'hésitation à
l'autre. Mais c'est son septième.
Hi.
Hi, Kara. Hello.
Hi. I can't hear you.
No.
Ah non.
Non.
Je m'en supplie.
No, you don't. Est-ce que.
It's I can't hear you. I'm not sure if you can hear me. But
yeah,
yes,
we can.
Yes, we can hear you.
Laurent, le câble
okay,
que
you
t'avais
can
pas
hear me,
branché.
That's good.
Ça recommence.
Oh,
Laurent,
non.
Mm-hmm. Can you hear us?
No. Non, je suis en panique.
Hi everyone.
It's working.
Hi.
No, you can hear us.
Je vais recommencer les. Do you hear us?
Non, mais attends, mais c'est incroyable, Laurent. Que se passe-t-il?
Elle nous voit pas.
Laurent,
elle nous voit pas.
Non, elle nous voit, mais elle nous entend pas.
Do you see us?
Elle nous voit tout petit en bas.
Langage des signes.
Ça avait fait ça il y a deux semaines déjà.
Non.
A bird, a spider.
I wish I could tell what you were saying. I'm sure it's great. And this is really annoying.
Je vois qu'elle est pro parce qu'elle essaye de pédaler quand même.
I was just on Skype earlier and it was working out just fine.
Bah, je sais pas quoi dire.
Lolo, la technique.
Là, c'est une catastrophe. Hein. Moi,
tu peux pas la faire.
Gaël va pleurer. Hein. C'est...
Non, mais là, deux fois de suite, je peux pas.
On va la perdre.
Mais ça vient pas de chez nous.
On va perdre.
Tout à l'heure, ça a marché.
Il y a deux semaines, ça venait de chez nous. Non,
mais en fait, tout à l'heure, ça a marché avec Tamerlan.
Ça a marché avec Harper, avec Tamerlan, tout à l'heure, on a fait
en
la
fait,
même.
En fait, je pense que c'est une histoire de Skype. Si t'as pas les mêmes versions entre Skype, c'est des fois.
Is it working?
Can you hear us?
I can hear you.
Oh! Yeah!
Whatever you did, it worked. So
oh, nice. Okay. Cool. Oh my god, I feel so much better.
Thank you, Clément.
Merde, j'aurais dû dire, je pense qu'il faut compter jusqu'à 3.
I was so stressed. Okay, so thank you for being here with us tonight. I'm really happy.
I want to cry.
Yeah. You have quite... So, let's start, okay?
Do you hear us?
Arrête, commence pas.
C'est bon? Tu nous entends?
Arrête, il va nous stresser.
Okay. You have quite a very original professional path. You were first a school teacher, then a martial artist. I don't think many people know about that. Yeah. In Muay Thai. I don't know how to pronounce it. But and then a poker like TV host. So how did you get from kids to sports fight to poker personality?
Well, I actually started in fighting when I was in university. I started training as a fighter. And then being a teacher is pretty stressful, especially in, you know, central London. It was really stressful. And I took up fighting again just kind of to take some of that stress out, you know, mm-hmm. the kids are kind of driving you crazy. And when I quit teaching, I actually was just training so much. And my trainer at the time told me there was a TV show that was looking for a host. Mm-hmm. And they wanted someone who, you know, could speak. And since I'd been a teacher, I thought I could give it a try.
A martial TV show?
It was, yeah. Oh, okay. And it was called Night of Combat. And it was on...
Wow. On dirait un film avec Jean-Claude Van Damme.
It was terrible, but it was, we went around to really big fights all over England, and we brought in fighters from Thailand and from all over, you know, Europe as well. And I ended up producing the show as well, which was pretty fun, actually. And then from there, that kind of got me into poker.
Mm-hmm. Oui, parce qu'elle avait commencé comme effectivement prof et c'était super stressant parce que les enfants la rendaient complètement tarée. Et donc pour se détendre, Si, si, c'est ce qu'elle a dit. Et donc pour se détendre, elle faisait du sport de combat.
Sur les enfants.
Et... non.
Avec. Non,
et
avec
au bout d'un moment, donc il y a son prof qui lui a dit, ah bah tiens, il y a cette émission qui recherche une présentatrice pour les sports de combat. Elle a commencé comme ça. Elle a dit, bon, le show était absolument ridicule.
C'est comment
mais...
Nine Combat.
Quelque chose comme ça. Et donc, finalement, c'est comme ça que, de fil en aiguille, elle s'est retrouvée à présenter des émissions de poker. Mais enfin, à la base, elle était vraiment dans le sport de combat, quoi. Donc,
mais c'est incroyable. Mais ça, c'est... En fait, quand tu le sais pas,
ouais,
t'as l'impression que ça fait mytho. Yeah, j'étais un site, après, really j'ai fait du Muay Thai.
Et maintenant, je suis poker.
And you won the 2016 GPI Poker Presenter of the Year. So, what did you felt about it, and what did it mean for you?
That was really meaningful to me. I felt like I'd had a really good year. I think that was the first year that we did the Super High Roller Bowl, and I'd taken on some new, you know, TV work, and I felt really good about it. And I think that was the year before. It, because it was for the year previously. So it was the year before I signed with 888. And I'd been kind of doing it on my own. And I was really proud that I was able to kind of pull some really good gigs and have a great year. And I mean, everybody else was really great in the category. So it's kind of weird to beat people that you like and that you know. But it also feels really good to be on top. So, yeah.
Puisqu'elle a gagné l'award de la présentatrice poker de l'année en 2016. Et donc c'était la première année où il faisait, tu sais, le 300K Super High Roller Bowl. C'était la première année où vraiment elle venait de signer avec 888 comme joueuse. Et elle était très contente de présenter ce show. C'était un peu vraiment quelque chose de nouveau pour elle, où elle était vraiment genre indépendante. Donc elle était contente de recevoir ce prix alors que elle commençait pour elle une nouvelle carrière en fait, en quelque sorte. And you interviewed a lot of people through the years. So what was the most awkward interview you ever made or the most difficult one?
Wow. There are some players who are just so hard to interview. And if you catch them at the wrong moment, and I always catch them at the worst moment because it's right when they've busted out of something really important or when they've lost a lot of money. Those interviews generally are really tough. A lot of people will run away. Like, there's one pro, I think it was Eric Lindgren, and it wasn't that awkward because I actually asked him to do an interview after he busted out of the main event of the World Series, and he said he promised me he would. He was like, I just need a minute. I'll be right back. He never came back, and I'm pretty sure that was it. Pretty sure. And so, yeah, those ones are kind of the worst. When you're all set up and you're waiting, and you're waiting. And you're and then it's like, just tell me, man, just tell me you're not coming back. I believe you, I understand, but yeah, those are the worst.
Okay. Oui, parce qu'elle a dit, bon, c'est vrai qu'au final, bah, les joueurs, je les interview au final toujours au pire moment, parce qu'à chaque fois que je les interview, c'est quand ils viennent de bust d'un tournoi.
Tu connais quelque chose, toi, Gaëlle.
Ouais, donc c'est jamais le bon moment au final. Et donc elle a dit, je crois qu'un des pires moments, enfin, où ça est arrivé plein de fois, mais elle se rappelle de Eric Lindgren, qui lui avait dit, ok, il venait de bust du main event, et il a dit, ok, j'ai juste besoin d'une minute pour réfléchir et tout, j'arrive. Donc elle a préparé tout le plateau et tout machin. Et elle a attendu, et le mec est jamais revenu. Et elle a dit, bon,
on l'a plus jamais revu.
Et elle a dit, au final, c'est arrivé plein de fois, et juste, dites-moi, quoi. Enfin, si vous voulez pas, dites-moi, au lieu que je prépare le truc, et genre, j'arrive dans une minute et je reviens jamais. En fait, elle dit, au final, c'est pire, quoi. Donc voilà. Like after many years of being a poker presenter, you switched to become a pro player, and you had first a sponsorship with Sporty Poker, and now you're with 888. So what drove you to do that change?
Actually, I've never been a pro. I know it says that in a lot of the articles, but I never really wanted to be a pro player. I love my job in broadcasting, and I'm very lucky that I get to do both, that a poker company like 888 wants to sponsor me and let me go to events and play events. And that's amazing because I love playing poker. But I've always been a recreational player, and I think that's actually... I have a great love and affinity for recreational players because there's so many of us. And even when we play pretty seriously, I mean, I played the circuit for a while, but I never did it for my living. So I don't feel like I ever had the experience of being a real pro because it wasn't, you know, I wasn't paying my rent with that money. I didn't have to worry about, you know, cashing, and I didn't have to worry so much about the same kind of bankroll management. And I don't know, I spend a lot of time with great pros, and calling myself a pro when I know what the life is like, it's just never felt right. So yeah, I'm aspirational.
Okay. Non, parce qu'elle a dit, je sais que tout le monde dit que genre ça y est, maintenant je suis devenue une pro, etc. Parce que j'ai des sponsors et tout. Elle dit, mais moi je me suis jamais considérée comme une pro, parce qu'elle dit, je connais la vraie vie des joueurs pro, qu'ils ont à faire le bankroll management, et elle dit, moi c'est un problème que j'ai jamais eu à voir, parce que j'ai toujours été sponsorisée pour faire des tournois, donc au final de ce fait là je me suis jamais considérée comme une pro, et pour moi ça a toujours été du poker récréatif. Donc elle dit, je connais la vraie vie, quel point c'est dur d'être un joueur de poker pro quand t'as vraiment à gérer ta bankroll, etc. Comme c'est un problème qu'elle a jamais eu, du coup elle se considère pas comme pro et c'est juste pour le fun. But you still have a very nice hand on mob. You have like more than 600k on winning on live tournaments. So that's really not bad.
It's not bad for a recreational player, yeah. Right?
Yeah.
Yeah. I had some really lucky results and I did play semi-seriously for a while, but yeah. I was pretty lucky.
Yeah, ouais, parce qu'elle a quand même 650k de gains en tournoi live, donc pour un tournoi récréatif.
C'est une belle chat quand même.
Joueuse récréative, c'est pas mal quand même.
Et moi j'ai une petite question, juste, je voudrais savoir où elle vit.
Ah, so Aurélie Réa was his West tonight. She just wants to know where do you live actually. So yeah, where are you living most of the time in fact?
A lot of the time I'm in Slovenia, some of the time I'm in Italy, and a lot of the time I'm traveling. I just got back from Canada, where I was visiting my parents mm-hmm. for a while. I was in London for a few weeks as well, over the mm-hmm. London Festival. I used to live in England for a long, like 10 years almost.
Okay, Slovenia most of the time?
Yeah, okay. Slovenia. That's where the house is. We don't spend as much time there as we kind of want to, but that's where our house is, yeah.
Ah ouais, donc ils vivent en Slovénie la plupart du temps, ou en Italie, ou au Canada.
Rigoles, mais Slovénie, c'est
mais
bien,
je pensais pas, en fait.
Moi, une ville de
Slovénie, m'attendais, je m'attendais vraiment à ça, en fait.
Slovénie,
Do you ever felt, okay, even if you say you're a recreational player, do you ever felt you had more to prove as a player because people knew you always as a TV presenter before?
I think I was glad that I have results on Hand and Mob so that people can kind of look me up and see that I've been playing not just the amount of money, but the length of time. It's kind of nice that even in years where, like this year, I maybe played 5 live events and that's it, and that's the least I've ever played in my entire poker career in almost 15 years. I've always played more than that, and I still manage to cash, which it makes me happy. Mm-hmm. So I think you can look at that and say that I've played a really long time, and therefore I understand not just how to play, but the industry and the players and, you know, all the rest of it that goes into it that I think makes a good broadcaster as well.
Mm-hmm. Oui, qu'elle n'a jamais ressenti que finalement elle avait plus à prouver, puisque les gens la connaissaient comme une présentatrice, donc ils se disaient genre la fiche de la table, etc. Mais que c'est jamais quelque chose que, finalement, qu'elle a ressenti, puisque c'est vrai, comme elle a eu la chance de toujours cash en fait, finalement, ouais, la plupart des tournois qu'elle jouait. Donc elle dit qu'elle a été vraiment très très chanceuse en tournoi, parce qu'elle a cash la plupart des tournois qu'elle jouait. Et du coup, c'est vrai, quand les gens checkaient son hand-on mob, ils se disaient ah ouais, quand même.
Genre, elle n'est pas que présentatrice.
Ouais. Donc, du coup, elle a toujours été considérée quand même sur les tournois sur lesquels elle jouait. Donc, c'est pas un problème qu'elle a ressenti. And what are the qualities you think you can find the most in poker players, and on the other side, the weaknesses?
I think one of the really great things about poker players is a sense of healthy competition. Which I think is good, you know, wanting to not just beat other people, but to make yourself better. And when you see poker players who are really good at what they do, they're always trying to improve themselves. And so they might do that also by taking up yoga, or they might try to eat better. You know, I think we can become slightly almost obsessive about some of these things as poker players, but you can see that people want to like find the best way to live their life. The best way to spend their free time, the best, you know, and I think that's a really great thing poker players have. I'd say one of the downsides is that maybe sometimes we don't relax as well. Like we go really hard and then relaxed kind of all at once with a massive blowout instead of finding the balance all the way, which is hard.
Okay. Ce qu'elle dit, au final, une des qualités qu'elle préfère dans le monde, enfin chez les joueurs de poker, c'est le sens de la compétition et de toujours vouloir s'améliorer, pas forcément battre les autres, mais donner le meilleur de soi-même. Donc,
une
pas forcément.
Une compétition saine.
Oui, de, pas forcément en se comparant aux autres, mais en juste voulant donner le meilleur de soi-même. Donc, en cherchant des alternatives, par exemple, manger plus sainement, faire du yoga, travailler son jeu, etc. Donc, ça, c'est un des bons aspects qu'elle aime, c'est que c'est vraiment chercher à être une meilleure personne, voilà, sans se comparer aux autres. Et ensuite, dans les côtés négatifs, c'est qu'il y a peu de moments finalement de relâchement et que malheureusement, les moments où il y a du relâchement, c'est genre le grand n'importe quoi, avec genre une soirée où on se lâche totalement, on fait n'importe quoi, et une difficulté à trouver vraiment le juste milieu entre savoir passer du moment de repos sans forcément sortir en boîte et faire n'importe quoi en fait. Donc voilà. And when the what was the funniest part of being a poker presenter and on being on the other side of the industry, is there something you regret as a poker player?
Oh man, I regret most things as a poker player. Wow. Because I don't play as much as I used to, I have gotten so rusty. And over the years, it's just kind of gotten worse and worse. And so there's always that sense of like, I used to know what to do in this spot, or I do know what to do, and I'm just not doing it. And that's always so annoying to me. And I regret that. Yeah, I should be spending a little more time actually playing poker. But everything else has just kind of gotten in the way. And in terms of the funniest kind of moments, I don't know. I'm always so focused when I'm at work. It's really boring to even say that, but I'm so focused that I just kind of, everything else kind of blanks out a little bit. And I work with really great people, so I'm lucky. Like the whole World Series crew, they're all amazing. The same crew with Super High Roller Bowl when I'm traveling with 888 as well. So, yeah, they're great moments, but thankfully nothing like massive. I haven't fallen down and like showed my underwear to everyone, so that's good. So that hasn't happened yet.
Maybe one day. Non, parce qu'elle dit au final.
Traduis la dernière partie.
Non, je vais traduire. Parce qu'elle dit au final, c'est pas si amusant que ça de présenter les émissions de poker et tout. Parce qu'on est tout le temps super concentré, on cherche la prochaine personne à interviewer et tout, on prépare les plateaux, tout ça. Donc au final, c'est pas genre on s'éclate et comme les gens peuvent le penser. Et donc on est toujours au final, genre au taquet et tout, à chercher les prochains trucs. Elle dit après, en tant que joueuse, c'est vrai que comme elle joue peu de tournois live, elle sait ce qu'il faut faire des fois dans certains spots, mais comme elle est devenue paresseuse, elle le fait plus. Donc elle dit, il faudrait que je joue plus souvent pour reprendre les bonnes habitudes. Mais elle dit, au niveau de quand on présente les émissions, au final, c'est vraiment pas un moment de plaisir et on n'est pas en train de s'amuser, en fait. Et elle dit, bon, heureusement, je suis jamais arrivée au point de m'amuser, où genre, je monte mes sous-vêtements et j'enlève ma robe et genre, c'est super fun. Elle dit, bon, ça m'est jamais arrivé.
Ah, peut-être.
C'est ça qu'elle dit.
Inch'Allah, comme on dit chez nous.
Donc, you presented like so many TV shows through the years, like almost 10 years, like EPTs, WPTs, WSOPs, like everything. So, which show did you like the most?
I've got to say the World Series. Mm-hmm. Yeah, the main event shows are just amazing. I love doing the final table. This year was my favorite year by far. Because I get to sit at that really cool desk, and I love that. That makes me really happy. So I'm kind of like in charge at the desk, and I get really amazing pros to talk about the poker. And it just, I don't know, there's something about working with a crew, and we've worked together for such a long time, that everything kind of, even when it doesn't go smoothly, like sometimes this year, this summer, one of the generators blew. And so our monitors went out and we couldn't see anything. We were on live TV. We were on ESPN and we couldn't tell what the public could see. You know, we couldn't see the hands we were commentating through, and we totally made it work. And I don't think anybody figured it out. So the World Series by far is just the best show to work on.
Ouais, de tous les tournois, puisque ça fait 10 ans qu'elle présente à peu près toutes les émissions de poker qui existent dans le monde. Et donc, c'est vraiment les WSOP qu'elle préfère de loin et surtout le main event, parce qu'elle dit, bah, au final, c'est le meilleur tournoi de l'année, c'est le plus excitant. Et quand ils arrivent à la TF ou avant la TF, ben, c'est vrai que, enfin, c'est un moment un petit peu magique. Et elle dit là, par exemple, cette année, elle dit heureusement, on a la chance de toujours travailler avec un super staff et tout. Et que cette année, tous les générateurs genre sont tombés en panne et ils avaient plus aucune visibilité sur ce qui était diffusé à la télé. Et donc, ils interviewaient des gens un petit peu dans le vent sans savoir les mains qui avaient été diffusées, etc. Donc, elle dit au final, c'était un peu le grand n'importe quoi. Mais c'était quand même génial et on s'en est tous bien sortis et c'était fun. And yeah, I don't know. You never interviewed him. Like, we are now with... Yeah?
One time.
With Alex Andréard. He finished 16th of the main event this year as a French poker player. So I don't know if you ever interviewed him or not. No? I don't think so. No, said no. So maybe one day.
Yes.
Next year.
Next year.
Next year.
Okay. And yeah, last question. It's really like nothing to do with my last question, in fact. But there is a real debate now all around the world about the sexual harassment toward women everywhere. And you made a few statements on social media about it. And one of them, I really remember one of them when you made the hashtag #MeToo, and you said if you think it's shocking, it's because you're not paying attention. So did you have to deal with that a lot in the poker community, and how you always did, like always handled it?
I mean, I've dealt with it in television kind of generally as well. And there are loads of stories. And yeah, definitely. I mean, even in the poker community, we're made up of people. And this is a problem that's actually systemic. This is not isolated incidences. This is kind of the way we treat each other as people, as, you know, as men and women, I think. So, yeah, it happens in the poker community too. And I think we've seen some of that. And it's something that really needs to have the light shone on it. I think the more people are actually trying to figure it out, the more people are trying to talk about it and are listening to people who are talking about it, the better it's going to get. It's a really ugly topic. And it seems like every single day, another story, someone else, you know, famous or someone with a really big job, there's like, it's constant. And it feels a little bit exhausting to hear it constantly. But I think we need to. I think people need to understand. Because, yeah, if they're shocked by it, you're really not paying attention. Because it's positions of people in positions of power, and that's everywhere.
Mm-hmm. Oui, parce que j'ai posé la question qu'il y a gros débat en ce moment partout dans le monde sur la façon dont on traite les femmes, etc. Et qu'elle avait fait plusieurs statuts là-dessus sur les réseaux sociaux, dont un où elle avait écrit avec le hashtag « moi aussi ». Et elle avait écrit « si ça vous choque, c'est que vous n'avez jamais fait attention en fait au problème ».
C'était pas MeToo le hashtag
plutôt. Oui, c'est ça. Moi aussi, je traduis. Et donc, et elle a dit... Et donc, elle disait « oui, effectivement, ça m'est arrivé tout le temps, mais pas que au poker, dans le milieu de la télé en général, et enfin, à tout moment dans la vie en général. » Et elle dit « c'est vrai que c'est bien qu'on en parle aujourd'hui. » Et elle dit « mais ça m'est arrivé de façon très régulière dans le milieu du poker, mais c'est vrai que personne n'a jamais vraiment prêté attention, mais c'était juste quelque chose de régulier récurrent et ça arrive à tout le monde et malheureusement bah c'est quelque chose de normal et puis de qui est rentré dans les habitudes et donc c'est bien d'en parler aujourd'hui.
Elle dit que c'était récurrent dans les milieux où il y avait du pouvoir en fait.
Oui, c'est ça. Donc
ils savent pas qu'elle fait du Muay Thai aussi.
Yeah, because people never knew you were a martial artist.
Yeah, maybe.
And what about your schedule for the next month? Where are we going to see you? Where are you going to travel?
Well, you know what? I missed the World Series of Poker Europe because I was sick in bed. And that was, like, really upsetting because I was actually going to play the main event. And I was really looking forward to ending the year on, like, a really good note that way. And then, yeah, I didn't get to go. And so now I actually don't think I'm doing anything before the end of the year. I think... probably the next thing I'll be doing, I'll be back on the 8-8 live events. That's what we call them. I'll be, you know, back on that trail again next year, early next year. I'm not sure if they've announced the date, so I don't want to say.
What's going to be the next event? You don't know yet? 8-8-8 event. Yeah.
Yeah, it will be, but I'm not sure that they've announced dates and places yet, so I don't really want to say, just in case.
Okay.
I'm saying something I shouldn't say. But yeah, it's not going to be this year. The rest of this year, I think, is probably going to be spent doing videos at home and, you know, catching up on things with my family. So seen them very much. So
yeah, nice program too. Oui, elle a raté les WS Europe parce que finalement elle n'a pas pu s'y rendre parce qu'elle était malade et donc c'était son dernier gros rendez-vous de l'année. Donc là, d'ici la fin de l'année, elle n'aura pas d'autres grands rendez-vous. Elle va faire des vidéos, etc. Donc elle ira sur les prochains tournois 8-8-8. Mais elle ne connaît pas encore exactement les dates et tout. Donc elle ne préfère pas les annoncer parce qu'elle n'est pas sûre. Donc voilà, en gros, pour l'instant, c'est juste genre chill à la maison. Et voilà. Et là, elle est en Italie en ce moment. You're in Italy right now, right?
Yeah, I'm just kind of spending a little bit of time with my my in-laws. Yeah.
Elle est avec sa belle famille parce que son mari est un joueur pro italien.
C'est qui? Il est connu?
What? Who's your? What's your husband name? Forgot.
Giovanni.
Giovanni.
C'est le mec qui est pas italien.
Ok. Giovanni Rizzo.
Ah. Ok.
Yeah. Rizzo.
Oui. Okay. Donc voilà. Okay, so thank you for everything. It was really nice to have you, and I hope to see you soon, or maybe see you for sure.
Come see
next
us in
year
Paris.
At the
I love Paris.
Next year at the WSOP in Vegas for sure, and I don't know if you celebrate it, but
happy Thanksgiving.
Happy Thanksgiving. Yeah, some Canadian do it. I met some Canadian who do it. So I don't know. I never know.
It's true. It's in October. Canadian Thanksgiving was last.
Ah, oui, c'est pas la même date.
Ah bon?
Les Canadiens et les Américains, c'est pas le même Thanksgiving. C'est assez bizarre.
Il y a Thanksgiving canadien.
Ouais.
Donc, 24 décembre.
But thank you, Gail. You had to do like double the amount of work, so I appreciate it for all the time.
Thank you. But,
thank you very much.
Thank you for your time, and have a good evening.
Evening.
And have fun for the rest of the year. Happy Christmas. Goodbye.
Bye. Thank you. Il n'y a personne pour accrocher. Laurent, il est parti. Il est parti. Bah, c'est moi à raccrocher. Merci beaucoup, Gaël.
Donc, voilà. Finalement, quand ils ont commencé à me dire ça marche pas, on n'a pas le temps, on va les péter un peu.
Non, mais bon. Bon, alors la semaine prochaine, c'est ta dernière?
Oui.
Ce sera qui?
Alors là,
Tatiana Pazalic.
On ne sait pas. Peut-être si Tatiana est dispo.
Mais pourquoi ce serait pas dispo?
Samantha Bernatti.
Ça va être compliqué, Samantha Bernatti.
Tu feras à distance,
Mais on l'aura un jour, mais là pour l'instant, la semaine prochaine, je ne sais pas.
L'aurai un jour.
Sinon, il y avait David Peters aussi.
Non, rien à foutre de mais Tatiana Pazalic.
Ils veulent des filles.
Mais on a failli d'abord, elle nous entendait pas.
C'est plus vendeur.
Elle nous a mis en confiance, elle a enchaîné les filles, les joueuses.
C'est vrai, j'ai fait des filles depuis un mois, quoi. J'ai fait
Jennifer
Chahat.
Ah oui, c'est vrai.
J'ai fait Tatiana Pazalic, ça marchait pas.
Jennifer Chahat, qui a fait du hula hoop en direct.
J'ai fait plein de
filles.
Maria O.
Jinglu,
Chuan Yu, j'ai fait plein de joueuses là. Donc voilà, mais David Peters, c'est
Tatiana
pas mal.
Pazalic.
Enfin, on devait faire une partie technique justement. Avec... Enfin, je sais pas.
Ouais, ben on fera Tatiana
Pazalic.
D'abord,
le numéro 3 mondial, ils en ont un à foutre.
On fait Tatiana Pazalic, et après on fait le numéro 3 mondial. Le numéro 2.
C'est pas vendeur, c'est pas vite.
C'est sûr que c'est une émission de poker là, je suis pas sûr.
Mais
on va parler poker avec elle.
J'aurais dit, attends, je vous apporte un mec. Enfin, il a gagné trop de tournois.
Non, mais t'as raison, il faut.
On nous avait dit. Elle nous a dit, c'est Tatiana Pazalic ou Jason Kuhn.
Mais okay. Jason Kuhn, il répond plus là depuis.
Ah ouais, mais après, c'est à toi de. Pourquoi aussi tu le snob ou c'est ton taf boulot. Voilà.
Jason Kuhn, il m'avait dit ok, pas de problème, tu me réécris. Je l'ai réécrit, ça fait 2 semaines qu'il me répond plus, donc il est relou. Je vais lui dire va te faire foutre.
Mais dis-lui en anglais, sinon on comprendra pas.
Il y a pas de problème. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu.
Elle est très très belle en plus de ça.
Ouais, elle est belle.
Bah, oui, bon, ça va, c'est pas. Nous, c'est ce qui est intéressant. Nous, c'est intéressant à dire.
Nous, c'est le contenu.
C'est le contenu, ouais.
Après, Aurélie, c'est limite. C'est limite.
Elle est ravissante.
Hashtag balance ton port, on n'est pas loin.
Non, elle est très très bien, Cara. Ouais, j'aime beaucoup. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé Cara.
Elle a l'air très fun. C'est une Canadienne, quoi. Ça se sent. Elle est cool, elle est bonne vivante.
C'est ça, elle est cool, elle est chill.
On a d'autres choses, on a d'autres banalités à rajouter ou c'est bon? Allez, j'aime beaucoup son maquillage. J'aime beaucoup sa couleur, sa coupe de cheveux.
Je suis moins fan des poutres apparentes, moi, par contre.
Mais c'est vrai que c'est.
Je suis pas très fan de ça.
Je sais pas ce que ça veut dire, en fait. Mais merci beaucoup, en tout cas, Gaël. On se voit la semaine prochaine pour la dernière.
La semaine prochaine. Oui.
Ne t'attends pas à une surprise, il n'y en aura pas. Voilà.
Je ne m'attends rien venant de toi, il n'y a pas de problème.
Ou de nous. On n'a plus les budgets. On n'a plus les budgets.
Non, cœur.
À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Gaël.
Bisous.
Ciao,
alors, comme c'était un petit peu inhabituel d'avoir l'interview, je vous propose juste qu'on se fasse une petite pause, là, parce qu'il fait chaud et tout, et on reprend. et on reprend et tout. Pourquoi tu nous montres un verre? C'est un bel objet.
Elle nous montre que c'est l'heure de faire la pause. Voilà. C'est
alors on reprend et on reprend là où on s'est quitté, parce qu'on s'est quitté quand même juste avant. On sait pas encore quelle place tu finis, quoi.
C'est le suspense.
On ne sait pas trop. On sait que tu as gagné pas mal de pognon.
On est des trois.
On est des trois, mais pour l'instant, ça se passe pas très bien.
C'est compliqué.
Il y a un setup par jour.
Voilà.
J'espère que ça va bien se passer. Voilà,
on
n'a pas passé la nuit.
Et Chouchou nous calme pour l'instant.
Voilà.
Allez, on revient après la
nuit. Allez, à toutes.
Augmentation des blindes. Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne.
Vous reconnaissez ça ou pas?
All in.
C'est qui?
C'est un chinois. c'est Pierre.
Non.
Non, pas loin.
Attends,
Double up. Faut que ça tienne.
Ça gagne.
Pas de cœur.
Payé. Nous revoici toujours en compagnie d'Alexandre Réard et Aurélie Réard, la famille Réard. Alors on a eu notre petite interlude de Carascott.
Très sympa.
On a appris qu'elle était institutrice et prof de Muay Thai. Donc la meuf, au niveau du mytho, elle est super forte. Donc voilà.
Mais j'irai pas lui dire si elle a fait du Muay Thai.
Mais par contre, je lui dis par Skype. Ouais, j'ai pas peur. Je lui dis.
Quel homme.
Bon, on va reprendre là où on était tout à l'heure, avant qu'on soit lâchement interrompu par Gaël Jeudon. On en était. Est-ce qu'on avait passé la bulle?
Non.
Non, parce qu'on a eu plusieurs setups où on a doublé. Mais parce que la bulle au main event, c'est quand même un truc très particulier.
Ouais.
Non, mais comment tu l'as.
Attends, mais t'as bu que du coca pourtant, pourquoi tu me regardes comme ça?
Parce que toi, quand t'arrives à la bulle, Aurélie, donc toi, déjà, est-ce que t'es déjà. À partir du moment où t'as sauté,
moi j'ai fait D3 et j'ai bust avant l'épée.
Et est-ce que à partir de ce moment-là, t'es tout le temps derrière Alex ou pas?
Non, ils sont arrivés pour la bulle, tu te souviens?
Non, tu t'en fous.
Sur la bulle, ils avaient fait un jeu justement un peu alcoolisé, etc. entre potes.
Ah, je suis arrivé bourré, c'est là. Ça... Oh, mais et oui, ça... je suis arrivé complètement bourré au moment de la bulle dans le Rio.
Avec les mecs de la villa, ils étaient genre 4-5
à peu près.
Ah oui.
Non, parce que non, j'étais en
l'autre villa.
C'était avec, j'étais avec Anto Pico, Rémi, etc.
Ah oui, pardon.
Et du coup, Rémi on était à la même table à la bulle. Donc sur Rémi Castagnon, on était tous les deux à la même table à la bulle du main event, dans la même villa. Donc c'était assez drôle quand même sur ce tournoi-là. Et donc ils sont arrivés en mode pompilop.
Voilà. Et j'ai fait un Facebook Live en direct pour avoir la bulle en direct, quoi. Et ouais, j'étais complètement torché, c'était drôle, c'était très très drôle. Ouais.
C'était drôle parce qu'il a passé la bulle, parce que ça aurait été moins drôle le Facebook Live.
Oh, t'étais à bust.
Oh, t'étais bust.
Mais t'as le droit de filmer
non,
en Facebook
Live? Non, pas du tout. Je me suis fait poursuivre moi pendant 7 jours. Hein. j'ai fait que des Facebook Live.
C'est vrai que t'en as fait pas mal, ouais.
Tous les jours. Et tous les jours, il y avait 2-3 vigiles qui me regardaient, qui me suivaient, qui me demandaient d'éteindre. Je disais ok, je leur mettais dans mon sac, je refaisais le tour. Et après, je faisais.
Au moins, il y a plus de problème parce que vous avez plus de téléphone maintenant. Ah si, vous avez récupéré un téléphone.
Ouais, ça, ouais, bon, j'en ai cassé deux, mais je les ai récupérés.
En plus, c'est toi qui casse les deux, ça, c'est ça qui est bien.
Ah, c'est toujours moi qui casse tout, de toute façon.
Donc là, tu passes la bulle tranquille, du coup. T'avais combien de blindes à la bulle après?
Je sais plus, mais j'étais large, enfin, j'ai pas eu de...
T'avais pas de stress, tu savais que tu l'as passé.
Ouais, par contre, tu sens un peu le fameux... T'avais déjà fait la bulle l'année d'avant, t'avais passé la bulle, mais ce fameux truc, tout le monde joue hyper tight à la bulle, non? Enfin, tout le monde les scarte, quoi.
Ouais. Bah, nous, on avait des gros stacks, donc j'avais peut-être 2 ou 3 tapis un peu short. Et puis tous les autres, on avait quand même des gros stacks. Donc au final, ça a joué. On était 3 ou 4 à jouer pas mal, dont un qui a failli faire la bulle, justement, qui a fini la journée short et que j'ai revu, je crois, au D5 ou au D6, donc qui était quand même finalement qui est revenu après dans le jeu. Mais la bulle, j'ai pas eu de pression, j'ai pas eu de kiff non plus absolu, parce que quand au final tu passes une bulle que t'es entre guillemets sûr de faire, parce que t'es jamais sûr, mais où t'es assez à l'aise, etc., c'est la continuité du tournoi, quoi. Donc au final,
t'es super short,
quand t'es
là,
super
vraiment,
short,
c'est une victoire,
content, c'est bon, t'as réussi, etc. Si c'est un de tes premiers main event ou ton premier tournoi le plus gros buy-in, et que c'est vraiment le tournoi le plus important de ta vie, bah là c'est pareil, tu vas kiffer même si t'as plein de stacks et tout. Donc là j'étais très content, bien évidemment, mais voilà, le tournoi il s'arrête pas là, quoi. Donc
tu changes d'objectif à partir de ce moment-là, il y a un autre point de mire, quoi.
Il y a un autre point de mire, ouais. Enfin, on va dire c'est une première étape dans le tournoi. Être ITM, c'est fait, c'est cool.
Il reste combien de joueurs pour l'ITM? C'est 1500 ou c'est beaucoup plus?
Non, c'est moins que ça.
Ouais, c'est 10% après, il reste
900.
En fait, si je dis pas de bêtises, ils ont garanti 1000 comme l'année d'avant. 1000 joueurs ITM, il me semble, si je dis pas de bêtises. ça doit être ça. Et donc voilà, donc on est très content. On rentre avec Rémi qui lui aussi a fait ITM.
Il va loin, ensemble. Rémi, non?
Il fait D4, je crois. Il me semble qu'il reste D4. Mais c'est. Non, bah, ouais, et après, donc, bah, le lendemain, ouais, il était. Lui, il avait déjà un plus gros stack que moi. Il a toujours eu un plus gros stack que moi, presque. Et puis voilà. Donc après, on revient le lendemain ensemble. Donc ça aussi, c'est pas mal.
Tu commences un peu à rêver quand même, ou pas?
Je t'avoue que je suis pas un grand rêveur, moi.
Donc, t'es loin, là, déjà.
Dis que t'as déjà tout.
Non, pas du tout. J'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que j'estime pas, si je gagne ce tournoi-là, ouais, j'aurais peut-être fait l'aboutissement.
Faut savoir que Alex, je l'ai déjà vu gagner, enfin, moi j'ai plein d'anecdotes, mais parce qu'on est très différents. Bon, déjà, je suis une fille, bon, c'est un mec, y a pas de mystère.
C'est une belle différence.
Mais au-delà de ça, c'est un mec qui exprime pas forcément ce qu'il ressent, quoi.
C'est un mec, quoi.
Non, parce qu'il y a des, moi j'ai des potes, enfin, voilà, non.
Il extériorise pas, même quand il gagne. Il va s'appeler Mike, il va se mettre à crier.
Il a gagné des gros tournois au-delà de l'argent, quoi. Hein, vraiment des trucs où il en a chié et qu'il méritait de gagner, etc. Où voilà, il va sourire, il va me dire, ouais, je vais lui dire, ouais, bébé, putain, c'est trop de la barre.
T'exprimes beaucoup plus que lui, quoi.
Et lui, il va me regarder, il va me dire, ouais, c'est cool. Ok. Alors que bah, moi, si j'avais gagné à sa place, je serais en train de courir toute nue dans la rue en train de crier, quoi. Et si j'avais perdu, je serais au fond de ma vie, quoi. Et lui, quand il perd, c'est pareil.
C'est valable pour tout. Est-ce que par exemple pour le sport t'es alors, vachement plus émotif ou pas?
En fait moi j'ai joué au foot
on a remonté ton Facebook on a remonté très loin au début
alors, donc franchement à un bon niveau quoi quand j'étais jeune et c'était ma passion enfin vraiment je voulais en faire mon métier etc. Bon,
je vais pas faire... tu jouais à quel poste?
J'étais gardien de but. Je vais pas faire la même comme tous les gens disent j'aurais pu être professionnel tu vois le truc mais voilà c'était j'étais à fond dedans j'avais été un peu meilleur. mais en fait ce qui s'est passé c'est que en étant gardien justement tu vois tout le jeu et je déteste tout ce qui est injustice quoi. Et quand je voyais tout ce qui se passait, que je voyais les erreurs d'arbitrage, que je voyais toutes ces choses-là, vraiment je pétais les plombs. Et j'étais dans une autre personne clairement où ça m'est arrivé de me battre pas mal de fois.
Avec les arbitres?
Pas avec les arbitres, mais
les supporters.
En gros, toujours dans le mode voilà, on est en équipe, donc je suis toujours ok avec mes joueurs, mais avec l'équipe adverse, voilà, on se chauffait un petit peu.
Ah, ça fait partie
du jeu, mais c'était un peu trop et c'était pas moi en fait, parce que je suis pas comme ça réellement.
Quand
la
le
vie.
Mec il arrive, il te dit bonjour, il te serre la main au début du match, tu mets un coup de boule, ouais, ça passait pas.
Et même maintenant, si tu regardes un match, est-ce que tu peux péter un
non,
coup
non, 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 je suis vraiment, j'ai le foot, voilà, c'est bien, je suis en retrait. Je connais plus trop le milieu, tu vois. Je regarde les matchs, j'ai mon équipe favorite, mais c'est pas qui me donne à manger à la fin du mois, tu vois. J'ai relativisé de ouf et je suis pas dans ce.
Toi, ton équipe favorite?
Je suis pour l'OM, moi. Ouais, c'est pour ça aussi que j'ai.
C'est pour ça que j'ai pas posé la question.
C'est pour ça que peut-être que je suis un peu plus en écart, mais en retrait, pardon. Donc, le truc avec le poker, en fait, qu'il y a de bien, c'est que tu sais qu'il y a cette part de chance. Et tu peux en vouloir à personne en fait, parce que les gens il y en a qui vont mal jouer les coups et qui vont peut-être te pénaliser, mais au final ils ont mis l'argent au milieu comme toi, ils ont payé le même buy-in, ils ont le droit d'être là. C'est un sport où il y a voilà de la variance, on le sait. Toi le but c'est d'essayer de le mieux jouer, donc soit t'as bien joué, et ben tant mieux pour toi si t'as eu de la chance. Si toi t'as bien joué et t'as pas eu de chance, c'est très frustrant, mais tu peux pas en vouloir à l'autre. Et soit t'as mal joué, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même.
Ça met beaucoup de temps quand même à accepter ça. Ce moment où en fait tu dis bah en fait il avait 20% mais il a le droit de les réaliser ces 20%.
Bah c'est surtout, enfin, gros, c'est après c'est deux choses, t'as les 20% qu'il a le droit où c'est fait deux as de roi et entre guillemets bah t'aurais été dans l'inverse,
ça changeait rien,
t'aurais eu 20% aussi, et t'as l'autre 20% où il a fait vraiment n'importe quoi et là il a chaté. Et tant que le mec te dit pas, et encore même s'il te le dit, ça fait partie du truc, donc juste tu tais, c'est comme ça, mais il peut dire, il te dit pas ouais mais
désolé.
Il a mal joué parce que
désolé
mais ça encore ça me dérange pas trop, mais je vois le truc de ouais t'as mal joué, t'aurais dû protéger ta main
le
et tout
le tactique le coup.
Tu peux monter un peu, mais non, moi je me suis énervé une seule fois il y a pas très longtemps, enfin plusieurs fois, mais une fois vraiment, c'est parce qu'on m'avait slow roll et là je suis vraiment parti en couille.
Ça c'est chaud ça.
Mais ça m'est arrivé.
Ça existe encore les mecs qui slow roll quoi?
Ouais, je me suis fait slow roll par un gars, je suis parti en Belgique à Namur il y a un an et demi à peu près. Et je joue un coup, bon le mec a raise, il est commit, il tank, il me demande si j'ai fait tapis avec genre 2-8, tu vois. Et il me demande si je veux être payé, je lui dis écoute, tu fais ce que tu veux, t'as ta décision. Il me repose la question, ça dure je sais pas 2-3 minutes.
Ah oui, le vrai slow roll.
Et finir par dire bon allez payer, il a deux rois, tu vois. mais c'est genre enfin c'est ce rôle à 100% pot, et le mec que je vois c'est genre la racaille avec la casquette, la chaîne en or, qui voit que je suis français, j'étais venu avec une petite veste en plus et tout.
Dis-moi que tu fais l'huître quand même un peu.
Et, non, normalement je l'ai fait.
Ah voilà,
c'est bien joué. J'ai fait Brelan.
Oh,
donc je lui ai dit chez, je lui ai dit
tellement beau, c'est 100% on fait Brelan normalement quand on se
fait. Moi la seule fois où j'avais 2-8, donc pour la toute c'est rigolo, mais moi aussi j'ai fait l'huître la seule fois où on m'a vraiment ce rôle.
Et là vraiment je suis parti vraiment, ouais, j'étais chaud. Et Aurélie même à un moment elle m'a dit écoute, tu sais qu'on est loin de chez nous quand même, fais attention
c'est
et tout.
C'est quoi le Belgique, ils sont choqués les mecs.
Ouais, là je suis un peu sorti de mes
t'es monté mots, sur la table mais bouffe
mais presque.
À l'époque j'ai souvent c'est un rêve, tu te rappelles combien de fois ça a été repris.
Sinon, j'ai pas de. Justement, j'accepte assez bien les choses. Ouais.
Bon, et cette fin pour finir avec ce main event, à un moment, parce qu'il va falloir que tu bustes hein, un jour.
Ouais.
On est quoi ? Tu bustes des 6 ?
Des 7.
Des 7 ?
Des 7.
Alors, est-ce que tu commences un peu à rêver quand même, fin de D6, ouais, quand tu vas te coucher ?
Quand tu reviens,
vous êtes
voilà.
Combien des 7, vous commencez à combien ?
On était 25. 25.
Putain, 25, tu commences à te dire.
5, t'as 3 tables left, quoi.
Ouais, normalement, quand il reste 25 joueurs, tu le gagnes, normalement.
C'est ça, et en fait, ce qu'il y a, c'est que, comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours le setup qui fait que, mais j'ai jamais été dans les chip leaders, quoi. Donc, par exemple, quelqu'un comme Valentin, lui, ça
a été
énorme.
Il a été chip leader.
Il a été chip leader, il a vécu un rêve pendant tout le tournoi, et puis, arrivé à un moment, il y a plus rien qui s'est passé, et il bust 15, je bust 16. Moi, quand je reprends la journée, je dois être 22 sur 25.
Toi t'es en mode
Charstack, t'es en mode
palier pour
moi,
un champ.
En mode, j'ai
tout,
pas.
Tout
moi,
ce
je
que
fais
je
pas
prends, mieux,
voilà.
Quoi.
Moi, je veux pas faire d'erreur. J'ai de l'ICM à prendre en considération. Je joue mon jeu. Et puis, si ça doit aller, ça doit aller. Si je bust, je dois bust. Et c'est le jeu, quoi. Et donc, je bust 16ème. Donc, je suis content. J'ai gratté des paliers. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai aucun regret au niveau de mon jeu.
À ce moment-là, vous échangez parce que vous êtes 4 Français quand même encore en liste à 20 left. Vous échangez entre vous, ça discute un petit peu. Il y a eu des
petits swaps. Bien sûr, il y a eu des swaps, il y a eu plein, tout ce qui se fait. Parce que moi, je pense que dans les 4 qui restaient, on était quand même tous plus ou moins des bons joueurs quand même. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, on a swap. Moi, je me souviens m'être fait interviewer par une journaliste de ESPN qui me dit tu connais les autres Français. Je dis ouais, on se connaît. Ah ouais, vous connaissez tous et tout. Enfin, qui était complètement hallucinée. Bah ouais, la France c'est pas les États-Unis quoi. Enfin, on se connaît un peu plus tous et tout. Et puis ouais, donc ça c'est vraiment sympa d'avoir cet aspect de se suivre entre Français.
Tu les as suivis après leur bust.
Moi je suis resté. Alors quand j'ai bust directement, on est parti au resto. Je suis avec des il y avait Tapi, il y avait Anto, etc.
J'espère que tu l'as fait payer quand même.
Bien sûr, ça c'est une évidence. Et derrière, on est resté avec Aurélie, on a reprolongé notre billet en fait pour faire pour voir la table finale.
Mais Aurélie qui avait fait des pancartes, je sais, j'avais vu.
Ouais, t'as
fait un fond en vrai. Moi je suis toujours dans les rails.
Tu fais tout le temps des pancartes d'ailleurs, hein. Tu fais des belles pancartes.
J'adore faire des pancartes. En fait, moi j'étais gymnaste, tu sais. Ouais. J'ai été gymnaste longtemps dans ma jeunesse. Et du coup, on faisait beaucoup de pancartes de banderoles et tout, à chaque
fois,
pour les compètes, pour les championnats et tout. Et j'aime bien, donc je suis compétitrice, mais j'aime bien, voilà, aller pour
regarder ce hobby.
Et du coup, ouais, je...
C'est quoi, après, ça peut être une reconversion. Ça peut être une reconversion
alors,
professionnelle,
si vous
pancarteuse.
Avez besoin de faire des pancartes.
Pour une manif, pour tout autre événement.
Aurélie Pancarte, moi je trouve que ça fait un bon nom de AuréliePancarte.com.
Voilà.
Et à ce moment-là, donc quand vous êtes 20 left, parce que là il y a les Français à Vegas, mais il y a aussi tous les Français ici qui vous ont suivi, que ce soit sur Facebook, sur le club poker ou quoi. Tu commences déjà à ressentir un petit peu la ferveur qu'il y a ici, vous la ressentez
ça,
vous d'ici?
Ça c'est fou, par contre. Ouais. Ouais. Ça c'est vraiment une des choses qui m'a vraiment beaucoup marqué. C'est que voilà, tu dis prendre des tournois à gauche, à droite, enfin lambda.
Toute l'année quand tu t'appellerais.
On a l'habitude.
C'est une habitude.
Ouais. T'as le kiff, t'as tes en général les personnes proches qui t'envoient les messages, deux ou trois autres personnes.
Le cercle proche.
Habituel, mais, voilà. Ouais. Là, c'est fou, quoi. Et tu te rends compte vraiment que c'est les championnats du monde et que c'est le tournoi des championnats du monde, quoi. C'est vraiment un tournoi à part pour ça. T'as vraiment, là, tu retrouves. Alors, c'est ce que je dis, je le compare pas à la Coupe du Monde de foot parce que c'est incomparable. Mais je veux dire, tu sens que c'est la France, tout simplement. Tu joues pas que pour toi, quoi. Tu joues
ouais,
pour
la France. Ce qui est bizarre quand même dans un jeu comme le poker, parce que généralement, on est rarement tous derrière quelqu'un où on casse des verres.
Mazel Tov!
Mazel Tov! Mais il y a rarement cette ferveur dans le milieu, mais là on est vraiment il y a l'esprit un petit peu patriotique qui ressort et on est tous derrière
et
peu importe le français quoi.
Alors en revenant justement à ça, je pense que alors là je vais peut-être faire un peu le bisounours, mais je pense que ça a bien changé cet aspect-là aussi du joueur de poker français. C'est-à-dire qu'il y a quelques années déjà il y a eu le problème avec le online et le live où c'était vraiment la guéguerre quoi d'enfants et tout. Ça, je pense que ça a énormément changé. C'est-à-dire que les joueurs du online ont compris qu'ils avaient à prendre du live, et les joueurs de live ont compris qu'ils avaient à prendre les joueurs du online, et puis même les joueurs de live se sont mis un peu plus online, etc.
Et vice-versa, même, il y a beaucoup de joueurs d'online qui vont de plus en plus vers le live.
Tout à fait,
hein,
tout à fait. Donc ça, ça a changé, et je pense que, et c'est bénéfique pour le poker français et pour les joueurs français, c'est qu'on s'aide quand même beaucoup plus, et qu'on critique moins, et qu'on est moins jaloux, de façon générale. Ça existe encore, ça existera toujours, et c'est normal même d'être jaloux. Moi, j'ai un copain un jour qui m'a dit, écoute, je te félicite, mais je te dis pas
ça
que je sais pas quoi.
Souler.
En gros, presque, quoi. Tu vois, il m'a dit, mais je suis jaloux, je te le dis.
C'est compréhensible.
Et il me dit ouvertement, il me dit, mais si j'étais pas jaloux, c'est que je serais pas compétiteur. Et c'est vrai ce qu'il dit, quoi. Et tous les gens qui te disent, je suis content pour toi, c'est sûrement vrai. Il y en a une partie pour le qui c'est pas vrai, mais clairement ils ont
il y a une petite part de jalousie, mais c'est elle est
normal.
Pas malsaine,
elle est
saine,
exactement,
voilà,
exactement.
Ça, c'est pas de la jalousie juste en disant non mais lui il est nul à chier, il gagne et pourquoi pas moi,
exactement.
C'est plus j'aimerais être à ta place,
voilà.
Et ça me ferait
c'est
plaisir,
pas malsain,
et
ça permet de progresser et d'aller vers le haut, quoi. Et je pense que voilà, le poker français a vraiment des beaux jours devant lui en termes de joueurs aussi, en termes de niveau, où je pense qu'on a on a en termes de top players, on en a pas beaucoup clairement. En termes de très bons joueurs français, je pense qu'on en a beaucoup, et il y en a quelques-uns qui peuvent vraiment faire la différence dans les années qui arrivent.
Est-ce que notre image à Vegas, parce que les Français à Vegas pendant longtemps, enfin même dans le poker international, ça avait une image de fiche quand même. Longtemps, elle a évolué. Vous sentez que cette image elle a évolué ? On est
non.
plus
non,
non toujours.
Non.
On a toujours une image dégueu, et on a une image de. En plus, enfin moi j'ai l'impression à chaque, enfin les quelques fois, je sais pas hein, si c'est ton impression aussi Alex, mais les quelques fois où j'étais à des tables avec d'autres Français, etc. Il y a eu des histoires où il y a eu des trucs où j'avais honte d'être française, tu vois. Donc forcément, des mauvais comportements, des trucs où tu vois. Franchement, les Américains, ils vont perdre un coup ou quoi, ils vont se lever, ils vont tout le temps avoir le sourire. Enfin, moi, c'est l'image que j'ai de Vegas.
Moi, pour moi, c'est des gros faux culs quand ils font ça. Mais bon,
ça donne une image qui est pas en fait, si tu veux,
ils se lèvent, ils ont le sourire et ils disent good game, machin truc. Moi, il y a jamais eu d'énervement, il y a jamais eu de quoi que ce soit.
Alors c'est vrai, c'est faux. C'est-à-dire qu'entre eux, ils sont comme ça. Ils le font, mais moi j'ai des copains qui sont français et qui ont ressenti clairement le racisme à une table parce qu'ils sont français. Voilà, c'est arrivé à pas mal de copains à moi, ou direct les mecs quand tu sens qu'ils sont contre lui, quoi, clairement. Et dès que tu fais un truc avec ça, va commencer à parler.
Et j'ai entendu,
et les histoires comme ça, j'en ai au moins deux ou trois, ce qui est beaucoup, deux ou trois quand tu vas pendant un mois à Vegas, cinq fois dans l'année, c'est quand même beaucoup, quoi. Et que ça arrive que sur les Français. Donc, il y a peut-être des antécédents. C'est vrai qu'on n'est pas les gens les plus irréprochables du monde. Mais les Américains, entre eux, sont très patriotisme, etc. Il n'y a aucun souci. C'est vrai qu'ils sont polis. C'est vrai que c'est agréable de jouer dans leurs conditions de jeu. Mais il y a plein de choses qui me plaisent pas. Il ne faut pas non plus dire que tout est beau chez eux et tout est noir chez
et
nous.
Je ne dis pas ça. Je dis juste que moi, pour répondre à la question...
Le jingle.
Moi, dès que je peux foutre la merde.
Non, mais il y a pas un jingle bisounours, on s'aime, on fait un bisou.
C'était ça, non?
Non, ça c'est l'autre. Parce que du coup, là, il y a que la musique dispute, mais on est mariés, on vient de voyage de noces, il faut des petits bisous quand même.
Ah, c'est ça, exactement.
Ah, voilà.
C'est bien ça. Sinon, je mets Rabbi Jacob.
Non, c'est bien ça.
Non, ça c'était pour Jack Guigny. 340 000 $. C'est ton plus gros gain?
Ouais.
Genre quand tu reçois le petit chèque là, qu'est-ce qu'il y a un, enfin non, rien de plus.
Si, très content parce que ça change pas ta vie, mais ça l'embellit.
C'est un gros
clairement
up de bankroll,
voilà, même. Tu sais que derrière tu vas être plus tranquille dans plein de tournois, tu vas peut-être réussir à atteindre tes objectifs aussi plus rapidement, ou en tout cas t'as la possibilité supplémentaire de pouvoir y arriver. Mon objectif, c'est de gagner un EPT et un bracelet, voilà. Quand si j'arrive à faire ça, je serais très content.
C'est pas mal.
C'est pas mal.
C'est bien.
C'est pas mal.
Généralement, on en dit
mais,
un.
Non, mais enfin, ça sera peut-être zéro, hein. Mais voilà, tu me demandes mes objectifs, c'est ça, clairement. Après.
Il y arrivera.
Et peut-être. Et peut-être, je vais dire un truc de fou qui va vous paraître complètement invraisemblable.
Tu proposes une cote.
Non, mais ça va. On va pas prendre le bête.
Pas nous,
moi,
sur le forum.
Paris, il va pas le faire.
Sur le forum. Moi, je suis juste de la merde.
Mais je vais dire un truc invraisemblable. Mais peut-être qu'inconsciemment, quand j'ai buzz du main event, j'étais pas content, clairement. Mais peut-être que ça m'a soulagé, parce que le fait de gagner le main event, je pense que j'arrête de jouer au poker.
C'est ça, en fait. Tu peux pas aller plus haut.
Après, est-ce que toi, par exemple, ça te ferait rêver de faire les super high rollers?
Alors ça me ferait rêver. Je veux pas dire que c'est un rêve. Maintenant, si je peux les faire, ça serait super, quoi. Tu vois, je compte les meilleurs, etc. Au niveau de
film. C'est pas un objectif.
Mais ça sera pendant un an. Enfin, au final, même si je gagne Stanley Cup, je fais les super héros contre les meilleurs. Si jamais j'arrive à me rendre compte que dans ce film-là, j'arrive à être le meilleur, par exemple, ça y est, ça serait gagner le main event, aller dans les super héros, essayer de voir si j'arrive à être le meilleur dans les meilleurs. Et si c'est le cas,
t'as
arrêter
fini
quoi.
Le game,
quoi. Bah, comme Federal, ça. Enfin, en gros, pour moi,
il revient juste de temps en temps, il se fait un petit tournoi à 100K, ouais, il prend un
après,
petit million
ça doit gratter un peu,
bah, c'est chaud quoi. Après t'imagines un million, tu vis quoi, 6 mois et encore tu te sers la ceinture hein.
Quand t'es fait de rôle un peu moins peut-être
un peu moins, ouais.
Il arrive en hélicoptère sur les tournois et tout maintenant.
Sérieux?
Ah ouais, c'est un autre niveau maintenant.
WSOPC, ouais, il a fait le WSOPE,
ouais, il s'est fait plaisir.
Après là-bas c'est tellement relou,
ça va, l'hélicoptère,
peut-être pas cher l'hélicoptère là-bas.
Non, c'est offert.
Et tu peux faire du covoiturage d'hélicoptère, c'est peut-être un covoiturage,
c'est pas mal, un blabla cop,
s'en est suivi une belle surprise pour nous, c'est le sponsoring.
Ouais. Ouais, très content.
C'était déjà en négociation ou c'est vraiment, tu penses, ça découle de ton résultat?
Alors, pour être honnête, j'ai eu pas mal de propositions avant, mais aucune proposition concrète. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs rooms qui sont venus me voir, qui m'ont approché.
Genre toutes
sauf une, presque, quoi. Okay. Et non, pas toutes. Mais j'ai eu 2-3, voilà, j'en ai eu 2-3.
Bah, c'est toutes maintenant. Hein,
non, mais non.
Attends, c'est pas une partie où il a une Unibet.
Et pas Unibet, voilà. Mais.
Bah, du coup.
Et pas Unibet.
Mais par contre, alors, il y a eu Tranchant qui voulait lancer leur room.
Et en fait, Unibet m'en a parlé à Barcelone. Et c'est après, ça s'est fait. Enfin, en partant de Barcelone, exactement. Et ça s'est fait très rapidement, quoi. Et. Parce qu'eux, ils m'ont offert quelque chose de concret. Ils m'ont mis dans des bonnes conditions, au niveau du contrat, j'ai eu ce que je voulais.
Tu voulais quoi?
Ça, c'est encore une... Il y a écrit dans la clause, moi je m'en fous,
seul...
hein, mais il y a une clause qui me dit qu'on
continue à le dire. Seul qui a dit au micro, il n'y en a qu'un.
C'était Guillaume Diaz, il a dit. Mais bon, après tout.
Non, mais moi je m'en fous.
Ah, Guillaume Diaz l'a dit?
Ouais, il a dit.
Moi je le dirais
pas. Un million, il a dit.
J'ai pas le droit, mais c'est juste, je m'en fous complètement, quoi, tu vois. Et donc, je suis. Donc, ça s'est fait rapidement, ça a été. J'étais très content et ils m'ont dit, et je pense que c'est vrai, qu'ils voulaient le faire bien en amont, ils y pensaient déjà
intéressé à toi,
voilà, même début de l'année par rapport aux résultats que j'avais eu sur le circuit DSO déjà de toute façon, et puis voilà, et puis donc là ça fait depuis octobre exactement officiellement.
Et donc tu peux faire tous les tournois, au niveau du online t'es obligé de jouer que sur la room?
Non. Je dois être présent sur la room, je joue presque tous les lundis soirs, pour pas dire tous les lundis soirs, parce que c'est la session où il y a le air roller, là, un petit air roller à 150, etc. Si je peux, j'essaie de jouer un autre jour ou deux jours, mais bon, voilà, le site est bien, il a, moi je trouve, je connaissais pas honnêtement avant, là j'y suis, je trouve ça bien, j'arrive le soft.
Le nouveau soft, il est vraiment bien. Genre, le soft d'avant était pourri. Et en fait, leur nouveau soft, je le trouve vraiment très cool.
Moi, j'ai pas de soucis, j'aime bien le soft. Voilà,
Et les jours que tu conseillerais aux auditeurs de jouer sur Unibet, ça serait le lundi.
Ce qui est bien, c'est que c'est un site de.
De paris sportifs.
De middle bankroll, on va dire. Ouais, voilà, middle buy-in, quoi. Donc, c'est sûr que si tu joues tous les high rollers, non, faut pas aller sur Unibet, on va pas se cacher, voilà. On lâche pas. Et encore, je parle que de tournoi, parce qu'après, en cash game, il y a quand même des parties de cash game qui tournent et qui sont pas mal, je crois d'ailleurs.
Ils
sont bien. Donc le site pour le cash game est bien. Pour les tournois, on va voir ce qu'on peut faire, si on peut. Mais après, on est bloqué aussi parce que c'est avec Poker, c'est aussi avec Betclic.
C'est un réseau, quoi.
C'est un réseau, donc c'est pas facile pour faire évoluer les choses. Mais en tout cas, c'est le but de faire évoluer, d'essayer de mettre peut-être des garanties plus importantes, de mettre des tournois peut-être un peu plus chers, essayer de faire peut-être des offres promotionnelles. Enfin voilà, on va voir ce qui est possible de faire et puis dans le de faire progresser le site, si possible, c'est, tout le monde, quoi.
Vas-y, c'est la première fois, donc t'es sponsorisé, donc là c'est la première fois en fait où tu dois défendre un peu les couleurs du, on va dire, voilà.
Bon, je l'avais avec Poker Associé à moindre échelle, mais je l'avais quand
voilà,
même.
Voilà, c'est ça. Ouais. T'avais déjà un peu, mais là, voilà, vraiment, là, tu dois représenter les couleurs d'une marque, d'une grande marque. Est-ce que, par exemple, Aurélie, tu lui as donné des conseils, parce que toi, tu as été sponsorisé avant par aussi Winamax. Est-ce que vous avez échangé là-dessus?
Bien sûr, oui, ouais. Bien sûr.
C'est quoi les conseils que tu as pu lui donner?
Ça a été principalement sur tout ce qui est comme des réseaux sociaux, etc. Parce que c'est vrai que En termes de publication, de posts, etc., bah Alex, il n'est pas, tu vois, il est pas à l'affût sur Facebook, etc. Et ça, je sais que c'est très important.
Sauf les soirs de match de l'OM, quoi.
Donc déjà, il y a eu la création de page avant même qu'Unibet arrive, où je lui ai dit, après le main event,
fais quelque chose.
C'était important de créer une page, etc. On était plusieurs à lui dire. Il y avait Abou aussi qui insistait là-dessus en disant que la création d'une page, c'est quand même important pour la visu, etc., quoi, tu vois. Et puis voilà. Et
ça,
puis
c'est
maintenant...
une room qui m'a demandé de la créer, la page.
Ah ouais?
La page, c'est une room qui m'a dit avant Vegas, mais écoute, crée ta page et tout.
Et c'est pas la room sur laquelle t'as signé en plus.
Non, c'est pour ça que j'ai dit c'est une room. J'ai dit... Ouais. Et du coup, laquelle? Je l'ai fait.
Non, mais et donc d'animer, d'animer cette page-là, de mettre des trucs, tu vois. C'est vrai que je dois plus souvent lui faire enfin, je dois lui faire penser à ça plus que le mini-pense, quoi, tu vois, du style.
Après, tu vas prendre l'habitude.
Vas-y, prends une photo, mets-le là, ça pourrait être.
Tu prends du plaisir déjà juste à le faire un petit peu, ça te plaît?
C'est gymnastique, ouais,
franchement, ça me dérange déjà, je pense que je me suis amélioré.
Il s'est carrément amélioré, du coup, maintenant ça lui vient de lui-même. Il fait, voilà, après, j'ai toujours été sans. Enfin.
Ça fait, oui, c'est Aurélie, elle est largement en avance sur moi.
Il faut savoir que déjà quand Alex jouait depuis, on jouait depuis peut-être un an à la CF, enfin tu vois, donc je te parle d'un truc en 2009, je lui disais à Alex, bébé, quand tu seras professionnel et sponsorisé, je serai ton manager.
Manager,
donc,
le manager.
Tu vois, 14 ans,
tu sais, j'aurais
plus tard,
deux métiers. Je serai manager et je ferai des pancartes. C'est ça. Je vivrai ma vie de rêve.
Je te managerai avec des pancartes.
Ça, c'est mon
rêve. Une pancarte tweet, une pancarte Facebook.
Non, mais j'ai toujours eu confiance en lui et j'ai toujours vu en lui le potentiel et le joueur, l'excellent joueur qu'il est. Donc, j'ai toujours eu confiance en ça et je sais ce qu'il est capable de faire. Et voilà, il n'est qu'au début.
Niveau com dans ton contrat, est-ce qu'il y a une partie justement online où tu vas Twitch, faire des vidéos ou créer du contenu?
Non, on en a discuté. Moi, j'ai dit que ça ne me posait pas forcément de problème de faire de Twitch, que ce n'était pas ce dont je voulais tendre parce que je pense que c'est très important. Genre, par exemple, ce que fait. Bon, voilà, on va parler
Quentin,
de notre
Quentin, mais même Quentin,
mais
le
voilà,
fait.
Exactement,
fait
pas mal, exactement.
Il a un challenge, je crois, c'est ça?
Là, il a fait un challenge de Mancroll sur le rue, mais il a fait plusieurs Twitch et il va continuer à en faire. Et en fait, justement, c'est quand on a parlé, ils m'ont dit, t'es pas obligé. En gros, il y avait, voilà, Quentin, c'est un peu son.
C'est sa cible,
son domaine, voilà, son truc. Et donc, c'est lui qui va faire ça. Ça n'empêche que je vais peut-être en faire un, ça n'empêche que je vais peut-être en faire un avec lui, je sais pas encore. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas dans les contrats.
Ça serait bien,
je sais pas
ce qu'on
Ce que je disais, c'est que j'ai plus envie de continuer. Ce que j'aime bien justement avec Unibet, c'est qu'il me laisse le champ libre sur mon travail, et je veux continuer à faire ce que je suis en train de faire en un peu plus important. Et voilà, faire du Twitch, c'est que tu commences à te disperser déjà un peu, tu commences à aller dans autre chose, et donc c'est encore un boulot supplémentaire, et du coup tu t'écartes un peu de d'autres objectifs que tu as. Donc c'est pas trop moi en fait le Twitch, quoi, tout
parce
simplement.
Que tu dis que bon, en gros, ouais, le lundi soir, c'est sûr que tu joues. Mais quand t'es dans des périodes comme ça, là, on est en ce moment, il n'y a pas de tournoi, enfin, avant que les WSOP commencent à Paris, bah, c'est quoi un peu ton programme de la semaine? Tu joues le lundi, puis tu fais quoi le reste de la semaine?
Je joue. En fait, en gros, je vais essayer de faire 4 jours où je vais jouer online dans la semaine.
Mais du coup, tu vas jouer en cash game plutôt?
Non, je joue en MTT.
Non, tu joues qu'en tournoi?
Ouais, je joue qu'en MTT. Alors, pour tout vous dire, j'ai essayé le cash game, mais je crois qu'on en avait plus le moment, si on n'avait pas parlé en janvier.
Je me rappelle d'avoir croisé sur Wina il y a quelques temps avec un pseudo assez rigolo.
Mais en fait, j'ai arrêté pour les raisons dont on avait parlé la dernière fois. C'est qu'en gros, quand tu joues en cash, ça me paraît beaucoup plus contraignant qu'en tournoi, en fait, finalement. Parce que tu ouvres tes tables, tu attends les joueurs, tu ouvres les joueurs, tu lances tes sessions, tu joues. Dès qu'il n'y a pas de entre guillemets fiche, tu arrêtes.
Tu dois retrouver des tables et tout.
Tu dois retrouver des tables. Moi, j'avais joué. Alors, je dis pas que je suis. Tu vois, je joue en 2-4. Je dis pas que je suis le meilleur des joueurs de cash game. Loin de là. Mais en tout cas, par rapport au rec et tout ça, c'était pas intéressant pour eux de me jouer. Du coup, c'est eux, ils fermaient les tables, ils allaient ouvrir votre part. C'est moi qui allais les chercher, ils refermaient. Enfin, ça me rendait fou. Et du coup, j'ai dit, je peux pas. Parce qu'en fait, c'est un peu le truc de joueur de tournoi, mais nous, on cherche un peu la compétition, quoi. Et moi, si j'ai envie de progresser en cash game, je suis obligé de jouer contre les mecs qui sont bons pour jouer en cash game. Si je veux progresser, je vais pas, tu vois. Donc, ok, j'ai peut-être de perdre de l'argent sur court terme, moyen terme, mais au final, c'est pour en gagner et pour remonter de limite. Donc, ça me dérange pas trop dans l'absolu. Mais donc, ça m'a un peu gêné dans le cash game online. Après cash game live, je joue pas mal à Vegas parce que je trouve ça très sympa, que t'as les poker rooms qui sont géniaux, voilà, tu joues avec des masses.
C'est quoi ta poker room un peu juste?
Ah, moi je kiffe le encore, la nouvelle qu'ils ont fait au encore là. Je trouve ça vraiment, je la trouve vraiment top.
Ouais.
en termes de d'espace, en termes de lumière, en termes de room service, enfin pas room service mais à la table, tout ce que tu peux manger.
Tu joues 5-5? Tu joues 5-5?
5-5, 5-10, ouais. Et voilà. Et donc, sinon, donc, et donc je joue, voilà, donc je joue.
Et online, au niveau de tes objectifs, justement, parce qu'on a parlé de tes objectifs live, pour les joueurs de tournoi, il y a des objectifs aussi online. C'est quoi, de viser certains titres, de viser.
Ouais, moi, j'avais, je m'étais fait un truc, c'est qu'online, j'avais dit, je voulais faire un top 3 de, d'un Winna Series, quoi, que j'ai fait. Et j'avais un autre truc que j'ai pas encore fait, c'est, enfin, pour cette année, hein, je parle juste pour l'année, c'était de faire top 3 du main event. Pour l'instant, j'ai pas réussi à le faire. Donc, il manque celui-là, dans tous les objectifs que je me suis fait dans l'année, il manque celui-là à faire. C'est le seul, c'est le dernier.
Tu joues à PS.com, les gros tournois aussi?
Non, je joue pas.
Justement, il y a une question sur le forum où on me demande si, est-ce que vous êtes amoureux du pays pour ne pas quitter la France et sa belle fiscalité?
Ouais. Écoute, c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose tout le temps et que même
et
nous,
qu'on s'est posé beaucoup de fois.
On aime
la France, on aime notre pays, on aime nos amis, on aime notre famille, on aime tout ce qui est notre richesse qui est en France. On doit payer des impôts, ok, on se fait légèrement sucré. Ah,
ouais.
Ok, bah c'est le jeu. Écoute, on est là et.
Ouais, c'est un débat. Il faut voir aujourd'hui. On reste en France. Voilà. Est-ce qu'on restera, c'est sûr que si je commence à jouer tous les 10K, les tournois vraiment chers et tout, et que ça se passe bien, va peut-être falloir commencer à penser à partir, quoi, parce que ça peut.
Tu n'as pas commencé à y penser quand tu étais à 25 du main event, tu te disais pas.
Ah, tu poses beaucoup de questions là-dessus, c'est un peu chiant. Hein. Entre ça, les stacking, est-ce que le fisc, parce que tu sais que le stacking c'est autorisé et ils vont te l'accepter dans les comptes,
mais après quand
ça
commence,
mais il faut le déclarer. Bon, ça c'est ce que je fais. Hein.
Surtout que il y a les stackers qui ne veulent pas être déclarés.
Ouais, enfin moi je pose la question avant.
D'accord.
Je joue pas avec ça. C'est-à-dire que si tu me stacks, ok, t'es au courant, il y a pas de chichi. Donc là-dessus,
moi, je te stack pas. Hein, c'est
bon. Donc du coup là-dessus j'ai pas de problème là-dessus. Par contre voilà, il y a des stackers des fois qui vont habiter en Angleterre par exemple, quand je leur fais un virement de 10 000 euros, bah, pour le fisc, que je m'en fous, ils vont l'accepter. Mais si à un moment je leur dois 1 million, que le fisc il me dit, ouais, mais le million, on fait comment? Parce que, ok, vous l'avez donné là-bas, mais maintenant, nous, on le veut, quoi. Bah ouais, mais j'ai fait les papiers et tout, ouais, mais ça nous suffit pas. Et là, ça peut être problématique, peut-être, quoi.
Pour certaines, ça, moi, ça
donc, j'avais quand même, moi, tu joues pas, enfin, quand je jouais, j'avais pas ce souci-là, mais le soir, j'avais quand même d'autres questions.
T'y penses un petit peu, ouais, quoi. Ça revient.
Ça peut vraiment être dramatique, quoi. Tu peux avoir, même en gagnant cet argent-là, ça peut être dramatique, quoi.
Ça peut être un enfer à vie.
Donc, ça, t'en prends conscience. Quand t'es un minimum conscient, t'en prends conscience, quoi. C'est tout, quoi.
Et moi, perso, j'en ai pas du tout pris conscience. Puisqu'on a eu la discussion.
Ouais, parce que t'aurais eu, quelques temps après. Aurélie, elle est moins dans les chiffres, elle est moins dans ce truc-là, elle est un peu rêveuse. Enfin,
ouais,
tu vois,
moi, j'aime bien rêver, mais tu vois, quand on en a discuté plusieurs temps après, en gros, s'il avait gagné le main event, pour moi, ça n'aurait rien changé. C'est-à-dire que.
Ouais, enfin, elle est dans son monde.
Non, mais.
On gardait la même maison, tu vois.
Au niveau du lifestyle, de tout ça.
C'est-à-dire que, ok, il pouvait s'acheter ce qu'il veut comme voiture. Tu vois, il se faisait plaisir. Pour le coup, il prenait. Enfin, tu vois, c'est son argent. De toute façon, il fait ce qu'il veut, quoi. Il s'achetait autant de voitures qu'il voulait, d'ailleurs.
La dernière Kangoo.
Autant de voitures qu'il voulait, avec n'importe quelle somme. Il pouvait s'acheter, je sais pas, tout ce qu'il veut, quoi, en fait. Et il pouvait surtout faire, pour moi, son rêve, c'est-à-dire de jouer les super high rollers et jouer les tournois très très chers, etc.
Mais en gros, on
gardait notre maison, on gardait toute notre vie classique. Moi, je gardais ma Saxo, je lui demandais même pas de changer de voiture, tu vois, si tu veux, ma Saxo, elle est parfaite, tu vois. Et pour moi, ça aurait rien changé, quoi. Juste lui, il aurait été mieux pour jouer ses gros tournois, et voilà.
Parce qu'elle a juste pas, enfin, elle a pas conscience, elle est chez lui, mais c'est voilà, c'est le monde.
Et c'est vrai que quand on en a parlé, il me fait, mais non, mais on aurait déménagé. Je veux pas déménager, moi, enfin, je veux garder ma
pas,
maison.
Ça, ça, bah... autrement, c'est comme ça, ça se fait naturellement. C'est même pas l'histoire de prendre la grosse tête ou pas, c'est juste que c'est logique, quoi. T'as de l'argent, tu vas avoir une plus maison, tu vas avoir un endroit différent.
Ça fait partie des objectifs de vie aussi.
Bien sûr, tout à fait. Voilà, quand tu veux avoir une nouvelle maison. Peut-être qu'on aurait ça aurait été le moment d'avoir des enfants aussi, peut-être. Tu vois, j'en sais rien. Tu vois, enfin, ça aurait été.
Ah, mais tu voulais les acheter. Voilà. Tu voulais les acheter.
Tu voulais
les
acheter. T'as 6 ans, tu vois.
Ah, j'ai ça. Voilà, sur eBay. Sur eBay. Tu rigoles ou quoi? La meilleure, c'est entre 2 et 5. Après, tu la revends. Quand tu la revends, tu fais une plus-value.
Mais non, mais voilà, après, c'était. C'est sûr qu'on n'aurait pas eu, je pense, le même style de vie. Mais bon, peut-être que je me trompe, mais je pense pas.
Bon, on y repensera l'année prochaine.
Voilà. La question ne se pose plus.
On a encore quelques mois pour y repenser.
Ça va arriver vite.
Juillet.
On a des
petites questions sur le forum, donc on nous parlait de ça sur le .com, donc pas de .com, hein, du coup.
Pas de .com, mais très content que le il arrive, par contre.
T'as des petites nouvelles par rapport à Unibet? Ils vous donnent des petites pistes?
Non.
On parle de mars.
Ah ouais, je pense que c'est dans ce dos-là. Mars,
avril,
ouais, mais c'est ça, mars, avril, quoi.
C'est ça. Moi, j'ai pas de date, mais je peux vous dire pourquoi ça bloque, par contre.
Ah ouais?
Quoi?
Pourquoi ça ralentit? Alors, en fait, bon, tous les pays sont d'accord, etc. C'est qu'en fait, il y a des problèmes avec les législations italiennes et espagnoles au niveau des moyennes de buy-in, parce que là-bas, ils ont des buy-in beaucoup plus faibles, donc il faut revoir les offres à peu près globales, parce que tout le rack va être axé sur le rack.fr. Donc n'espérez pas de baisse normalement de rec ou quoi. Okay. Logiquement, tout va être ciblé sur le .fr, parce qu'apparemment c'est chez nous, ça marche le mieux. Et il y a des problèmes au niveau notamment du, par exemple des cash games en Italie. Quand tu buy in sur une table, tu peux pas rebuy automatiquement, etc. Donc il y a pas mal de choses.
T'es capé à 1000.
Voilà, t'as des trucs comme ça à changer qui sont pas sur le .fr, qui sont sur les autres rooms du coup .it et .es. Et donc ils essayent un petit peu d'harmoniser tout ce blabla. Mais tout ce qui est papier, tout ça, c'est fait, c'est signé. Donc ça va arriver, c'est sûr. Mais maintenant, c'est une question de.
Ah, c'est temps, mais il n'y a pas de date. C'est de la législation, c'est que c'est pas les papiers, c'est pas fait, quoi.
Non, mais quand je dis la législation, c'est fiscal, en fait. C'est juste pour. Là, c'est plus au niveau des rooms harmoniser toute l'offre. Parce que tu peux pas. En fait, à la base, on avait un petit peu peur que le REC soit différent si tu es un joueur italien et que tu joues un point FR. Ça sera impossible. Donc le REC sera basé. En tout cas, pour le cash game, sera sur le point FR pour tout le monde. En tournoi, ça limite plus gérable de gérer un règle différent, même si c'est pas du tout équitable. Mais c'est plus au niveau des buy-in, etc. Okay. Par exemple, je crois qu'en, si je dis pas de bêtises, en Italie ou en Espagne, le buy-in max, c'est 200 dollars, enfin 200 euros de buy-in max. Et Winamax, le high roller, c'est 300. Mmh. Donc ça pose un problème, par exemple. Donc voilà, il y aura les offres qui vont évoluer. Donc faudra voir ça.
Au niveau des questions, on demande Aurélie, quel est ton volume actuel? Est-ce que tu joues plus en live ou online, cash game ou MTT?
Alors moi je joue essentiellement en live, très peu en cash, mais ça m'arrive de temps en temps, surtout quand j'ai buzz des tournois ou que j'arrive très tôt au CCM pour jouer en live et que du coup je voulais prendre ma place, parce que vu qu'on habite un peu loin, je viens généralement plus tôt, donc ça me dérange pas de m'asseoir 2-3 heures en cash avant, mais c'est vraiment en fait pour patienter, tu vois, c'est pas quelque chose qui va être prévu dans mon emploi du temps, donc je suis vraiment en live, tournoi. Et mon volume de jeu, donc je joue online mais très peu quand même. Et mon volume de jeu, ça va être quand même, enfin, je joue deux trois fois par semaine quoi en live.
Mais, ah ouais quand même. Ah ouais, donc bon, en gros le CCM c'est la maison quoi.
Voilà.
Ok. L'ouverture des clubs sur Paris, vous en avez entendu parler, c'est quelque chose que vous attendez avec beaucoup d'impatience?
Bah, je pense que pour Aurélie, qui joue justement presque essentiellement en live, c'est une très bonne chose, parce qu'elle va avoir pas mal de cercles
à l'habitude. En tout cas, une offre plus grande, plus diversifiée.
Plus diversifiée, tout à fait.
Moi, je suis là la première heure de l'ouverture sur les champs, le nouveau cercle. Je peux vous dire que
t'as déjà ta c'est sur les champs et tout, elle sait tout quoi.
Elle posait sa petite chaise devant avec la tente tranquille, atteint l'ouverture.
C'est t'attends l'iPhone 10, hein, j'attends le 50 de l'après-midi.
Et moi ça me plaît aussi parce qu'il va y avoir le week-end quand même pas mal d'offres, je pense, sympas, même peut-être en semaine, d'un cercle à l'autre. Et peut-être pour les parties de cash aussi, j'irai peut-être faire plus de cash game live suivant les endroits où c'est. Maintenant.
Oldem toujours, que 100% Oldem.
Ouais, joue en Omaha, mais en fait le truc c'est pareil, tu vois, je me serais bien chauffé pour Vegas, pour étudier les autres variantes, pour les bracelets tout simplement, mais j'ai l'impression que ça, le Hold'em va tellement vite aussi que je peux faire ça, je vais être meilleur dans l'autre,
mais tu vas perdre tellement,
je vais perdre dans Hold'em. Alors je pense que financièrement je serais peut-être gagnant, parce qu'au final il y a quand même je pense encore beaucoup d'edge à avoir sur certaines variantes. Je parle pas forcément du Omaha, parce qu'Omaha il y a quand même des très bons joueurs, mais sur d'autres encore variantes,
et puis les fils sont plus petits pour un bracelet aussi,
voilà, donc c'est vrai que c'est sûrement plus facile, mais j'ai pas envie, tant que j'ai pas réussi à atteindre les objectifs que je me suis fixé, commencer à m'éparpiller encore une fois, c'est toujours pareil. Bah, quoi.
Si
c'est,
je peux me permettre, est-ce qu'on en avait pas parlé de cette discussion là entre nous? Là, je m'excuse, je fais une parenthèse.
Attends, on coupe le micro là.
Non, mais on en avait parlé de cette question là sur les variantes l'année dernière. On avait dit qu'il fallait mieux se concentrer sur tout ce qui était Texas et tout, et là t'as fait 16e du main event. Est-ce que du coup là, c'est pas pour toi quelque chose de te dire, ok, bah maintenant je peux peut-être m'intéresser?
Non, je dis pas que je me mettrais pas à bosser peut-être un mois avant, vraiment, tu vois, un truc pour être genre compétitif, mais pas être forcément EV+, mais être EV0, tu
souvent,
vois.
Souvent, apprendre les règles, ça peut suffire.
Voilà.
Mais je pense que c'est pas loin. Il a gagné un tournoi comme ça.
Ouais,
je pense qu'il y a certaines variantes où s'ils sont 40, il y en a peut-être 6 qui savent réellement jouer, quoi, tu vois. Donc, je sais pas, je pense que je le ferai pas, mais bon.
Parce qu'avant Vegas, on avait eu une vraie discussion posée où Alex m'avait dit, voilà, il hésitait entre bosser vraiment les variantes, enfin avant le main event, je parle de ça, c'était un an avant, hein, donc c'était vraiment sur l'année au niveau du taf et des objectifs qu'on se met pour l'année. Alex m'avait dit, voilà, j'hésite à bosser vraiment les variantes pour aller essayer de chercher un bracelet cette année sur une variante, etc., que j'aurais bossé toute l'année et tout. Qu'est-ce que t'en penses? Et moi je lui ai dit clairement, oublie tout ce qui est variante et concentre-toi, focus sur le Texas, sur l'Hold'em, et reste là-dessus, et voilà, les variantes on verra plus tard.
Aujourd'hui, des joueurs français qui vraiment fort en Hold'em, et qui sont, il y en a qui sont forts, on va dire, dans plein de variantes, Mais des très forts en hold'em et qui sont forts dans les autres variantes. Allez, on va peut-être dire Loosely, peut-être. Peut-être David Lee, ouais. Et voilà, ça va être à peu près tout, quoi, je pense, quoi. Mais, dans ceux que je connais, en tout cas. Après, il y en a peut-être des.
Il y avait Alex Uno,
Alex et Seb.
Bon, ouais, il a pris sa retraite.
Mais voilà, après, ça c'est très peu. Donc, je pense que c'est compliqué d'allier les deux, vraiment. Alors, c'est bien de le faire pour du cash game. Parce que c'est vrai que c'est ludique, de temps en temps, tu vas changer un peu et tout, et puis tu vas t'amuser.
Tu peux quand même progresser, en plus, tu peux apprendre des trucs.
Ouais, c'est sympa.
C'est ludique, t'apprends des nouveaux trucs.
Sur le hold'em aussi. Hein.
Ouais, ça te fait progresser sur le hold'em.
Sur certains aspects du hold'em.
Mais ça te fait des jeux aussi sur beaucoup de spots en hold'em aussi, quoi. Moi, j'ai Victor Choupeau, par exemple, qui lui fait les deux et est bon dans les deux. Je sais qu'il a fait des fois en hold'em des gros folds pas bons. Parce qu'il était encore sur des mains d'Oma, et lui-même le savait en fait. Hein. C'était genre, juste dans nos discussions qu'on avait, ah ouais, mais pourquoi t'as foldé ça? Ah putain, je me suis emballé là par rapport à Oma et tout. Donc, ça a des avantages, mais ça a des inconvénients aussi, quoi. Mais bon, ça peut, c'est vrai que c'est ça serait bien de pouvoir faire les deux.
Alors, moi, justement... je pense que ce serait un bon moyen, un bon moment pour commencer à t'y mettre, ouais. Par contre. Alors... Par rapport à la discussion qu'on a eue l'année dernière, le fait que t'aies fait 16e du main event et tout, qui a été pour moi une réalisation un peu de tes objectifs, que t'as réussi quasiment tous tes objectifs annuels.
Ah, ça sera peut-être dans les nouveaux objectifs de l'année prochaine.
Pour moi, je pense que tu peux commencer à y penser, ouais. Et à le mettre dans
Surtout que maintenant, tu as des épreuves online et tout, tu peux commencer à te chauffer et te faire la main un petit peu là-dessus sans attendre Vegas, quoi. Du coup, ça peut être pas mal. Bah, justement, pour les variantes, on a une petite question pour notre ami Tapis Volant qui est présent dans cette
Tapis
salle. Qui te demande est-ce que c'est pour pouvoir own tout le monde que tu inventes tout le temps des jeux comme à la Villa à Vegas?
Comment les gens savent que j'invente des jeux? Pardon, excusez-moi, j'ai mis trop de
questions.
Tu peux répéter la question?
Bah du coup, est-ce que c'est pour own tout le monde que tu inventes tes propres jeux?
Non, j'adore inventer des jeux. J'ai toujours inventé des jeux depuis que je suis petite et j'adore. Mais moi, j'adore jouer.
C'est des jeux de quel type, avec des pancartes ou des...
Non, mais j'ai créé plein de jeux dans ma vie. Mais j'ai vraiment, hein, c'est j'adore. Et j'ai créé un espèce de Monopoly. Donc faut imaginer un vrai plateau de Monopoly, tu vois.
Ah mais tu crées le plateau, la totale.
Ah j'ai tout créé.
Ah ouais,
les cartes,
t'es au taquet du coup. Ouais, okay.
Avec toutes les destinations, donc des destinations les plus cheap, genre à Marrakech.
Ah là, elle a pas changé les règles du jeu pour celui-là. Hein. Elle a juste.
Ah non, je garde.
L'habitude. Adapté quoi.
Je garde le prorata de toutes les pour qu'il y ait une logique dans le jeu, tu vois. Sinon il y a plus de jeu. Mais en termes de buy-in des cartes que t'arrives, donc t'arrives au Sismix Marrakech, t'as différents events, t'achètes
c'est
tes cartes d'event.
Le main event, c'est quoi? C'est le aéroport le dernier. Rue de la Paix, c'est quoi?
Rue de la Paix, c'est WSOP Main Event, gros. C'est mais le gros event.
Avec le one drop.
Il y a le one drop. En fait, t'as deux bleus.
Il y avait les deux.
Ah bah t'as
Rue de la Paix et l'autre.
Faubourg Saint-Honoré.
Le premier, c'est Main Event WSOP.
Non, c'est Rue de la Paix et... Ah merde, attends. C'est quoi la deuxième bleue?
La deuxième carte bleue.
Rue de la Paix et... Champs-Élysées.
Non, Champs-Élysées, c'est vert.
C'est pas.
Non, n'importe quoi, c'est bleu. Le mec, il connaît même pas le Monopoly, il a dit sort de là.
Vert, c'est Breteuil.
T'as raison.
Bien sûr qu'on a raison.
Breteuil, Capucine, vous avez bête combien?
Un burger là-bas.
Un quart.
C'est cadeau.
Non, mais donc oui, il y a WSOP Main Event et après, il y a le One Drop. C'est le plus haut tournoi. Voilà.
C'est vrai.
Enfin bref, et donc tu passes par Londres, tu passes par Barcelone, tu passes
Attends,
par.
Attends, juste pour ça, c'est quoi Belleville du coup? C'est quoi le plus pourri? C'est Sismix?
Ouais, je suis désolée.
C'est en termes de bail.
Non, en marron, donc les marrons, je sais plus.
C'est les violets d'abord, c'est les premiers, c'est les violets.
Ouais, enfin moi j'appelle ça marron parce que j'avais un vieux Monopoly, tu vois, de fake de Lidl. Et donc c'était marron. Et du coup, les deux premiers, quoi, les moins chers, c'était donc MPO et Sismix.
D'accord.
Enfin, c'était les petits, quoi, Marrakech. Et après, on partait dans différentes villes et les gares, c'est les aéroports, donc qui permettent d'aller, voilà, bref. Et il y avait plein de trucs, et il y avait taxe, tu sais, la taxe de luxe.
Ouais.
Donc là, j'avais hésité, en fait, au début, je voulais mettre un truc genre taxe de pute, tu vois, mais je peux pas trop le dire. Du coup, j'ai dit non, vu que je suis une fille, on va pas mettre ça,
le fisc.
Parce que pour le poker, il y a quand même des filles. Et du coup, ouais, non.
La case prison, c'est fisc ou c'est broc?
La case prison, non, c'est. La case prison, c'était Grind ACF.
Tu retournes
à la, parce qu'à l'époque, la CF était pas fermée quand j'avais créé ça, et donc c'était le Grind ACF, tu retournes à la CF pour refaire ta BR, quoi.
D'accord.
Et t'es cloîtré à la CF, quoi. Et tu ne peux te sortir que quand
si tu fais un double,
etc. Et donc il y avait les deux, tu sais, l'électricité là et le gaz,
l'eau et l'électricité,
c'était les jeux de roulette, donc les tables roulette et blackjack.
Et bah dis donc, tu nous avais fait
tu l'as bossé, t'avais bossé les pions aussi, c'était qui prend la voiture ou le chapeau?
Non, mais toutes les cartes, je les avais bossées, tu sais. Toutes les cartes où tu dis, vous devez chance. Rénover, machin, vous avez gagné, machin. Moi, c'était chance, vous avez swap avec un pote, vous gagnez 150 euros.
Pourquoi tu l'as pas créé et vendu sur le CP, ce jeu? C'est je suis sûr que ça marcherait.
Et ce jeu est dans mon ordinateur, si tu veux. Ce jeu, est, je te le vends, si tu veux. C'est cadeau, bro. Envoie-moi un mail, cadeau, je te l'envoie. Ouais.
C'est cadeau.
D'accord. Il y a toujours Tapis Volant qui vous demandait pourquoi on t'appelle ATM à Vegas.
En fait, il y avait plein de jeux à côté dans la villa. Donc, on jouait au billard, on jouait au backgammon.
On jouait à mes jeux.
On jouait à ces jeux. Et en gros, quand je jouais au billard contre Tapi, bah, Tapi, il était tellement nul que j'ai laissé des cotes de fou, quoi. Et il a dû chater une fois, et du coup, il m'a appelé ATM. Et après,
c'est que Tapi qui l'a appelé ATM.
Et après, j'ai joué au Spy, au backgammon. J'avais jamais joué de ma vie. Et donc, j'ai appris les règles au backgammon là-bas. Et du coup, j'ai joué pour la première fois, sauf que moi, je mettais de l'argent avec eux, et donc ils étaient contents de me prendre mon argent. Quoi.
Tu jouais contre qui ?
Je jouais contre Rémi, Fabien et Olivier Dex.
D'accord.
Ouais, on joue tous les trois, et Tapi aussi, j'ai dû jouer contre toi, je pense.
Mais c'est le seul contre qui t'as pris de l'argent.
Tapi, dis-moi, Alex, t'as payé tes vacances à Vegas ou pas ? Ouais, ok, on est bon.
T'as pas fait des grosses vacances alors.
Parler sur d'autres personnes contre Alex.
Et... Ouais, en fait, au billard, j'ai perdu contre. C'est vrai qu'au billard, j'ai perdu contre Olivier qui est fort, quoi. Et il pariait sur Olivier, les enculés. et il me faisait perdre de l'argent en plus, quoi. Donc, c'est comme ça qu'ils gagnaient leur argent.
Bah, bravo. Alors, petite question. On a une question. Je ne comprends pas cette question. Je n'ose pas la poser. Donc, bon, on va voir. Dans la maison du bluff, tu te faisais appeler Lilou.
Oui,
au sein du team Winamax, tu étais redevenu Aurélie Kellin. À présent, tu es devenue Aurélie Réard.
Alors, rectif. Pour la maison du bleu, je me faisais appeler Lilou parce que je me suis toujours fait appeler Lilou. D'accord. Tous mes potes m'appellent Lilou. Donc, ça n'a pas changé. Mes potes continuent bien sûr de m'appeler Lilou.
Tu étais la seule Aurélie, il n'y en avait pas deux, non? Quand il y avait deux Aurélie, ils t'ont mis un pseudo parce que généralement, ils font ça quand il y a deux.
Ouais, mais en fait, le truc, c'est que dès la présentation et tout, j'ai dit voilà, moi je m'appelle Lilou.
Ah, donc c'est parti.
Ce qui peut arriver à en dire, parce que j'étais assez détendue et tout. Mais pas trop de. Tu vois, je suis pas arrivée en mode je m'appelle Aurélie Kellin, j'habite, machin. Je suis arrivée en mode voilà, moi c'est Lilou, machin. Et du coup, c'est resté. Parce que du coup, ils m'ont dit est-ce que tu veux être Lilou ou Aurélie? J'ai dit bah, soyons Lilou. Et après, chez Winamax, j'ai plus été Run Good for Love que Aurélie Kellin. Parce que là, on peut pas prendre les pseudos pour le coup. Enfin, Lilou, vu que c'était pas mon pseudo online, c'était mon surnom de pote. Mais c'était pas voilà, donc c'était pas forcément utilisé, encore que certains potes même chez Wina m'appelaient Lilou, mais voilà, oui, Lilou c'est vraiment mon surnom, donc
toujours quoi,
ouais, tout le monde m'appelle Lilou, ça, quoi. C'est mon pseudo, quoi, enfin c'est.
Et Run Good for Love, c'était ton premier pseudo,
il et ça comme c'était ça, avait... ça c'était compliqué parce que j'avais ça, je venais de le changer, et donc quand Wina m'a signé, j'étais assez embêtée parce que je leur disais mais j'ai mis ça et tout, j'avais l'impression que c'était nul, tu vois. Donc je leur disais, je garde ça, est-ce que je garde pas ça, Run Good for Love, est-ce que ça fait pas trop, je savais pas. Donc bref, ils m'ont dit, bon non, bah, garde-le, enfin j'avais pas trop d'idées, du coup je l'ai gardé, mais je sais pas.
C'est resté comme ça.
Et voilà, et aujourd'hui c'est Aurélie Réard, parce que je me suis mariée, mais c'est plutôt Lilou Réard. Quoi,
je finis la question, est-ce qu'on peut enfin dire que tu expérimentes l'identité heureuse chère à Alain Juppé?
Alors moi j'ai lu la question, donc je suis allé regarder ce que c'était l'identité heureuse d'Alain Juppé.
Alors qu'est-ce que c'est?
J'ai pas compris.
Je ne comprends pas la question.
Pas compris non plus.
Non, mais en fait, c'est en gros, c'est un concept qu'il avait pendant la présidentielle sur un truc. C'est
sur vraiment les gènes, en fait, comme ça, quoi.
Je peux pas vous l'expliquer, c'est trop compliqué, vous allez pas comprendre.
En gros, c'est de voir.
Ça, c'est qu'il a pas compris, lui. Il a pas compris lui-même.
En gros, lui, il a. Enfin, je sais pas, en gros, de voir si j'ai de la popularité sous Lilou, ou mieux sous Aurélie Kellin, ou mieux sous Aurélie Réard.
Non,
genre,
je
pense
pas. Non, c'est pas ça. Je ne sais pas ça, mais t'inquiète pas, personne n'a compris la question.
Tu me rends plus heureuse.
Non, mais non, bah voilà. Juste l'identité heureuse, c'était un concept de Juppé pendant la
bah écoute, nous allons te répondre. C'est qui ce monsieur qui a posé la question?
C'est The Best.
Écoute, The Best, je vais te répondre.
Oui. Non. Oui, ah d'accord.
Oui.
Parce que moi je suis bisounours, j'aime bien les gars.
Bah écoute.
Voilà. Fais-toi plaisir.
On a fait le tour des questions. Moi j'ai une petite question. Est-ce que tu sais, Aurélie, combien de fois il a gagné un tournoi à l'ACF?
Alex?
Ouais.
Mais t'as pas le bon compte, hein, bro?
Si.
Non, jamais. Ah t'as bon jamais le bon compte.
C'est vrai, il y avait des victoires.
Il y avait toutes les victoires, mec. On a au moins 50 médailles chez moi.
Bah moi j'ai les victoires Endon Mobé.
Official.
Ah, official, je ne sais pas. Mais en vrai, je te dirais.
Pas celle qu'il a achetée.
En vrai, je te dirais 115 facile.
Combien?
115.
115?
Ouais, mais j'ai au moins 50 médailles. Les heads-up, ça compte pas. Hein.
Non, mais les vraies médailles, c'était des tournois à 100 joueurs, etc., où on gagne une médaille à la fin.
115
j'ai les médailles fois. Chez moi, donc c'est je énorme. Le dis. A, moi, je dis
115. Ah bah oui, bon, sur Random Mob, il manque un chiffre. Hein,
sur Random Mob, combien?
Bah, sur Random Mob, du coup, il n'y a que les tournois Random Mobé, on va dire. Et du coup,
c'est juste une histoire d'année, en fait.
C'est-à-dire je dirais 13, 15, je sais pas.
11. T'as 11 déjà.
Déjà 1, j'aimerais 115. Bien, moi. 1.
115.
Bah lui, 115.
Bah, tu dois en faire vrai, il y en a franchement une centaine.
Vous avez les médailles à la maison, comme ça?
Ouais.
Vous avez fait une petite salle des trophées?
Tu sais, les médailles SCF, hein. Non, tu vois pas, mais médailles.
Sur le mur, quoi, je vois pas.
Sur le
bien
mur,
sûr, je vois.
Mais 115 médailles, t'as un grand mur quand même. Beaucoup.
Bah, elles sont dans un. Bah, on a un mur de trophées. Je me suis amusé à faire ça.
Faire une salle, tu vois, il aurait gagné 8 millions, t'aurais fait une salle, pas un mur, une salle de trophées.
Ouais, voilà, pour l'instant, c'est un mur de mon.
Et après, il y aurait été la télé. Quand la télé vient, tu fais bah là, je vais vous montrer ma salle des trophées.
Ça, et tu te balades et
tout. Voilà, bah là, c'est quand j'ai gagné le main event.
Là, c'est avec ce t-shirt là que j'ai gagné le main event, tu vois, tu le mets au mur.
C'est avec ce caleçon aussi.
Ouais, c'est vrai qu'on est très caleçon dans le poker. Ouais.
On aime beaucoup les caleçons.
On aime ça. On ferait pas un petit quiz.
Allez, on se
fait.
Bon, non,
mais
elle veut jouer. Elle veut jouer, elle est au taquet. C'est un petit quiz.
C'est vraiment un quizounet. C'est le quiz.
Un quiz ou l'ours.
C'est un quiz ou l'ours.
Allez.
On vous donne. Attends, c'est le petit quiz qui peut te foutre dans la merde. En gros, je vous donne des dates importantes et c'est l'autre qui doit répondre. Okay.
Voilà.
On est mort.
Mais il y en a pas beaucoup. Remets la musique tout de suite.
Et c'est ça. Et non. Tu gagnes un voyage en spa à Cransac dans le sud.
Ou une encyclopédie. Un truc
en
de cuisine.
18 heures.
Attends, je bois.
Alex, le 25 juin.
Notre mariage.
Celle-là, fallait pas se tromper.
Celle-là, on te mettait directement en PLS.
Celle-là, fallait pas se tromper.
C'est pour Aurélie, du coup.
Aurélie, le 16 janvier 2012, je précise l'année.
Attends, le 16 janvier, mais ouais. Je l'ai pas.
Bah, moi, je l'ai noté.
C'est le 16 février, mon gros.
Non, 16 janvier.
Ah oh, ouais, non, mais celle-là, elle est dure. Celle-là, elle est trop dure.
Je m'en fous, je donne des dates dures, moi.
Non, celle-là, elle est impossible à trouver.
Le 16 janvier 2002
Ouais. C'est lié à son Undone Mob.
16 janvier 2012.
2012.
Ah oui, 2012.
2012.
Ah oui, attends.
2012.
Attends, je réfléchis.
Je savais pas.
Janvier. Et du coup, je vais dire EFOP.
Oh,
ACF.
C'est ça.
Oh,
c'est
bon.
Ouais, ta première win sur un
Allez là
sur un Donut.
Enfin, bon, c'est sa première, mais en fait, c'est sa 108ème.
En vrai. Mais...
Attends, moi j'en avais une que j'aimais bien. Alex, c'est quoi le 13 août?
Non, t'as pas.
Si. Ouais, non, mais c'est toi qui l'as pas. Ah non. Pourquoi t'as 13 août?
Le 16 août ou le 13 août?
Ah mais moi j'ai le 13 août, merde.
Non, je crois que c'est pas là. Il a pas la bonne date.
Si,
ah mais t'es d'accord les gars.
Ok,
je peux pas
okay vas-y, vas-y. Moi je crois que t'as pas la bonne date, mais ok.
On va voir. Pour moi c'est le 13 août, non?
Ok, 13 août. On va voir qui a raison.
Non, attends, c'est le 16 août.
Non, le pas
mais
le.
Mais moi je suis que sur le 16.
Ou le. Attends, le 13 août ou 13 octobre, merde. 13 août.
13 octobre.
Moi je dirais 13 octobre.
Moi je peux être joker. Hein.
Vas-y, tu dis quoi? Il y a un truc en 13 août ou 13 octobre.
Il y a un truc qui te parle le 13 août?
Non, donc le 16 août, oui.
C'est le 13 octobre.
Et le 13 octobre, il y a un truc qui te marque ou pas?
13 octobre, il y a un truc, c'est une date pour toi.
Ah ouais, ouais. 13
ah merde, alors c'est le 13 octobre voilà. Alors.
On voit le mec qui bosse
dehors. Mais vous êtes balèze ou.
Hein?
C'est une ibette?
Non.
Non. Non,
attends,
c'est
mais
plus.
Ça se trouve, elle va nous dire
c'est...
un truc.
Eh, hey, mais Lana, je suis sûre qu'on a pensé.
C'est
perso. Eh, maintenant, si tu le dis pas, en gros, non, on va s'embrouiller là.
C'est
ça ou pas?
Ah, ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
T'as
ça.
Intérêt à le sortir, hein, je te le dis direct.
Ah, bam!
Très bien. Si tu dors sur le canapé.
Allez là.
C'est quoi, ça fait 6 mois?
C'est perso.
Bah, mais de qui?
C'est perso.
Ah, c'est joyeux anniversaire de ta mère.
Allez là!
Ah, bien joué!
Joyeux anniversaire, Mamoun!
Putain, bien joué!
Anniversaire.
C'est bien 13 octobre!
J'ai 13 octobre,
et ok.
Du coup, la prochaine, c'est celle du père ou pas?
Non! Non, j'ai pas. J'ai remonté le fil et à un moment, il y avait une photo. Je sais pas comment.
Parfait!
Voilà. À toi, Chichi.
On va rester en octobre. Le 10 octobre.
Mais je l'ai pas non plus, celle-là, c'est quoi? Ah ouais, d'accord.
Oui.
Du coup, 10 octobre 2017.
C'est sur Alex.
Ah oui, il n'y a pas d'année.
C'est cette année, 2017.
2017.
C'est tout récent.
Bon. Oui, bien sûr. L'arrivée d'Alex chez Unibet.
Officialisation du contrat d'Alex, exactement.
La pancarte, la fameuse
pancarte. Elle était là.
Bienvenue
elle
était là. Chez Welcome.
J'étais sur notre voyage de noces, on partait trois
est-ce
jours.
Est-ce que t'as un mur des pancartes aussi ou pas?
Non, je les garde. Pour les après, je les re.
C'est en stabilo, en fait. C'est un truc effaçable. Alors attends, donc celle-là, elle est pas très drôle, elle est pas terrible.
Non, la mort de mon grand-père, ça sert à rien.
Non, 4 septembre 2015, pour Aurélie.
4 septembre.
Bah, c'était Winamax, non?
Putain, mais ils sont forts.
L'entrée dans le team Winamax.
Ils sont là, hein?
C'est beau. Moi, j'en ai une pour Aurélie. Le 9 août.
Bah, c'est l'anniversaire d'Alex, mais c'est aussi proche de la date où j'ai su que j'allais rentrer chez Wina.
Et c'est quoi le plus important, du coup ?
Son anniversaire.
Ah, ça va.
Et le 8 septembre 2016, Alex. C'est pas... pas terrible, ça, là, comme date, quand même. Mais...
C'est là où ça s'est fini à Forikuna Max.
Je sais pas. Mais si, je l'avais.
Je crois qu'on a tout fait.
Ouais, on est bien.
Ah non, le 17 juillet 2017.
Ah oui, le 17 juillet.
C'est là où j'ai bust.
Il faudra faire mieux.
C'est ça ou là.
Tu bustes le 19 la prochaine fois.
Ouais, ce serait pas mal.
C'est l'objectif.
Allez. Attends, c'est le 19. Non, parce que le 19, ils sont 3 après.
Ouais, c'est ça. Il y a deux, c'est sur 2 jours ou 3.
Ah oui, c'est vrai, c'est sur 2 jours. Ouais, donc le 20 du coup.
Ouais, parce que 17, 18, 19 off. Non, même le 21.
T'as 2 jours off.
Si la bust le 17, bah oui, t'as 2 jours off.
En France ou à Vegas.
18, 19. Et le 21. C'est le 21, faut bust le 21.
Il y a un jour.
Ah! 8e victoire de Laurent Polito.
Bravo Lolo.
On se fait une petite partie technique.
On se fait une partie technique.
On a un assistant de luxe.
Je vais aller chercher mon réalisateur. Alors, Tapi, si tu veux aller chercher
toi,
mon réalisateur, s'il te plaît.
C'est pas Tapi.
Moi, je pensais que c'était Tapi qui faisait la technique.
Alors, Tapi, il a dit j'en ai rien à foutre, je ne fais pas la technique. C'est ses mots.
Ah,
donc, on aura Jonas.
Jonas
à la technique. Alors, est-ce que. Déjà, j'ai peur que Jonas ne connaisse pas le mot de passe du PC.
Arthur.
Attends, il connaît. Il est là ou pas?
C'est bon.
Ouh, okay. Direct, le mec, il,
tu me lances.
Tape, on dirait qu'il sac les trucs dans les films.
La main avec Karel. La main, ça doit être la deuxième. Karel, il y a écrit Karel.
Mais par contre, il faut que tu le mettes sur cet écran-là.
Alors là, je ne sais pas s'il connaît cette technique.
Ah, vous êtes high-tech maintenant.
Mais non, on a bossé, t'as vu ça? Il y a un petit player.
Alors ça, c'est là où on était en vacances.
Demande à Laurent qui vienne faire. Et qui nous mette aussi la main sur Twitch, du coup.
Winter is coming.
Et si tu peux mettre la main la main sur Twitch aussi, Lolo. En même temps.
Tu sais, c'est la partie technique quand même où tu commences avec une télécommande.
Ça fait
un peu partie technique sur Minitel, mais ah, mais t'as le replayer sur la tablette et tout.
C'est pas le même. C'est un autre. C'est non, nous on va être dans la peau de Karel.
D'accord.
Ok. Ouais, il y a écrit chichi, je ne peux pas changer. C'est comme ça, malheureusement. Donc nous on va être dans la peau de Karel. On est donc sur le 1000 des W Coupe. Ok,
main,
c'est écrit
main.
En haut. C'est.
Non, c'est pas le main, c'est indiqué.
C'est pas le main, mais c'est quand même un beau petit tournoi, un petit million garanti en toute détente. Okay. Donc on est sur les blindes 400-800. On va être en small blind et on aura As 3 suité à trèfle. Ok. Donc pour le moment, il y a des folds. Donc pour l'instant, ça va folder. Ça fold également. On est sur une table de 8.
Putain,
et là, on a le cutoff qui open à 1720. Ok. Le bouton fold. Donc, c'est à nous de parler en small blind. Et donc, Jonas, ne va pas trop vite, s'il te plaît, parce que là,
tu
me spoil mon truc.
Je reste 6400, mais après.
Donc, ici, bon, il se trouve que. Donc, il y a eu un open à 1700. On a 3 bets, notre small blind à 6400.
Est-ce qu'on 3 bets toujours?
Alors, déjà, au niveau des stacks, je vais. Donc, parce que tout le monde n'a pas les stacks. Au niveau des stacks, le mec qui a open au cutoff, il a 55 000. D'accord? On est sur les blindes 400-800. Et nous, on le couvre. On est plutôt pas mal. On a plus de 100 blindes. On a, au départ, du coup, 106 000. Du coup, ici, est-ce qu'on 3 bets tout le temps? Est-ce qu'on peut flat notre As-3 suité?
Si on considère que vilain est pas bon, en tout cas, si on considère que vilain peut faire des erreurs post-flop en bébé, ben on peut flat pour l'amener, faire un jeu nuts aussi deep.
Alors, au niveau bébé, c'est-à-dire que laisser rentrer la big blind, tu veux
tout
dire?
Tout à fait, ouais.
Alors, au niveau du profiling du maître Copen Okotov, c'est un bon règle.
C'est un bon règle. Après, on va dire que si on flat de SB, on va être très capé sur notre range aussi. Donc ça, c'est un des inconvénients. Si on 3 bet, on a des mains très fortes, des mains moyennes et des mains vraiment moyennes. Après, on va jouer un gros pot hors position contre un joueur qui est fort aussi. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Je pense qu'il y a pas, on est pas, après on est très deep, donc on peut 3 bet dans ce spot, mais on n'est pas c'est pas une obligation de 3 bet quoi.
Moi, je vais 3 bet ou fold, mais je vais rarement flat.
Okay. Ouais, je fold jamais en tout cas.
Les raisons pour flat, si jamais on a un gros spot en big blind, on peut flat du coup.
Ouais.
On 3 bet pas juste pour cette raison là. Sinon, si on a un joueur correct, on préfère 3 bet quoi. On est plutôt dans ce spot ou pas?
Ouais, pour éviter que ça squeeze derrière et que un peu chiant aussi. Et puis qu'on reprenne aussi l'initiative du coup. C'est un peu un coup de cash game ça, je pense.
Ouais, c'est ça, on est sur blind.
Vous allez avoir tendance, je pense, à 3 bet souvent.
Bah, ça flatte pas en fait en small blind. Voilà, à part si un.
Voilà,
si
ça dépend vraiment, il y a les nœuds. Voilà.
Mais sinon, c'est clair que c'est tellement deep que 3 bet c'est ok.
Donc on est ici de 3 bet. Au niveau du sizing, il open à 1700, on fait 6400. Vous pensez quoi du sizing?
Bah, je pense que c'est encore un sizing de cash, mais qui se réadapte beaucoup, mais qui se réadapte beaucoup en, maintenant en tournoi, c'est ce qui se fait souvent aussi. Donc hors position, c'est minimum 3,5-4, quoi, on va dire.
Sauf qu'en cash game, ça commence à augmenter, maintenant ça vient à x5 quoi, hors de pause.
Alors j'avoue que, enfin après, encore une fois, je ne suis pas spécialisé en cash game, mais là on est combien? On est presque 200 deep.
On est 70 deep,
et non on a 5 avec. Mais pour le online, si on commence à faire des sizing, tu dis 5 ou 6x, c'est ça, hors pause?
C'est 5x qui est débuté. 5x
hors pause. On joue au départ, on est à 100 bébé deep, truc. Je trouve que ça commence à faire énorme.
En fait, l'intérêt, c'est juste que maintenant, en fait, les gens flattent beaucoup.
Défendent.
On est d'accord, mais on connaît maintenant à partir de quel moment on fait des erreurs en collant tel ou tel range, c'est tout. Ça devient des maths. Donc si on fait plus cher, c'est pour faire plus d'erreurs à l'autre, on est d'accord.
Bah pour qu'il colle une plus grosse partie.
C'est ça qui colle moins, en fait, c'est qui colle moins ses pocket pairs, que ce soit, parce qu'en fait, en gros, maintenant, tu flattes une tonne dès que t'es en position, et en gros, si tu fais 5x, tu vas un peu moins flat, de 2 à 6-6, des suited connectors, ça commence à être cher, quoi. Donc, c'est intéressant. Après, c'est pas encore tout le monde qui le fait, hein. En high stakes, ils le font tous, la plupart.
Mais
sinon, en général,
high stakes, ils sont sans bébé deep aussi.
Bah oui, ils sont,
ouais. Online, c'est toujours capé à 120, oui.
Après ça va augmenter.
Ah non, non, mais ma question elle est là, c'est que si t'es à 200 ou 300, que tu fasses 5x ou 6x, ça ne pose aucun souci.
C'est logique.
Mais si tu commences à le faire à 100 bébés, je trouve que
ils le font sans blinde.
Ça commence à être beaucoup.
Bon, du coup, toi, tu te rabais de combien? Parce que moi, je fais pas aussi cher.
J'aurais fait 5-5, quoi. Donc c'est
5. Moi, je fais un petit peu en dessous encore.
Tu ferais encore en dessous, Aurélie?
Ouais, je fais entre 4009 et 5002.
Après, je pense pas que ce soit une erreur de faire moins cher dans soi, parce que, ok, le mec fera pas d'erreur, d'accord, mais tu vas reprendre le lead avec une main qui joue bien post-flop, quoi. C'est-à-dire que t'as quand même une main qui est S3 suité, c'est pas une main dégueulasse, quoi. Mais par contre, tu vas value contre des mains justement qui vont fold, en temps général, qui là vont être, se sentir obligés de call. Tu vas pas crush une tonne de mains, on est d'accord avec As-3, mais.
T'as pas trop envie qu'ils collent même des mains, enfin, même moyennes, parce qu'avec As-3, tu sais que tu vas pas hit déjà tous les boards et que, enfin, au final, même s'il a une main comme par exemple 7-5 suité, t'es content de le faire fold, quoi.
Ouais, alors attends, qu'est-ce que tu veux quand tu joues au poker aussi deep? T'es content de prendre 3 blindes tout de suite ou commencer à avoir des mains qui jouent bien post-flop
pour essayer de nasser, c'est ça la strat.
Bon, ouais, voilà, parce que là, on est donc du coup, ça devient pas mal de faire, pourquoi pas, peu cher.
Et en fait, moi, dans Man Advantage, le mec qui va call 5002, il va call 6004 de la même façon, juste à économiser 1000, tu vois, et si le mec a une vraie bombe, il va vouloir raise.
Non, il y aura personne qui va raise.
Un monstre ou quoi, enfin bref, peu importe, mais je veux dire, pour moi, le mec qui va call 5002, il va call 6004.
Il n'y a pas de 4-bet là, tu veux dire, ici, Alex? Il n'y a pas de 4-bet ici?
Moi, c'est le raisonnement que j'ai, justement, on dit qu'on colle beaucoup, et pour coller beaucoup, il faut, ça veut dire qu'il faut être, entre guillemets, équilibré aussi. Quand tu commences à 4-bet ce spot-là, t'as soit 2 as de roi, d'accord, et encore même 2 rois, je suis même pas sûr que t'aies très envie, soit t'as des mains très mauvaises, quoi, de façon générale.
T'es très polarisé.
Et du coup, t'as un 5-bet facile, quoi, mais à faire cher, si t'es très deep, je parle, hein, entre guillemets. Donc non, c'est les spots que les gens vont beaucoup coller en position, quoi.
Si en plus tu 4-bet pas 2 rois, oui, effectivement.
Voilà, et quand t'as sa main, c'est la branlette, quoi, tu vois.
Non, mais c'est le cas, je pense que si vilain a vraiment 2 rois, 2 as, ici, il va tout le temps call, tu vois.
Pas forcément, parce qu'il peut level, justement, ça a un intérêt de le faire s'il sait que machin. Bon, après, eux, ils sont encore dans une game, ils sont encore au-dessus entre joueurs, donc ils peuvent aller un peu plus loin dans les raisonnements. Mais flat, franchement, si on parle justement d'équilibrage de range, qui est encore un tournoi, encore autre chose et tout. Mais pour du cash game, je pense que si tu commences à 3 bet toutes tes A6 suitées, tu vas avoir une fréquence beaucoup trop élevée de 3 bêtes en SB, quoi.
En SB, tout le monde a une fréquence élevée.
Bah, plus maintenant, ça a changé, quoi. Ça a été vrai.
En cash game
peut-être.
Là, on a un
tournoi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que quand
ça flatte un peu.
Ouais, c'est pour ça que peut-être qu'on vous en revenait à en faire plus cher, parce que justement, ça flattait trop sur les 3 bêtes de SB. Et moi, je pense que justement, en gros, ce qu'on se dit, enfin, moi, en tout cas, ce que je me dis maintenant avec d'autres joueurs, c'est que avant, on avait des mains où on se disait, on va pas flat, soit on va 3 bêtes, soit on va fold, tu vois. Et maintenant, on s'aperçoit que.
Très bien avant, à l'époque, parce que les gens faisaient beaucoup.
Maintenant, les gens faisaient plus. Donc, pourquoi est-ce qu'on va se sentir obligé de 3 bet un valet 9 suit, par exemple, tu vois, alors qu'on peut coller un valet 9 suit et faire un jeu post-flop tranquillement, grind 12 ou 13 blindes, j'en sais rien, tu vois, et on n'est pas là pour déstacker ou stack off le mec ou pas tout de suite, tu vois, c'est un jeu sur le long terme que tu vas grind, quoi. Et donc, tu vas jouer un pot que tu n'auras pas fait gonfler avec une main qui joue pas mal et tu seras un peu plus équilibré dans ta range. Bah pas forcément, justement.
Tu peux faire un nut aussi.
Pourquoi?
Avec ce
jeu. Bah parce que tu vas pas. Tu vas
j'aurais passé ces 3 offres, ça c'est sûr.
Non, mais je veux dire, en gros, tu vas te rebettre tout le top de ta range. Tu vas pas flat as roi, tu vas pas flat de roi, tu vas pas flat
non, mais
de
je vais
de
pas
dame.
Non, mais donc en gros, c'est pour capé. Ça, non, c'est pour ça que je te dis que justement, peut-être qu'on 3-bet pas as 3 suité, mais qu'on 3-bet as 5 suité, tu vois. C'est là où c'est intéressant aussi.
Oui,
tu vois.
Mais en termes de hauteur de range, t'es capé parce que t'as pas les nuts. T'auras pas les nuts.
Pourquoi j'aurais pas les nuts si parce que avec 2 as, 2 rois, j'aurais les nuts.
Non, mais si tu les 3-bet pas. Tu me dis
ah,
que
si
tu flattes.
Ah ouais, d'accord.
Tu veux dire
okay.
Quand tu flattes, tu 3-bet.
Alors, à ce niveau de blinde, ouais, je serais capé. À ce niveau de blinde. Ce sera pas forcément le
mais
cas.
Mais après, tu peux les flatter par contre.
Tu peux les flatter pour plein de raisons. Déjà par rapport à la blinde.
C'est la blinde déjà. La blinde est super importante.
Parce que tu sais qu'aussi après le mec, quand il va ses bêtes, il va être presque commit sur plein de flops. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui font que tu vas flatter.
Les stack size vont changer quand même.
C'est très important. Ouais, c'est très important.
Donc on va 3 bêtes. Vilain va défendre et on va donc aller voir un post-flop. On va voir qu'on est plutôt pas mal sur le board. Le board c'est 7-4-2 avec.
Pas mal.
Deux trèfles, donc le 7 de trèfle et le 2 de trèfle, donc on trouve gutshot et nut flush draw, donc bon, là on est plutôt pas mal. Le pot fait 14 400, ici déjà, est-ce qu'on s'ébête toujours notre main ou est-ce qu'il y aurait de l'intérêt à check call par exemple ou check raise?
Moi je s'ébête.
Alors je pense que s'ébête c'est le standard, voilà. Après check call ça a une énorme énorme intérêt, c'est que si le trèfle rentre turn et que le mec a des stabs des même s'il aura tendance à check back peut-être certains spots et tout, mais il aura une fréquence de bluff qui sera beaucoup trop importante après, et toi t'auras le jeu net parce que tu comme le standard est de ses bêtes trèfle.
Il va jamais te mettre du coup sur une flèche.
Voilà, il suffit qu'il ait genre un roi de trèfle ou j'en sais rien pour décider vraiment de mettre des gros parfums et de gagner des gros pots. Quoi.
Est-ce que pour check call, moi j'aime bien check call, des fois des notes flèches, mais je préfère check call une note flèche qu'à deux over.
Bah, qui ont surtout de la showdown value un peu.
Oui,
quoi.
Et puis qu'à deux. Ouais, et du coup qu'à aussi un peu. Enfin, là non, parce que t'as une gutshot, mais genre ouais, un as-roi, un as-dame, tu vois, qui a plus d'équité,
après,
plus de showdown value.
Après, est-ce qu'on 3-bet as-dame suit dans ce spot?
T'as la gutshot qui est pas mal aussi, tu vois.
Là t'as la gutshot dans ce cas-là, donc du coup ça peut suffire aussi. Donc,
mais est-ce que as-dame suit on 3-bet aussi deep dans un tournoi comme ça? Cut-off small blind?
Pareil. Non, je pense pareil. Je prends le même spot que as-roi.
Sauf que tu fold pas, dans tous les cas.
Non,
donc
voilà.
T'aurais 3-bet 100%.
Ouais, j'aurais 3-bet
100%. Moi, vu qu'on dit qu'on n'a pas de range de 4-bet, enfin qu'il y a beaucoup moins de range de 4-bet, ouais, ça me dérange pas de 3-bet.
Oui, ça dépend parce que tu vas pas te retrouver.
Mais
il
faut se poser la question avant, est-ce qu'on est parti quand même d'affin. On sait quoi, est-ce qu'on va aller au bout, est-ce qu'on va pas y aller. Là, on est tellement deep que de toute façon, ça sera pas un problème. Donc je pense.
On flash le 4-bet du coup, si on se fait 4-bet, qu'on a.
Ouais, je pense, ouais.
Enfin, bon, là, tu fais quoi, tu check call du coup?
Non, je le sais bête, enfin, je pense que c'est bête.
Au niveau du sizing, vous CBT tous les deux, Aurélie, tu ferais quel sizing sur 14 400?
Bon, je fais. 5008, tu sais, moi je fais tout le temps, tu vois.
5008, ok. Alex,
ça dépend de ce que je veux faire. Ça dépend si je veux en mettre 3 et si je veux vraiment commencer à mettre la pression. Ça dépend si je veux en mettre que 2 et si jamais ça rentre pas. Hein, je parle vraiment. Et du coup, alors en gros, ça va. Je pense que je vais faire un peu plus petit moi sur ce spot. Je vais faire genre 4000, ouais, 4006, 4008, quoi. Je vais pas faire tout de suite char.
Ok, on va faire un sizing à peu près dans ces eaux là. On va faire 4004. Sur ce. Non, j'ai mis 4006. Ah oui, non, 4006, pardon, il fait 4006. Donc on fait 4006 dans 14400 et vilain va call. Donc le cutoff call, on va se retrouver sur une turn. Le turn, c'est la doublette du 7 qui fait pas apparaître un nouveau flush draw. T'as juste à remonter, Jonas, faut juste que tu remontes. Ouais. Ouais,
alors tu vas descendre à chaque fois.
Ouais, non, mais c'est le truc qui est mal foutu. Donc on arrive turn, c'est la doublette du 7 et on va checker cette doublette. Est-ce que du coup on check tout le temps ces doublettes, est-ce qu'il y a de l'intérêt à seconde barrel ou pas?
Ouais, moi je pense que. Enfin, si, alors là, je pense qu'il va passer un. Je sens bien un énorme check raise là, de la part de Karel. Là.
Ah, je
vois pas pourquoi il le ferait, mais je sens qu'il va le faire, quoi. Là ici, je pense que je deux barrel.
Le pot fait 23 300 et en stack effectif, il reste ouais. 46 000.
Bah, si jamais j'ai l'intention d'en mettre 3, donc là je vais faire 11, quoi. 10, 11 et. Voire 9. Même 9, ça me dérange pas, tu vois.
Bon, vers 40%, 35%, 40%.
Ouais, puis je chauffe.
Aurélie ?
Moi, j'aurais check.
Recheck. Du coup, quand tu pars pour check ici, tu pars pour check call, check raise. Hein, c'est quoi, du coup, notre
plan? Check call dans un premier temps. Après, voilà. Je vais voir le sizing qu'il fait, quoi. S'il chauffe, je vais passer.
Donc on part là-dessus. On a check et vilain a check back. Donc on va voir la river.
Ce qui arrive souvent.
Et la river, c'est le 9 de carreau. Déjà, quand il check back cette turn, qu'est-ce qu'on. Au niveau de sa range de cutoff.
On a perdu.
Qu'est-ce qu'on se dit
c'est, on a dit bah, qu'il a de la showdown déjà, clairement. Et sa main, du coup, ça va être, je sais pas, de paire de 8 à.
Ouais. Paire de 8 dame.
À paire de dames, ouais, ça me paraît pas
ouais,
mal.
Exactement. Ouais, de 10, de 9, de 8, de valet.
Il a jamais de nuts, mais en gros, il a
quelques as roi de carreau, as dame de carreau aussi. Clairement. Et puis voilà quoi. Enfin,
une range avec pas mal de mains, mais
et il a des
globalement
il a
pas
mal de mains. Il a des 7
il a aussi,
voilà, il a aussi des 7-4, 7-2 où il a check.
Ouais, des 6-6, ouais.
Non, mais okay. Il a as 4 suit, as 2 suit aussi qui. Qui va voilà ouais, il a de la showdown value quoi en gros il a showdown value mais il a pas une grosse main quoi a priori il a alors, pas
bah, il peut
il bet,
hein,
bah, a priori il va bet tous ses sets parce que c'est une carte qu'on va de toute façon checker avec une grosse partie de notre range en fait turn
ouais on donc, va tout le temps bet sur la
lui
la
il va quand même il veut
enfin, là si tu t'es pas censé enfin je pense que t'es pas censé bet grand chose hein
à sa place à lui
hein.
En fait vu que t'as des floats tu vas bet
quelques nuts quelques bluffs qui ont pas de showdown value.
Si tu...
Genre, en gros, si t'as 5 et 6 suit, tu vas le bet quoi.
Si t'as 5 et 6.
Ouais.
Tu vois, 5
ouais.
et 6, ça va jamais gagner au showdown.
En,
5 et 6,
en note, ça veut dire que tu vas commencer à bet genre 2 valets, mais t'es même pas content. Parce
non,
que
non, mais en gros,
t'es.
Non, mais en note, en note absolue, c'est des 7. Voilà, enfin, en note, je parle des 7.
Okay,
quoi.
Donc,
après, t'en as pas beaucoup, mais t'as des 7.
Donc, du coup, t'auras le même spot à bluff plus facilement river, je pense. En checkant même des mains sans showdown value quoi.
Bah, le seul truc, c'est que moi, avec un 7, j'ai envie de bet turn, parce que j'ai envie de bet turn et river. Vu qu'on va check nos as,
je pense que ça fait pas assez de combo de value pour pouvoir le faire quoi.
C'est bah bon si, on bet,
si on estime, si on estime en plus d'après ce que vous avez dit tout à l'heure qu'il foldait 2-2 par exemple quoi.
Il foldait quoi?
Paire de 2.
Ah de 2 préflop tu parles.
Bah non, ce mais que là, vous avez lu par rapport au sizing. Donc du coup ça.
Non parce que c'était sur un sizing 5x sur un sizing comme il fait je pense qu'on colle toutes nos pocket pairs. Enfin je sais pas non tu t'es pas d'accord?
Si IP moi.
Tu vois donc en gros je pense que et en fait ici si on a encore 4-4-2-2 et on a si on a 4-4-2-2 7-8
7-6-7 à 7
et non ouais à 7 du coup suit, il n'a pas beaucoup mais en gros on va barrer nos 5-6 suit nos je pense qu'il 8, va
t'as 5-6 8-6 suit après ça dépend comment tu moi je sais qu'il y a des joueurs ici ils vont
et puis il a aussi des 8-9 backdoor il a 8-9 de carreau
mais il y a
8,
des joueurs qui vont check back des mains tu vois typiquement si t'as enfin il y a plus d'intérêt à bluff ton 5-6 qui a pas de flush draw. Et éventuellement, si tu penses que tu bluffes trop, de check back, tu vois, 5-6 de trèfle, et de bet ton 5-6 de carreau.
5-6 de trèfle, en fait.
Après, le truc, c'est que. Si tu perds ton équité, t'es dégoûté.
Bah oui, c'est pour ça, t'as pas du tout envie de faire check
raise. Après, non, moi, ça me dérange pas de bet 5-6 de trèfle, tu te fais jamais check raise dans ce spot.
Ah bon?
Bah, t'as. Logiquement, t'es protégé, puisque lui, il va jamais check raise.
Mais ici, c'est trop bien de le faire.
Enfin, bah, vu qu'on a tous les 7, il peut
bah,
pas
non, check raise. Non, en fait, il peut pas trop.
Si tu bêtes pas de 10, de 9, c'est ce que tu veux dire. Si tu bêtes pas de 10, de valet, de 8, t'as pas l'intérêt à le faire. Mais après, tu peux rep aussi des.
Justement, ta range quand tu bêtes turn, toi, t'es très polarisé. En gros, tu vas bêter des mains très fortes et des bluffs. Et en gros, c'est pour ça que bête 5-6 de trèfle, je m'attends à jamais me faire check raise. Ça me dérange pas de pouvoir faire fold. Bon, après, je pense qu'une main comme As-3, As-Dame, bah, ça va souvent check all turn une fois et ça va check full river. Mais
donc ici, du coup, vu la range qu'on lui a donnée, on lui a donné une range qui avait de la showdown value globalement. On se retrouve river avec SI, mais du coup, SI sans kicker puisqu'on ne bat pas tous les autres SI. Est-ce qu'on peut décider de donc bet? Est-ce qu'on give up totalement?
Bah, on a un peu de choses. On gagne quand même enfin, je sais pas, il a le droit d'avoir quelques flush draw qu'on bat. Et il va pas bet tant que ça, en fait.
Bah, là, en gros, si tu bet, c'est juste pour faire fold as, roi, as, dame, quoi, je pense. Ou alors tu fais un sizing genre où tu sais que t'es capable de faire ça avec deux as, j'en sais rien, pour rep un peu moins strong à la turn, etc. Ou tu vas peut-être je sais pas, un spot que tu peux décider d'overbet, j'en sais rien, tu vois, river avec deux as ou deux rois, tu peux aussi le faire, ça, tu vois. C'est genre, je pense que t'as quand même souvent la meilleure main si t'as deux as de roi dans ce spot, on est d'accord.
Bah là, pour le coup, je pense qu'il aurait
bête,
il aurait bête,
il y a que deux neuf,
il y a que deux neuf,
et du coup, si t'as deux as de roi, par rapport à le mec fait 45, bon, t'es peut-être pas obligé de faire 45, mais tu fais 16K, ça me pose pas de soucis de bête 16K ici avec deux as.
Si t'as as de cœur, par exemple, c'est pas mal parce que tu bloques as 4 de cœur et as 2 de cœur qui, enfin, genre, tu bloques, je veux dire, 4-4. Et non, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi, A7, tu bloques A7, ouais,
Aska, t'as pas besoin de le bet.
Non,
mais c'est t'as deux as, tu bloques
avec l'as de cœur.
L'as de cœur, tu bloques les combos d'as 7 suité.
Ouais, ça, je suis d'accord pour les top 7. À la limite, si tu. Non, mais genre, juste pour overbet. Pour pas te retrouver à
de belle que toi. Ouais. Mais après, c'est pareil, c'est si tu bêtes, enfin, t'es peut-être pas obligé d'overbet, mais si tu bêtes genre 16K ce spot, faut être sûr que tu le fasses tout le temps de cette manière-là, que t'as l'habitude de le jouer avec des as de roi aussi, quoi. Parce que si tu joues contre. Bah après, si tu me dis que le mec est fort en face et qu'ils ont l'habitude de se jouer aussi.
Là, c'est un joueur qui réfléchit et c'est un bon joueur en tout cas. Et
ils ont l'habitude de se jouer, je suppose, non?
Je sais pas s'ils ont l'habitude de jouer, mais en tout cas, je sais que c'est un reg et qui est bon. Après, je connais pas ce fil de là du tout.
On sent que l'autre il va transformer en bluff, on va se retrouver à avoir un bon mal de tête river là.
Alors, pas du tout, parce qu'on va décider de shove. En fait, on va overbet shove. Donc le pot fait 23 000 et il nous reste 46 000 en effectif. Et donc on va shove. Donc on n'aura pas du tout. Vous pensez quoi du coup de là? On parlait de faire un crazy.
C'est ce que disait Alex. En gros, si on shove avec deux as dans ce spot, ou en gros, pareil, l'autre hein, il a jamais, il va toujours bet sa value turn. Enfin, c'est grosse main turn. Donc en gros, il reste juste à, il a juste un bluff catcher river.
C'est juste, ouais, t'as un bluff catcher et puis c'est juste, ça reste du tournoi quoi. Encore une fois quoi. Donc t'as
survie.
Il y a une survie qui est importante. Et là, tu te dirais, tu te poses aussi la question. Clairement, ça veut pas dire grand chose. C'est un bon joueur. Là, il nous met max de pression, donc il veut se faire hero call. Mais il a quand même. Quel est son risk reward? Il est dégueulasse, son risk reward, un petit peu aussi, tu vois, c'est pas propre.
En gros,
tu vois, il y a
tous
ces paramètres-là qui font que tu penses que tu vas plus tendre sur le fold que sur le call. Mais ça n'empêche que t'as le droit de call. Mais tu vas, quand t'es vilain 5, tu vas quand même être plus tenté de fold ta paire de valets parce que tu te dis, putain, si je call ici, je me fais trop own, quoi, si jamais il a deux as et tout.
En fait, dans ce genre de spot, quand le mec il overbet shove river et que c'est un bon joueur, donc en gros, tu sais qu'il est équilibré. Tu vas chercher plus une main qui a un bloqueur sur.
Ouais, clairement, call. T'es obligé. Sinon, ça veut dire que
tu préfères call As-4 que 8-8, quoi.
Si t'as à la limite à As-4, en gros, c'est un bon bluff catcher parce qu'en gros, il va shove deux as et il va bloquer.
Deux as de roi, quoi.
Et full. Et genre, si t'as As-4 de cœur, tu vois, par exemple.
Ouais, t'es très content.
Bah, en gros, tu bloques As-7, tu bloques 4-4. C'est ben, c'est pas mal.
Alors, je vous annonce qu'on a fait un value bet de mutant.
Parce qu'il nous a colle avec.
Il nous a colle avec Roi-Dame, tu le verras pas, mais tu peux changer de main. Il a tank, et il a call Roi-Dame. Donc, value bet de mutant, qui était clairement un bluff.
Ça, c'est l'énorme tilt quand tu colles. Tu sais qu'il a. Bah, en gros, tu. En fait, il prend la bonne décision.
Mais je pense que c'est
parce qu'il y a des mains que tu transformes en bluff aussi, tu vois. Il y a des as 2 que tu vas transformer en bluff, tu vois. Parce que si tu fais ça,
je suis pas sûr parce que as 2 quand ça fait
tu veux faire fold des gros as, c'est pas logique.
Non, pas que ça. Parce que je pense que tu peux faire fold des gros as avec d'autres sizing.
Ouais, tu veux maximiser ta
chance. Tu peux faire fold 5-5, 6-6.
Mais tu peux faire fold de 10 de valet, tu peux faire fold. Pourquoi tu peux pas faire
de
valet?
Voilà, même
pas. D'accord. Mais donc du coup, il y a des mains qui sont meilleures. La preuve, c'est qu'il y a des mains qui sont meilleures que roi dame qui vont transformer en bluff. Genre as 2 par exemple. Enfin, je sais pas si je me souviens plus du board, mais c'était
juste des SI, s'il a juste des SI, ça suffit en fait.
Par exemple, mais et du coup, tu vois, il y a OK, les pairs et SI, il va peut-être pas laisser bet 100% du temps, donc du coup, il a peut-être pas ses malas non plus, et les SI, ils considèrent que les SI qui 3 bet, peut-être qu'ils sont plus, parce que là, sur ce board-là, il y a un truc qui est marrant, si tu peux le remettre, c'est que dans les As qui 3 bet, on est d'accord qu'on 3 bet rarement As 6, As 10 dans ce spot. Donc au final, on va 3 bet As Valet plus.
As 2, As 3, As 4, As 5.
Exactement. Et As 2, As 3, As 4, As 5 font des pairs souvent. Du coup, le mec à Roi Dame, il estime que ces mains-là, il va pas les chauffer, tu vois. On est parce qu'il a
logiquement il est pas censé les chauffer parce qu'il a quand même un peu de showdown value quand ça check turn.
C'est pour ça qu'il faut le roi dame, donc il pense qu'il a aucune hauteur as. Il pense qu'il a juste une meilleure hauteur roi
et surtout que roi dame ça bloque roi dame dame qui
dame je pense pas, mais clairement
ouais, voilà,
et ça c'est une des bonnes mains. Et après il est étonné de voir as 3 parce que je pense que c'est un des seuls combos vraiment.
Ce que j'aime pas du tout dans son call, c'est que je l'ai pas dit, mais il a le roi de trèfle, donc on a le roi de trèfle en main, ça j'aime pas du tout. On a roi dame off avec le roi de trèfle et du coup on bloque un peu des combos de semi bluff chez Karel, c'est quand même
sauf
moins
que
bien.
C'est pas des combos qui va shove, donc en fait au final c'est pas le bloqueur, il est pas tant important que ça parce que il va pas shove roi 10 de trèfle river.
Mais déjà, qu'est-ce qu'on pense du call, enfin est-ce que sur un subtil sizing, justement on dit souvent qu'on doit call beaucoup, qu'est-ce qu'on pense du call de roi dame sur 7-4-2 au flop?
Moi, je suis
avec le roi trèfle, on est ok, il n'y a pas de problème. Sur un petit sizing, on colle.
On a deux overbacks d'un flush draw, c'est un call.
Ah, il avait roi dame de carreau, il avait
roi dame avec le roi trèfle.
Il a deux overbacks d'un flush draw.
C'est sûr, déjà, tu fais en termes de dots et tout. Si derrière, en plus, on pense que je pense que Karel, il va s'ébête très très souvent ce flop là.
Je pense que c'est bête 100% ce board.
Voilà, donc
d'ailleurs, je suis juste étonné du sizing. Pour moi, C'est pas le genre, c'est pas une texture de board où tu veux ces bêtes petits en fait.
J'aime bien ces bêtes plus chères moi.
Bah, en fait, c'est un board où en gros, si t'as deux valets, deux dames, t'as besoin de plus de protection et donc en gros, quand tu bêtes quand tu sais bêtes un tout petit sur des boards, c'est parce que t'estimes qu'il y a une partie de la range adverse qui va fold. Et que t'as pas besoin de beaucoup de protection. Sauf que ici, sur ce board, en gros, la majorité de ta range, c'est des, genre, je sais pas, deux valets, deux dames, deux rois.
Mais c'est sûrement aussi pour ça qu'il shove river. Hein.
Par rapport à son petit sizing,
pour moi, quand il fait ce sizing là au flop et qu'il shove river, ça lui permet justement de shove river parce que le fait d'avoir fait petit au flop, ça a capé vachement sa main justement sur des mains fortes aussi qui ont pas besoin forcément de protection, tu vois.
Donc en gros, c'est que deux as. A priori, je pense. Enfin.
Et l'autre a pas d'as dans sa main quand même, ouais. Tu vois. Donc après, c'est aussi pour ça qu'il le fait, tu vois. C'est sûr. Ouais. Donc moi, ça me dérange pas. Et en plus,
peut-être qu'il a chauffe pour value. Hein.
Ok, bah on va passer à une autre main. Là, on va se retrouver en heads up. On va changer de buy-in. On va passer à un buy-in à 100K. On est sur le super high roller heads up entre Mike Watson et Nick Petrangelo. Et nous, on va être dans la peau.
De chichi.
Ok, on va être dans la peau de Mike Watson. Je reprenne un peu ma HH. Au niveau des blindes, c'est le replayer qui merde un peu, donc avant juste un petit peu, ça va se remettre normal, juste pour le pré-flop. Donc nous on est au, voilà, tu peux rester comme ça. Nous on est en bouton, on a As 4 off. On est sur les blindes 6000, 12000. On a 631000.
Ah ouais, on est.
Et on est très deep. Et on est couvert Nick Petrangelo à 1,2 million. Donc on est quand même.
On est méga deep quoi.
On est sur un 100K en même temps.
Ouais.
Le 100K de l'Aussie Million.
Okay. Mais le heads up il a duré une semaine aussi.
Cool. Il a duré très longtemps. Donc on se retrouve avec As 4 off au bouton ici avec ces stacks là. Est-ce qu'on peut avoir une range de limp ou est-ce qu'on open tout globalement?
Encore une fois, pour moi, ça dépend du hands up, de ce qui s'est passé avant, etc. Tu peux limp, tu peux raise.
Bon, aussi deep, je pense qu'ils vont avoir.
Ça dépend de leur stratégie aussi, de HU, comment ça s'est passé.
Ça limp pas trop.
Aussi deep en position, je pense que ça va être raise tout le temps. Quoi.
Quel sizing tu ferais sur 6000, 12000?
Moi, je pense que tu fais 3x, quoi. Je pense que t'as la place pour le faire en détente. Hein.
Ok, Aurélie.
Moi, je ferais genre 2-7, tu vois, mais bon, en gros, c'est.
Je pense, non, ouais.
Moi, je ferais 31.
Je ferais 25, je pense, ouais. Okay. Après c'est du tournoi, j'y connais rien.
Bon, on va faire 30 000 tours ronds, voilà, on a pris 3 jetons, ouais, c'est pas fait chier.
Ça me va bien.
Donc on fait ça et on a Petrangelo qui va défendre sa big blind, donc on va avoir un flop. Le board vient, c'est 8-5-2 avec 2 cœurs et un carreau, donc tout rouge. Et nous on a As-4 avec l'As de pique et le 4 de trèfle. Donc bon, on n'a pas les couleurs mais on a quand même une gutshot et SI. On a ici Nick Petrangelo qui va checker sa big blind et du coup ici est-ce qu'on c-bet notre main ou est-ce qu'on a un bon candidat à check back?
On c-bet.
Vous ferez le pot fait 60 000, vous ferez quel sizing à peu près?
Je fais petit là.
Tu c-bet cher?
Non, je fais petit là.
Ah ouais. Là je fais 23. Ouais,
ouais, je pense que je fais ça.
On est sur du tier pot.
Ouais, 23, ça, je trouve c'est très bien.
Un peu plus cher,
ouais.
Tu ferais combien?
Ouais,
tapis.
Fait...
Ah, tu poses ta question.
Je me rends compte que tu vois, je fais trop cher, mais j'aurais fait 32.
Un peu, donc plus mi-pot du coup. On va passer bête, on va check back ici, donc on va avoir une turn. Vous pensez quoi du check back au flop avec notre main?
On y est que si on fait le 3, et ben on prend tout quoi, c'est ça. C'est qu'il
sait, c'est mais si, pique, mais on va rarement le faire au final. En plus, il y en a un qui est à cœur.
Après, t'as quand même souvent la meilleure main, faut pas se leurrer.
Ouais, c'est pour ça.
T'as une main qui arrivera pas au showdown.
Qui quoi, pardon?
T'as une main qui aura du mal à arriver au showdown.
Ouais, je suis d'accord, parce que t'auras pas de trucs et tout. Mais
en même temps, tu vas call turn, ça peut check river aussi.
Tu vas call turn, ouais.
Bah, c'est compliqué sur ce board quand même, check river.
Tu sais que le mec, si jamais il bet turn, c'est en général, c'est pas pour. Ouais, soit t'as perdu, soit il en mettra un autre.
Donc là, la turn, c'est le 7 de carreau, donc qui nous ouvre une double belly buster.
Double belly buster.
On a double gut shot. Et on a Petrangelo qui va prendre le lead maintenant. Il va faire 45 000
ouais, ça m'étonne
dans
pas.
Ouais, 60 000.
Tellement sûr.
Bah maintenant, vu qu'on a check back flop, moi c'est give up.
Ah non, tu pars, impossible, ouais, c'est impossible.
Ouais.
Impossible. Mais... je réfléchis à un truc.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on du coup, on a double belly buster, mais il y a deux flush draw. Donc on n'a pas, il y en a deux, on a deux out dans l'eau qui sont pas clean du coup.
Ouais, un truc qui me plaît beaucoup dans ce spot là, mais bon après là c'est contre les top reg, donc c'est toujours pareil. Là c'est l'exploitant ce que je vais faire, mais c'est de min raise. Mais min raise, c'est-à-dire faire 90, tu vois.
Pour un peu quoi, bloquer le coup, t'acheter la river.
C'est pas m'acheter la river, parce que la river, je m'en fous en fait, tu vois, j'ai au terrasse.
En fait, c'est pour info en fait, tu sais.
C'est pas pour info.
Non.
Parce que si tu fais pour info, tu fais un peu plus cher. Tu vois ce que je veux dire?
Okay.
Moi, je veux pas me faire chauffer la gueule dans ce spot. je veux laisser les odds pour call ses mains à tirage.
Tu call 9, 10, valet 9, valet 10.
Là, je ferai value exactement. Quoi. Je value contre tous les mains à draw. D'accord.
Mais tu bloques les autres mains, du coup, c'est un peu ça.
Et
c'est
après, river, je check back et c'est fini. Tu vois, le coup, il est terminé. Et si jamais je lui mets trop cher, je lui laisse trop la place de chauve, enfin, de raise encore et de perdre mon équité, etc.
Super deep,
ouais, ouais, il pourra pas forcément le faire. Mais le but, c'est vraiment, même, tu vois, là, il peut faire ça, par exemple, avec, je sais pas, un valet 10, il peut très mal faire dans ce spot.
Après, le problème, c'est que dès que t'es contre un mec qui réfléchit un petit peu, quand tu check back ce flop et que tu min raise la turn,
non, t'as des mains de value, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Sur en HU, je pense que tu peux avoir des trappes, même si tu es censé non, laisser
bon, genre ici, t'as rien quoi. Genre 8-8, 5-5, 2-2, tu les as 100% quoi,
allez, t'as 7 et 5 éventuellement, c'est tout.
Si tu sais que.
Non, mais 7 et 5, t'es.
7-7,
c'est en heads up, deep, c'est pas une main où t'es pas content quand le pot
est. Mais c'est la même chose que As-4, enfin, entre guillemets. C'est-à-dire que, genre, là, quand il fait ça, on est d'accord pour dire qu'on allait tous ses bêtes ce spot, et pourtant il la check back. Donc t'as quand même des mains où tu dois check dans certains spots, même aussi deep. C'est vrai qu'on est très très deep là, je suis d'accord. Mais il y a des mains fortes que t'as envie. Juste parce que tu sais qu'il a un profil qui va justement. Là, on sait tous ce qu'on a dit. Il va check, et ben il va faire cher à la turn, il va lead à la turn, il va peut-être même en mettre deux. On l'a dit. Donc ça a quand même de l'intérêt de check back des mains fortes aussi. Faut pas se dire qu'on va s'ébête. Parce qu'on s'ébête 100% de notre range, on doit s'ébête nos mains fortes aussi. Mm-hmm. Il y a certains cas où on sait que les mecs sont aggro et qu'ils vont faire des erreurs. Je pense que ça vaut le coup de aussi check back des mains fortes, quoi. Et parce qu'en plus ça va pas être un HU que tu vas jouer contre une personne lambda qui va faire des sizing petits et où là tu vas perdre de la value. Là en gros, le fait de check tout de suite, le mec va te mettre, tu vois, 70% du pot tout de suite dans la tête. Donc tu sais que river ça va être pot ou overbet, tu vois. Je pense que ça va pas être loin, j'ai pas encore vu la river, mais je pense que
en tout cas ça sera trois quarts, quoi.
Ouais, ça va être cher, 3 quarts.
Donc du coup tu vas prendre tes deux streets de value tranquillement, même avec des bluffs supplémentaires. Donc j'aime bien check back des mains fortes. Et là As-4 off, c'est une main où, encore une fois, j'aime bien. Je dis pas que c'est top contre des bons joueurs, voilà, parce que tu vas te faire exploiter sur le long terme et tout. Mais là, tu vois,
c'est. Mais bon, des profils récréatifs, ça peut être une line qui est intéressante.
Surtout que t'as double flush draw avec des draws, tu values quand même vraiment contre des mains en faisant ça, quoi.
Après, juste cette main, elle est un peu dangereuse dans le sens où notre double gutshot, elle est pas clean.
Ouais, c'est 6, pas la plus grande.
Le 6, les carreaux, les cœurs.
Le 6 fait rentrer la straight
t'as pas
9.
Toutes les outs, t'as pas.
Et en gros, il a encore il a plein de 9 dans sa range. Il a 9, 8, 9, 9, 5. 9-2 shoot.
Il a déjà 15 des fois en plus.
Donc ici on va call, donc il n'y a pas trop de cas où on fold du coup. Non, si c'est soit on call, soit on... Ok.
Bon bah moi j'aurais été derrière la classe. Moi j'aurais chauffe ici.
T'as fold, tu ne gagneras pas le 100K.
Moi j'aurais jamais check flop, mais du coup, sachant que là j'ai check flop.
Non mais t'es trop deep en fait. C'est juste une histoire de deep et que t'as une main très forte.
J'ai give up cette main.
Donc on call et on va voir la river. La river c'est le valet de carreau.
Valet de carreau.
Qui fait rentrer du coup 9-10, qui fait rentrer qui donne une paire à valet 9 à valet 10.
Je sens qu'il a transformé en bluff.
Non mais il va faire le fou finou, mais il a transformé en alors, plus, il a pas grand chose à transformer
sans bloqueur,
sans bloqueur.
On a après, il a 30 gelo
straight quand même, si.
Qui fait comme a annoncé Alex, il va faire une patate de forain, il va pote. Donc 150 000 dans 150 000. Ouais. On y est et ici on se retrouve avec notre pampa avec bloqueur rien du tout. Est-ce qu'il y aurait vraiment quelques raisons de transformer notre main en bluff?
Mais en fait, notre bloqueur straight, il n'a aucun intérêt.
Non, on a rien. Il est pas bon, notre bloqueur straight. Parce
quand
que...
il pote ici, il a
un carreau.
C'est surtout que t'as pas envie d'avoir un 4.
Ouais, à
la turn, il rêve tous les carreaux possibles, tu vois.
Ouais. Tous les carreaux, 9-10.
Et toi, t'en rêves quelques-uns, donc ça veut dire que pour lui, c'est aussi un suicide de bluffer les carreaux aussi.
Et puis, après, je pense.
Enfin, t'aurais c'est bête la plupart des backdoors que t'avais quand même, je pense. Sur les gardes de carreaux, t'en aurais c'est bête.
Beaucoup de backdoors que t'aurais c'est bête.
Et puis, quand il pote ici, en gros, il pote pas tout, enfin au niveau, je pense qu'il a plusieurs sizing et je suis pas sûr qu'il pote deux paires, quoi. Il pote pas deux paires ici quand il pote,
je pense pas qu'il pote genre valet 10 par exemple ou valet 9.
Non, mais je pense qu'il pote deux paires.
Tu penses qu'il pote deux paires ici?
Je pense que je le ferai, ouais. Parce que justement, tout simplement pour le fait qu'on sait déjà qu'il va faire ce sizing là, on le sait, tu vois. Genre, quand tu colles à la turn, tu sais que le mec va faire ça, c'est sûr. Donc quand tu sais que t'as collé à la turn et qu'il va faire ça, et ben t'as juste envie de dire je le fais avec deux paires aussi, parce que tu sais que tu vas être hero call ou hero fold. Donc voilà. Par contre, je le ferai pas avec genre valet 9, valet 8, parce que l'autre a des valets aussi. Enfin, il y en a pas beaucoup d'ailleurs, mais il y a des mains qui sont plus fortes que toi qui vont, où tu vas te value cut trop souvent en fait.
Moi je pense qu'en fait, le truc c'est qu'on a encore nous on a des nut flush, quoi. On a des A5 de carreau.
C'est pas très grave, c'est facile à jouer. Enfin, justement, ça évite que les mecs transforment en bluff trop de mains, ça évite que... C'est con, hein, mais c'est... En fait, t'as une... je pense que t'as un équilibrage de bluff et de value, si tu fais deux paires, qui fait que le mec peut call en moins bien, tout simplement, donc tu value, tu vas faire fold aussi des mains comme t'aurais envie de le faire avec des bluffs, et le moment où il shove, bah, en général, bah, s'il le fait là sans bloqueur, sans rien, j'ai déjà lui, mais tu vois, genre en gros, ça va arriver rarement, et puis ça
en fait, l'intérêt d'avoir deux sizing, c'est justement de pouvoir bluffer un peu moins cher sur enfin tu vois certaines mains et de pouvoir value bet certaines mains en gros. Alors, c'est comme ici t'as pas envie d'overbet d'overbet de paire parce que tu te fais rarement coller par moins bien et donc en gros quand si tu bet 3 quarts potes bah et s'il a justement un valet il va tout le temps call et toi tu peux tranquillement value bet tes deux paires et par contre tu polarises complètement si tu bet potes
le débat que j'aime bien j'ai envie d'introduire un petit peu du coup et notamment
bah introduit
non mais c'est surtout pour les tournois et du coup c'est toujours une question que je me pose un petit peu. Moi, j'ai l'impression qu'en tournoi, des fois, il y a, parce qu'on, là, on parle d'avoir plusieurs sizing, d'équilibrer, etc. Ça, c'est une réflexion qui est parfaitement valable pour le cash game parce que, bah, le but du jeu, c'est d'avoir tout le temps le play optimal parce qu'on joue long terme pur. Mais des fois, sur les tournois, on joue pas long terme finalement. Il y a des spots qui vont être indépendants qu'on verra jamais. Est-ce que typiquement, bah, ce genre de spot-là, on peut pas se dire, c'est pas grave si j'ai pas de main en bluff ou quoi, mais je vais juste purement essayer de réfléchir à la line. Typiquement, être exploitant même avec des bons joueurs, parce que finalement, il n'y aura pas de long terme. On va pas se retrouver tous les jours, enfin eux si, mais nous non, sur un heads-up, un high-roller, tu vois, enfin un heads-up à 104. Bah,
là, typiquement, sur ce coup-là, ils se connaissent, les mecs, et ils savent que ce qu'ils vont faire là, et ben, c'est, ils l'ont déjà fait plein de fois dans des games, et ils savent que lui a vu que, donc ils sont déjà équilibrés, entre guillemets. Bon, je parle pas d'équilibrage, c'est pas la même chose que l'équilibrage en
GTO, mais, ouais, d'accord, ouais,
mais c'est un équilibrage quand même. Moi, par exemple, quand je joue, j'essaye pas d'être équilibré dans tous les spots que je fais, ça serait d'ailleurs de la perte d'argent de le faire tout simplement parce que il y a des fils contre qui faut pas le faire, c'est comme ça. Par contre, j'essaye d'équilibré au max quand même si c'est pas représentatif par rapport aux autres joueurs avec lesquels je joue, mais juste je serai en harmonie avec mon jeu en fait. C'est-à-dire que j'aurai des ranges de check fortes, j'aurai des de check back fortes, j'aurai des ranges de deal et de c-bet fortes, j'aurai des ranges de check raise fortes.
Ça te permet d'avoir toujours range... conscience de ta range globale.
Exactement,
quoi,
à moi. Mmh. Et du coup, elle sera équilibrée. Peut-être jamais, parce que ça reste du live, mais en tout cas, je suis en adéquation avec ce que je fais, quoi. Et après, tu l'adaptes, mais jouer équilibré tout le temps, alors que tu sais que ce mec-là va jamais call moins bien si t'overbet dans ce spot-là, et que t'overbet quand même parce que tu vas être équilibré, bah ça
là,
sert
ça
à rien,
pas de
tu perds de l'argent.
Est-ce qu'on peut pas call river là?
Bah, j'ai l'impression que le valet, c'est vraiment la pire des pires, quoi. Genre, ça vient roi de carreau, ça me dérange pas, tu vois. Mais là, le valet, c'est, t'as valet 10 qui est rentré, valet 9 qui est rentré.
Valet 9, 9, 10.
Des fois, tu sais même
la
pas.
Flush.
En gros, il a pas beaucoup de bluff, mais bon, c'est du heads up, donc les rains sont tellement énormes. C'est, il a tous les cœurs, enfin, il a des cœurs ratés, il a des 3-4 off, il a
bah, le truc, c'est que nous, notre 4, il est pas bon. Non, mais déjà, notre 4, il est pas bon pour hero-call parce que tu bloques des bluffs qui t'as envie bluffs, qu'il ait déjà. Ouais.
Et puis des fois il transforme des mains en bluff, tu vois, ou encore une fois le même problème que tout à l'heure. Bon, il y en a pas beaucoup, mais ça.
Bah là
je pense pas qu'il aurait fait 16, là il y a des 5x.
Il y a moins d'intérêt à transformer en bluff pour le coup, parce que bah en fait t'as.
En fait j'étais ouais, mais il y a une autre question que je dis souvent, c'est que ok, tu vas gagner le coup 70% du temps avec ta showdown value, 80% du temps, ok. Mais si tu overbet ce spot là, tu vas le gagner 98% du temps. Bah t'as la showdown value pourtant de ouf, mais est-ce qu'il vaut mieux pas le faire quand même et gagner 98%
ouais,
du temps
si,
temps
si tu commences.
C'est un risk reward.
Ouais, mais si, comme tu disais, si on a vu une seule fois un showdown où tu l'as fait, bah tu peux plus le faire. Enfin, tu vois, en gros, si une seule fois on a vu que tu
bah, ça voudra dire juste que tu devras value un peu plus in, quoi, contre ces mecs-là.
Ouais.
Ça devient compliqué, mais je veux dire, tu vois, là on parle de joueurs qui sont quand même top. Donc à partir du moment où ils ont conscience de leur image, pardon, ils peuvent le faire. Alors là, par exemple, je pense qu'ils le feraient jamais avec Valet 9 parce que ça serait. Ouais, je pense pas qu'il le fasse avec Valet 9, tu vois, c'est impossible, il fera un autre sizing, donc c'est pour ça que ce serait pas mal d'équilibrer aussi dans le sizing. Mais je te dis, j'utilise beaucoup l'overbet, ou le pot en tout cas, dans des. Puis là, c'est même pas. Si c'est pot parce que c'était 150 avant.
Ouais, c'est
mais j'utilise souvent ce sizing là avec des mains en bluff vraiment, ou avec des mains de paire sur ce spot là, ça me dérange pas du tout, quoi. Parce que je pense que les combinaisons quand même qu'il a de flush backdoor, il y en a quand même pas beaucoup, parce qu'il y en a, mais il y en a pas beaucoup qui
l'auraient fait. C'était sur un field, donc là, on oublie le top rate, mais on est face à un joueur récréatif. Tu vas pas adopter deux sizing, un sizing pas cher quand tu veux te faire call, et un sizing hyper cher.
Non, parce qu'il y a Flush Draw qui a loupé au flop.
Donc tu dis qu'ils vont se level et qu'ils vont te mettre sur le flush draw.
Ouais, tu vas réussir à retrouver d'autres trucs. Après, dans d'autres spots, peut-être que je vais le faire. Hein. Enfin, c'est sûr même d'ailleurs que je vais le faire. Mais bon, ça aurait été mieux un valet de pique, tu vois. Là, clairement, t'as un valet de pique. Tu
mets très cher parce que les deux ont. Là, je suis d'accord parce que les deux ont. Tous les draws.
Tous les draws mis, il n'y a que genre. Que 9-10
qui rentrent. Ouais, 9-10
qui rentrent. Okay. Mais.
Donc on va shove.
Ouais, mais là, ça après, c'est.
Ça fait beaucoup, putain.
C'est dramatique parce que, en fait, franchement, je
donc le bet, c'était 150 000 de Petrangelo, ouais. Et nous, on est McQuaidson et on shove donc 550 000 sur son bet pot river. Ouais,
mais en fait, on shove. Non, mais on shove au pif, quoi.
C'est du suicide.
C'est le même coup. On a pas le cœur. Non, mais à la limite, si t'as As-4 avec l'As de carreau,
ah, ça change tout.
C'est génial.
C'est juste en termes de fréquence, c'est un suicide.
L'autre, dans tous les cas, il a pas les nuts, dans tous les cas, c'est un enfer.
Et t'as un bloqueur.
Là, en gros, tu shoves et t'espères juste de pas entendre. Payer,
ouais.
Et tu fais quoi?
Bah non, mais c'est là il parle juste du principe que si le mec a pas nuts, vu qu'il a pote, c'est juste ça sa réflexion. Le mec a pas nuts, il a pote. S'il a pote, c'est qu'il s'est polarisé, du coup il a soit pas. Donc si je chauffe, c'est que j'ai forcément. Donc là, c'est genre soit il a pas nuts, soit il a nuts.
Ouais, mais
soit
du
il
coup,
a
pas nuts. C'est-à-dire qu'en gros, soit il a pas, soit il a. Mais bon, ouais, mais non, mais t'as perdu quoi.
Non, mais si tu te fais call que par l'as de carreau dans ce spot là, enfin,
là, toutes les flèches te call, toutes les flèches te call.
Bah c'est ça la question, pas sûr.
Même les strikes.
Ah mais c'est ça la question. Lui quand il chauffe, il pense pas à se faire call par toutes les flushes. Ça c'est sûr que non. Si tu fais 75 ou
je pense qu'il est pas il est pas je pense qu'il est pas je pense qu'enfin ils sont pas débiles, je pense qu'ils savent qu'ils font pas fort d'une flush, je pense. Non.
Pourquoi tu folderais pas une flush parce que tu me dis que t'es polarisé de ouf dans le spot. Tu vas chauffer.
Oui, mais en gros,
tu vas chauffer.
Si attends,
qu'est-ce que tu chauffes est primordial. Qu'est-ce que tu chauffes dans ce spot là à part tu chauffes aucune flush.
Je chauffe notre flush.
Voilà, notre flush ou bluff.
Donc, à notre place, tu parles.
Ouais,
ou
à notre place.
Non, en fait, tu chauffes.
Net flush, king high flush, tu chauffes aussi. T'es en heads up, hein. T'es en heads up, il a défendu que sa blinde. Il a défendu que sa blinde.
Et en plus, ces spots-là, si on est là, on va encore sur un autre degré. Ça veut dire que ces spots-là, on est. Bon, il va pas s'ébêter tous ses A6 de flush, mais les backdoors, on a dit qu'il en s'ébêtait quand même.
Par contre, on a pas mal.
Au niveau A6 backdoor, il en check beaucoup parce que je pense que c'est aussi un board où on se fait beaucoup check raise. Donc en gros, tous les A10 plus backdoor, on a de la showdown value, on essaie d'aller au showdown.
Même un roi 5 avec les carreaux, tu peux check back, tu vois. Un A5, tu peux check back aussi, c'est pas mal.
Mais enfin, il y a eu un coup un peu similaire que vous avez sûrement dû voir sur le 100K avec Savinelli et Carrel, où il transforme en bluff. Savinelli transforme en bluff. Vous avez pas entendu ce coup là où Savinelli transforme en bluff. Faudrait le retrouver, on regardera tout à l'heure ensemble, mais c'est exactement la même chose. Et Savinelli chauffe genre sans bloqueur, sans rien, et il s'est fait hero call. D'ailleurs, on regardera, il s'est fait hero call par deux paires, par Carrel, juste parce que ça avait pas de sens. J'essaie de retrouver la main, et les sizing c'était la même chose, et Savinelli a fait ça sans bloqueur. Et voilà, en termes de fréquence,
non, très honnêtement, c'est ici, dramatique. Je sais pas si t'as A-suite avec l'as de carreau, t'as trop envie de call quoi.
Ouais, dans l'autre sens.
À suite, t'as un hero call. T'as une bonne main pour
la suite avec l'as de carreau.
En plus, c'est une des mains où tu vas pote. En plus,
est-ce qu'on va vraiment pote river à suite? Vraiment?
Non, pas à suite, pardon. Non, 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 excuse-moi, c'est pas ça que je te dis. Non, pardon, je vais un peu plus loin. Si t'as, par exemple, As-10 dans ce spot-là avec l'as de carreau, par exemple.
Oui, ok, As-10.
Tu peux pote avec l'as de carreau. J'avais pas vu qu'il y avait une paire en fait. Tu peux pote en espérant gagner le coup parce que t'as l'as de carreau en bloqueur. Et quand le mec chauffe, tu dis attends, il va chauffer que l'as ou le roi. Bon, ça c'est encore la débarche. Et si c'est le cas, tu peux justement hero call en disant bah non, j'ai la meilleure main quoi.
Call de mi-temps.
Mais
bah non, le problème c'est que justement en fait c'est toujours le problème c'est que quand t'as l'as bloqueur,
t'as envie que l'autre l'ait pour bluffer.
T'as envie qu'il l'ait pour bluffer en fait.
Toujours la même question.
C'est le débat. Ça c'est toujours un débat. C'est toujours pareil. C'est toujours un débat.
Ça va dépendre de plein de choses, mais là, ça, c'est. Là,
fais-toi hero call parce que franchement, tu mérites. Là,
on s'est fait call. On a pas tant que très très longtemps en face. Voilà. Il avait top 2, valet 8 avec le 8 de carreau en main.
Donc, ouais, bah oui.
Donc
bah,
il gagne le 100 000 aussi.
Sachant que le 8 de carreau, c'est vraiment bien de l'avoir parce que en gros, ça fait partie des mains qui vont check back, je pense, à suite. Ça peut check back. Ouais, encore une fois, on l'a dit que ça c'était.
Bah, avoir un carreau, c'est parfait pour call. Même bon, le 8, carreau, le 8, mais flotte, ouais,
ça c'est. Et puis en fait, tiens, au final, quand tu vois sa main, tu te dis que bah, en fait, il bluffe beaucoup trop quoi. S'il chope cette main, c'est qu'il bluffe beaucoup trop. Et donc,
ah, c'est sûr.
Donc en gros, ici, il faut call plus. Mais bon.
C'est Watson qui a shove ou c'est.
C'est Watson qui a shove et c'est Petrangelo qui gagne le tournoi du coup sur cette main. Donc même si c'est deep, ça a pas duré si longtemps que ça.
faut le sortir le Call of Duty quand même. Enfin, quand c'est sur un 100K que c'est le heads up et que tu sais que en gros si tu
bon, les mecs, je pense pas qu'ils vont forcément raisonner comme ça, mais là il est pas couvert, il a au pire, enfin il est pas, lui il buste pas.
C'est l'autre qui a fait doubler, il passe
à 600 000 et l'autre passe à 1,2 million. Donc du coup c'est pas si grave que ça.
Qui a été sur Doug Paul qui l'a pas fait cette main?
Il y a un moment, ouais. Si si,
je me rappelle. Je crois que je l'ai vu cette main. Il a un t-shirt jaune,
non? Okay. T-shirt noir, Petrangelo, oh, ouais. C'est Petrangelo comme d'hab, ça ne bouge pas. Mais voilà, je trouve les mains assez, assez intéressantes du coup, parce que bah, c'est pas des coups forcément qu'on voit tous les jours. Et en fait, je trouve que c'est typiquement des mains, si tu les regardes de l'extérieur comme ça, tu comprends pas trop, tu vas dire c'est n'importe quoi de partout. Et en fait, bah, de voir un petit peu les réflexions derrière, c'est assez, même si on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'ils font ou quoi, mais c'est assez intelligent, assez cool de pouvoir essayer de décrypter.
Pour avoir leur raisonnement, parce qu'après, moi c'est ce que je dis, tu sais, des fois on fait des coups et des joueurs moins forts par exemple vont nous voir faire des choses, on va bust et on sera en adéquation avec ce qu'on fait, les joueurs confirmés vont totalement valider notre play et les gens moins forts vont dire que ce qu'on a fait, vont dire il a fait n'importe quoi, etc. Là on peut se retrouver dans ce contexte là entre nous qui sommes les joueurs moins forts, eux les joueurs forts, et quand ils font des choses comme ça, bah nous on critique parce que non, pour nous c'est pas bon et tout, mais peut-être qu'ils ont leur argument, et sûrement qu'ils ont leur argument qui fait que au final il a un sitting process, il a peut-être un historique aussi où il a fait ça la dernière fois en value, etc. J'en sais rien, enfin
il y a toujours des données qu'on n'a pas, c'est sûr.
Mais c'est vrai que de l'extérieur comme ça, ça paraît pas terrible, quoi. Après bon, c'est quand même de top règles, quoi.
Tu les connais? Moi je connais pas du tout, ils sont connus. Ouais, c'est
Petrangelo, ouais, c'est Petrangelo, le must du must. Et
Watson, tu connais? Moi je connaissais
Watson,
pas.
Watson, je le connais en fait d'une ligue là qu'on avait fait pour cet été où des joueurs l'ont pris, mais je le connais pas plus que ça, je sais pas son style de jeu, mais par contre Petrangelo c'est top,
hein. C'est qui genre en ce moment le top 3 des meilleurs joueurs MTT, c'est qui? David Peter, comment il s'appelle?
David Peter, c'est très. Alors moi, c'est pour l'anecdote, je l'ai joué il y a 4 ans, je pense. Il avait la Team Ivy ou un truc comme ça.
Ah la Ivy Poker,
Ivy Team Poker, je vois le truc violet là.
Ouais, je vois le logo.
Ivy Poker, ça.
Ouais, c'est ça.
Je l'avais vu, franchement, je l'avais pas trouvé fort et tout. Et là, il défonce tout le monde, quoi. C'est vraiment très très fort. Après, je regarde pas trop de vidéos de lui, donc je peux pas te dire le style de jeu.
C'est les résultats.
Mais en tout cas, les résultats, tout ce que j'entends. Des gens qui le regardent et qui savent, ouais, c'est très très fort. Après, il y a sur internet, c'est Benc78. Le mec a fait Resurage, je sais pas si ça vous parle.
Resurage, ça me parle, mais Benc, moi
les pseudos de le truc de.
C'est le poulain
coaching,
d'or, en fait.
C'est le truc qui a fait le mec qui a fait un truc de coaching, non?
Il a vendu un package de coaching. C'est ça.
Ouais, mais ça, c'est le truc que j'ai, mais que j'ai toujours pas regardé. Il paraît que c'est super en plus.
C'est très bien.
Avec des ranges, des machins. Voilà. Okay.
C'est beaucoup de tableaux, c'est beaucoup de théories, c'est beaucoup de plein de choses, mais c'est très bien. Après, il y a toujours Fedor qui revient à chaque fois et c'est toujours la même chose.
Tu l'as joué, Fedor, déjà?
Non, jamais.
C'est qui le mec que t'as joué qui t'a le plus impressionné?
C'est Paul Volpe.
Ah oui, Paul Volpe. Voilà.
Toi, Aurélie, c'est
un vieux de la vie, non?
T'as joué qui t'a le plus impressionné, vraiment?
Moi, c'est Alexandria.
Ah. Non, mais on parle au poker.
Au poker.
Pas dans la vie.
Il m'impressionne tous les jours.
Non, mais.
C'est les amours, là.
Ah, mais l'autre, elle met trop longtemps pour se.
Ah, Volpe, pour l'anecdote, je l'avais joué à Monaco, sur le 10K. C'était mon premier 10K. Le PT de Monaco, à l'époque, il était vraiment dur, quoi. Et j'arrive au D2, je dois avoir une cinquantaine de blindes et je me retrouve avec lui et Noah Schwartz à la table, qui avait deux énormes stacks. Et tous les boards étaient trois barrels, quoi. Tous. Et tous les mecs arrivaient avec des gros stacks, se faisaient défoncer par un des deux à chaque fois. Et j'ai eu une guerre entre les deux et moi j'avais 50 blindes et je jouais comme si j'en avais 20, quoi. Je m'étais dit, bon, bah, dès que j'ai 50%, on y va et gamble, quoi.
Ouais, tu sais que t'as pas trop envie d'entrer dans les spots compliqués,
à
quoi.
À ce moment-là, genre, c'est le. Vraiment, sans être prétentieux, hein, c'est le seul moment où je me suis senti dépassé à une table, quoi. J'étais là, j'étais assis, je les voyais, c'était trois barrettes, je disais, mais c'est pas possible.
J'ai l'impression qu'ils jouaient à un autre jeu, quoi.
Ah, ils jouaient à un autre jeu. À ce moment-là,
je suis sûr que le seul moment où tu vois un showdown en plus, ils les ont
mis. C'est possible, ça, par contre, c'est possible, quoi. Mais je pense que tous ceux qui le connaissent sont assez d'accord pour dire qu'ils l'ont impressionné. La plupart des gens que je croisais avec qui on en a parlé, Noah Schwartz, c'est un peu différent. Noah Schwartz, on a, c'est pas, c'est
il
pas
en fout partout, plus.
Ouais, enfin, on n'est pas en admiration devant lui. Enfin, admiration, c'est un grand mot, mais on n'est pas en kiff devant lui ou quoi. Mais voilà, moi, j'ai vraiment Paul Volpe, ouais, c'est celui qui m'a le plus impressionné. Ouais. Mais bon, après, des joueurs, il y en a pas mal.
Donc Aurélie, vraiment très très sérieusement, c'est qui?
Alexandria.
Mais le deuxième.
Non, je suis vraiment, vraiment sérieuse. Quoi. Non,
mais, allez, deuxième ou pas ? Excepté Alexandrea. Un joueur que t'as joué, que t'as eu à ta table, qui t'a vraiment impressionné, que t'as trouvé qu'il avait.
Ah, vous aussi !
Non, il y en a pas.
Il y en a beaucoup.
Une joueuse, ça peut être une joueuse.
Non, non, franchement, il y en a beaucoup, mais que j'ai bien aimé jouer, que j'ai trouvé bon joueur, etc. Mais vraiment, celui qui m'impressionne le plus, je suis désolée, c'est Alexandre.
Eh ben, écoute,
bah, on lui dira.
Ça sera le mot de la fin. Voilà. Mais il est marié, désolé.
C'est pour moi le meilleur joueur de l'univers.
De l'univers.
Bah
oui.
Elle est pas amoureuse, pas du tout.
Hein ?
Elle est pas du tout amoureuse.
Ouais, c'est clair. Bon, bah écoutez. C'est ainsi que va se terminer notre émission. J'imagine semaine parisienne avec les World Series à Clichy.
Ouais, dès demain.
Dès demain.
Ouais. Et c'est
pour une semaine, 10 jours.
Nous on joue tout jusqu'à.
On a démarré déjà. Il y avait le turbo.
Oui, il y a le starter.
Ah, mais... on a fait le turbo. Nous. Enfin, t'as pas fait le starter non plus.
Non, j'ai pas fait le starter.
On a fait le turbo mardi. Non, lundi, pardon. Non.
Normalement, t'en gagnes minimum 1, voire 2 normalement.
Ouais.
Ah, tu fais au moins une TF, c'est sûr.
Sur les festivals comme ça, j'ai du mal, ouais, c'est bizarre. Il y a trop de problèmes.
Alors, moi, si je peux me permettre, normalement, c'est mon tour. Parce que là, je l'ai laissé gagner un peu à la suite et tout.
Le main
et
ou un side ?
Tout. Et un peu, c'est à mon tour là maintenant. J'ai pris mon ticket, c'est chez le boucher, tout ça. Hein, bébé ? C'est mon tour là.
Allez, okay. Go.
Les mouches ont changé d'âne.
C'est ça.
Pas de carte.
Je vais regarder un peu quand même.
Vous allez voir, vous allez avoir le petit run des fauteuils rouges et généralement, c'est plutôt pas mal.
Bon, allez,
C'est mon kiff, frère. Je suis là. J'en survie depuis 3 jours. Je suis sous oxygène depuis 3 jours.
Voilà.
C'est bien faire la musique.
Jaco, si tu nous regardes.
Écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'être venus. On vous souhaite plein de réussite pour cette grosse semaine et puis
plein de
chats. Et puis pour.
Merci.
Et puis pour la vie.
C'est gentil.
Et puis nous, on se donne rendez-vous chichi la semaine prochaine.
Exactement, la semaine prochaine avec peut-être du coup David Peters. Peut-être.
Oh non.
Peut-être. ou peut-être.
Ce serait mieux.
Samantha Abernathy aussi.
Ouais,
Tatiana, on peut la revoir. On va lui proposer une chronique, peut-être, à Tatiana.
À Tatiana non, ouais, mais c'est muette parce que. Ouais. Non, mais en fait, on l'a eu la semaine.
Qui
on l'a
appelée
il y a 2 semaines et tu sais, elle a eu le même problème.
Ça marchait pas.
Elle nous entendait pas.
C'était l'horreur.
Ouais, j'ai dit, c'est pas grave, on fait quand même l'interview. On s'en fout. C'est pas.
En mime. Mais non.
Enfin, bref. T'as la musique de fin, allez. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Ciao, ciao, ciao,
salut.
Merci.
Ciao, ciao.
Salut.
Beaucoup d'amour dans vos vies. Ciao.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Jouez pour le plaisir et avec modération. Apprenez à fixer vos limites. Pour rappel, les jeux d'argent sont interdits aux moins de 18 ans. N'initiez pas vos enfants à des jeux réservés aux adultes. Si vous pensez avoir un problème avec le jeu, appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.